C'est parti.
Ah ouais, ça a l'air de bien marcher. Ah, ça marche plus. Ça marche mieux. Ouais, ça marche mieux. Donc, on va virer ça. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi je suis Aéris, comme Zenzla l'a dit, moi je fais un peu de sécurité et vie privée et autres. Je bosse pas mal avec les cafés privés, avec le Tor Project. Et dans la vie réelle, je suis admin 6 DevOps chez Cozy Cloud. On gère aujourd'hui un peu plus de 5000 machines, donc en termes d'admin 6, on a l'habitude maintenant. Les slides sont disponibles en ligne de toute façon, si vous voulez aller les voir donc sur conf.numérique.fr. Je pourrais filer l'adresse à Zenzla qui transmettra après sur la mailing list ou autre. Mais tout est disponible. Si vous avez des questions pendant l'exposé, vous n'hésitez pas parce que ça va être des fois un peu technique. Donc si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou vous voulez des points d'éclaircissement, vous hésitez surtout pas à poser des questions parce que sinon vous allez larguer. On va commencer donc par un petit disclaimer parce que celui-là je le fais à chaque fois. La sécurité, c'est un processus, c'est pas un produit. Donc ça, c'est Bruce Schneier qui l'a dit, c'est un des plus grands cryptologues qui existent sur Terre aujourd'hui. Et en fait, la sécurité, ça bouge en permanence. Donc ce que je vais dire aujourd'hui est peut-être plus vrai demain. J'ai peut-être fait des erreurs aussi dans ce que je vais dire, donc il faut toujours garder un œil critique sur ce que je dis. C'est pas des recettes de cuisine que vous allez appliquer bêtement quand vous allez arriver chez vous. Il faut absolument réfléchir à ce que vous faites, sinon vous pouvez faire n'importe quoi et il faut adapter en fait ce que je vais expliquer à ce qu'on appelle le modèle de menace. Est-ce que notre modèle de menace, on veut se protéger de la NSA, c'est-à-dire un système de sauvegarde mondial qui collecte à peu près tout ce qui va y passer sous la main pour l'analyser derrière et sur des décennies de rétention? Est-ce que ça va être Miroslav, notre petit cybercriminel russe, comme on le voit partout dans la presse aujourd'hui? Ça va être des hacks type Macron Leaks ou autre, donc des piratages un peu ciblés de votre boîte mail pour essayer de vous faire chanter? Est-ce que ça va être Mirai, donc qui est le nouveau logiciel à la mode qui fait de l'exploitation de tous les systèmes qui va lui trouver faillibles pour faire après du spam, du DDoS, des attaques, etc. Est-ce que ça va être juste cette script, Kevin, le petit script qui dit qui est dans sa cuisine, qui a juste envie de s'amuser à faire du Nmap sur tous les réseaux et à polluer le serveur d'un kidam qu'il va rencontrer dans son coin? Est-ce que ça va être votre boss? Est-ce que ça va être votre collègue? Est-ce que ça va, voilà. Faut que vous arriviez à définir qu'est-ce que vous, de quoi vous voulez vous protéger et quel est votre niveau de sécurité. Parce qu'en fonction de ça, on n'a pas du tout les mêmes mécanismes à mettre en place. Un exemple classique, c'est par exemple le code de l'arme nucléaire US, donc de 63 à 2004. C'était 6-0 ou 8-0, parce que leur besoin c'était de pouvoir déclencher le feu nucléaire n'importe quand et que personne ne puisse oublier le mot de passe, et donc ils s'en foutaient un peu d'avoir un mot de passe faible à ce moment-là. Ce qu'il fallait c'était que dans la chaîne de commandement personne ne puisse l'oublier. 8-0, c'est vraiment bien. Voilà, ça donne le. On peut pas dire que c'est un mauvais choix, ils ont fait un choix en fonction des besoins. Par contre, effectivement, 8-0 dans votre mot de passe Google, Gmail, ça va pas le faire. Donc, faut vraiment bien adapter votre besoin. Aujourd'hui, on va considérer un peu un modèle de menace un peu standard, c'est-à-dire une sécurité correcte pour les dangers qu'on va rencontrer au quotidien. Pour un admin 6 qui va gérer des systèmes qui sont pas super critiques, ça va pas être des service stores, ça va pas être des systèmes de lanceurs d'alerte, ça va pas être de choses comme ça. Et dans un contexte qui est pareil standard, vous allez pas être une menace ciblée de la NSA ou autre. C'est votre petit serveur chez vous, dans votre coin, avec des systèmes pas trop critiques, et vous risquez pas de tuer des gens sur la planète si jamais votre sécurité disparaît. On va aussi parler uniquement de ce qu'on appelle l'infosec, donc c'est vraiment la sécurité qu'on peut mettre sur une machine. On va pas du tout faire d'opsec, donc la sécurité opérationnelle, c'est comment on va agir sur le terrain avec des vrais gens pour améliorer la sécurité. C'est par exemple le cas quand on fait du journalisme, où on a beau avoir un méga serveur super sécurisé, si le photographe sur le terrain il prend des photos en gardant les coordonnées GPS avant de les publier sur son journal, on a un problème. Donc du coup, on a aussi, en plus de l'infosec, on a aussi besoin de gens sur le terrain, donc d'être bien, bien entouré, bien conseillé, pour être capable de prendre les bonnes décisions, et pas juste dire que la technique va nous sauver, quoi. Si on a des besoins un peu spécifiques, la technique, généralement, ne suffit pas à nous sauver. Et donc, si jamais vous avez des besoins spécifiques, faut absolument pas vous hésiter à vous retourner vers des personnes qui sont beaucoup plus compétentes et qui seront capables de mieux vous conseiller. Ça va être Electronic Frontiers Foundation, les Cafés Vie Privée, Reporters Sans Frontières, Médecins Sans Frontières. Enfin, il y a plein de personnes qui sont capables de vous assister là-dedans. Et par exemple, si vous allez voir Reporters Sans Frontières, généralement, ils vont commencer par vous filer un casque blindé et un gilet pare-balles plutôt que de vous dire d'utiliser GPG ou OTR. Donc, passé ces petites mises en garde, on va commencer par la base, c'est installer notre machine. Parce que là, on a des tas de composants qui font rien devant nous, et il va falloir qu'on lui donne de la vie. Et la première installation, la première étape, c'est de faire l'installation de l'OS. Donc, pour le choix de l'OS, on parle de serveurs. On va mettre des serveurs en ligne, on sait pas des machines personnelles. Donc, du coup, on va chercher des systèmes qui sont relativement stables, qui vont pas changer tous les matins, qui vont pas casser tous les matins, et essayer de minimiser l'administration système qu'on a à faire dessus. Donc déjà, on va pas utiliser du Windows, hein, forcément. Du GNU Linux ou du BSD, c'est ce qui est aujourd'hui conseillé pour des serveurs. Il vaut mieux éviter les systèmes dits rolling release, donc du Gentoo, du Arch, où en fait les paquets et le système est mis à jour en permanence avec les développeurs. À chaque fois, il y a un développeur qui va faire qui publie une version. La version est mise en ligne sur la distribution. Et donc, vous risquez des régressions, vous risquez d'avoir des versions qui sont pas vraiment bien patchées, bien sécurisées, bien stabilisées. Donc, il vaut mieux éviter les rolling releases. Et avoir des distributions qui font des releases fixes, avec des patchs de sécurité sur le long terme, etc. On va en voir quelques-unes derrière. Faut aussi éviter les distributions Kleenex, type Ubuntu. Quand vous l'installez, vous êtes sûr que 6 mois après, quand il faut faire un upgrade de version, faut tout réinstaller. Parce qu'il y a plein de trucs qui merdent, les installations se passent pas bien, ils ont changé un peu tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, c'était pas vrai jusqu'en 2008 à peu près, mais depuis 2008, il n'y a plus aucune distribution Ubuntu qui est capable de mettre à jour correctement d'une version à l'autre sans problème. Il y a beaucoup de merde qui peuvent apparaître, et donc il vaut mieux éviter ces distributions problématiques. On va chercher aussi des systèmes standards, parce qu'aujourd'hui, on en parlera un peu plus sur la fin, il y a beaucoup de systèmes dits alternatifs qui commencent à apparaître, du Docker, du Alpine Linux, des choses comme ça, et en fait c'est des choses qui sont très exotiques, qui sont très peu testées, très peu fiabilisées, et qui posent beaucoup de soucis, en particulier Alpine, on va le voir à la fin, c'est une catastrophe. Et pourtant, tout le monde ne jure que par ça en ce moment. Donc vaut mieux éviter ce genre de distribution gag. Il vaut mieux aussi sélectionner des distributions qui ont des mises à jour, enfin, qui ont des bonnes compétences en termes de sécurité, pour être capable de mettre à jour, en cas de patch, en cas de faille de sécurité, qu'on ait rapidement les patchs disponibles dans la distribution. En particulier, par exemple, les versions qu'on appelle LTS, donc long terme, je sais plus le S.
Long time support,
c'est ça. Long time support, qui en fait sont pas forcément l'idéal, parce qu'effectivement, au début du monde, on a peut-être des choses à jour, mais au bout de 2 ans ou 3 ans, on se retrouve avec des versions qui sont plus qu'obsolètes et qui peuvent poser souci. Dans l'environnement desktop, par exemple, si vous êtes sur du Firefox LTS, vous avez une version 45 qui est blindée de bugs, qui est plus compatible avec la plupart des serveurs d'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le support de HTTP2 ou des trucs un peu bizarres. Et donc du coup, sur la fin, le LTS, des fois, ça peut poser problème. Donc, aujourd'hui, en gros, il en reste 4. Il y a 4 distributions que je conseillerais, moi, pour mettre sur du serveur. Si on est en environnement un peu personnel, du Debian ou du FreeBSD, c'est très bien. Ça fait le job. Debian stable, hein, bien sûr, pas Debian testing. Quoique, ça peut se faire. Si on est en environnement un peu plus professionnel, CentOS ou Red Hat sont pas mal aussi, parce qu'il y a surtout beaucoup de support et la possibilité de contrats de support avec CentOS et Red Hat. Et du coup, si vous êtes coincé ou si vous avez un problème, vous pouvez vous tourner vers Red Hat plutôt que de patauger dans la semoule sur des forums communautaires où les réponses sont pas toujours des fois les plus pertinentes. Donc aujourd'hui, moi je vais surtout m'axer sur une Debian parce que c'est ce que j'utilise aujourd'hui partout. Et donc ce qu'on va voir s'applique à Debian, donc il faut des fois faire des adaptations pour les fichiers de conf ou autres en fonction des systèmes que vous utilisez. Mais globalement, ça reste valable partout. Au niveau de l'installation, il vaut mieux l'installer vous-même. En particulier si vous êtes sur des offres type OVH, Online, Gondi ou autres, qui vous fournissent généralement des installeurs pour vous installer la distribution à votre place. Le faire soi-même, ça a des avantages, c'est qu'on n'a pas n'importe quoi à la fin, on maîtrise vraiment ce qu'on a installé et on n'est pas dépendant de ce que qu'a fait le fournisseur. En particulier, par exemple, si vous êtes chez EVH, une fois que l'installation s'est passée, vous avez un fichier .p à la racine de votre répertoire route qui contient votre mot de passe route. Et ça, EVH l'a pas documenté. Donc quelqu'un qui a accès à la machine, il arrive à corrompre ce fichier, à le lire, il a l'accès au mot de passe et il devient route sur la bécane instantanément. Voilà, c'est le genre de truc qu'on découvre le jour où un mec du support de chez EVH vous dit hey, « tu peux me donner ce que tu as dans ton fichier .p ?» Puis là, tu te rends compte que c'est le mot de passe route de la machine, quoi. Vous n'aurez pas ce genre de gag en faisant l'installation vous-même. En plus de ça, l'avantage de passer en installation à la main, c'est qu'on peut passer dans le mode expert, et donc éviter d'installer plein de paquets qui vont servir à rien. J'ai fait le test, j'ai pris une installation Debian standard, j'ai fait next. Je suis arrivé à la fin, j'avais 1 giga d'installation, 480 paquets. Quand je suis passé en mode manuel, donc déjà avec plus de questions posées, j'ai divisé à peu près par deux la taille et la taille de l'installation et le nombre de paquets. Donc ça veut dire moins de maintenance à faire, moins de patchs de sécurité à appliquer, moins de monitoring à faire. Enfin, ça pose beaucoup moins de soucis. Et il y a la version extrême, qui est la version Debian minimale, c'est-à-dire que je pars d'une partition qui est vierge, je fais un debootstrap, qui est un outil de Debian qui fournit juste le minimum vital, donc les outils GCC, les quelques outils type LS pour s'en sortir en bash, et tout le reste, vous vous démerdez. Et là, bah, on arrive à quasiment faire 10 fois, ouais, entre 5 et 10 fois plus faible que l'installation de base. Et là, on a quasiment plus rien à tourner. Quand on démarre sa machine, on n'a aucun processus quasiment à démarrer, sinon le serveur SSH. Et du coup, on a beaucoup moins de merde de ce type-là. Sur Debian, vous pouvez aussi désactiver l'installation des paquets qu'ils appellent Recommended et Suggest, qui sont des paquets qui vont dire, ouais, en fait, ceux qui installent tel paquet, généralement, ils installent aussi tel autre à côté. Et par défaut, ça installe toute cette suite de paquets recommandés, entre guillemets, par la communauté. Donc pareil, si vous les activez, c'est juste un fichier de conf à les poser dans le serveur. Et du coup, après, quand vous allez faire une installation, il va juste vous dire « Hey, ces paquets-là, la communauté les recommande, mais je te les installe pas. » Donc si tu veux les installer, tu iras faire ça à la main. Et on arrive à purger des choses assez énormes. Par exemple, si vous installez GPG avec les recommandites d'activer, il va vous installer un serveur X, il va vous installer Pinantry QT pour taper votre passe-phrase si vous êtes en environnement desktop. Et vous n'avez pas envie d'avoir un serveur X qui tourne sur votre, sur votre serveur en route, quoi. Donc du coup, désactivez ça, vous allez avoir beaucoup moins de paquets installés. La question qui va se poser du coup pendant l'installation, c'est est-ce qu'on doit chiffrer ou pas les disques ? Autant pour une machine utilisateur, ça protège effectivement contre le vol, contre la perte. Enfin, si on perd son PC dans la nature, on ne peut pas sortir le disque dur pour faire la lecture des données. Ça peut être intéressant. Par contre, il faut bien penser à éteindre la machine, etc. Parce que sinon ça sert à rien, une machine allumée n'est pas protégée si on a chiffré le disque dur. Et donc du coup, dans un contexte serveur, bah, c'est pas forcément utile. Déjà, ce qu'on appelle le FDE, donc Full Disk Encryption, qui est le chiffrement intégral du disque dur, ça pose problème parce que du coup, quand votre machine va démarrer, eh ben, vous n'avez pas de clavier pour aller taper votre mot de passe. Donc du coup, il faut aller galérer avec des hacks dans tous les coins pour que quand la machine redémarre, vous ayez au moins une console SSH pour pouvoir vous connecter et déverrouiller les disques en tapant le mot de passe. Donc c'est très compliqué à faire, ça marche pas, vous pouvez vous retrouver à la porte de la machine. Donc c'est déjà techniquement compliqué. En plus, le chiffrement disque, ça va en fait protéger que d'une seule chose, c'est la saisie online de la machine. Puisque si la machine est éteinte lors de la saisie, bah, les disques durs sont effectivement protégés. Mais si la machine est saisie allumée, ben, on a accès à toutes les données, quoi. Il suffit de se connecter à la console, de faire un dump de la mémoire ou je sais pas quoi, et on peut lire toutes les données. Donc du coup, le chiffrement des disques sur un serveur a quand même très peu d'intérêt, et en plus c'est compliqué, donc ça vaut pas forcément le coup. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si on a vraiment des données un peu sensibles, genre la liste des adhérents, une base de données, des listes de contacts ou autres, on peut chiffrer juste un morceau du disque avec des outils comme Lux et LVM, qui sont des outils de partitionnement et de chiffrement, bah vous allez avoir vos données sécurisées bien comme il faut dans des conteneurs, et le reste de vos données du système, bah, c'est en clair standard.
Est-ce que ça se fait forcément à l'install ou ça peut se faire a posteriori?
Alors le full disque, le FDE, doit être fait à l'installation, puisque du coup il faut tout chiffrer avant d'installer le système. Par contre, vous pouvez rajouter des partitions et refaire du chiffrement à la main après, sans aucun problème. Enfin, c'est ce que je fais régulièrement, en utilisant LVM et Lux directement. On recrée une partition, on la chiffre, et on peut le faire après l'installation sans souci. Donc c'est relativement modulable.
Donc le disque système, on peut le laisser non chiffré, voilà. Le disque donné utilisateur, non chiffré.
C'est ça. Par contre, par exemple, si jamais vous faites de l'auto-hébergement sur une Raspi à la maison, vous pouvez vous faire du full disk encryption, puisque du coup, vous avez le clavier, vous pouvez avoir accès à la console pour saisir le mot de passe. Mais c'est juste que si vous êtes sur un data center à Roubaix ou à Évry, vous ne pourrez pas démarrer votre machine si elle est chiffrée, donc ça risque d'être compliqué. Ouais.
On a l'adhésion.
Bonjour.
Bonjour. Alors après, normalement, quand on est arrivé là, donc on a un système qui va démarrer minimal. Et donc, il y a quand même des choses à faire après, qui ne sont pas faites par l'installeur de base, généralement. C'est activer les mises à jour de sécurité, les mises à jour de publication, qui sont en fait des paquets, enfin des dépôts Debian, qui sont mis à jour régulièrement. À chaque fois qu'il y a une faille de sécurité, ils vont patcher en fait le logiciel de base avec le patch qui est fourni par le fabricant, donc Firefox ou autre, ou OpenSSH, et remettre ça dans la distribution stable au fur et à mesure. Pour pouvoir corriger les failles régulièrement. Mais du coup, il faut absolument les activer, sinon vous n'avez pas ces protections. Généralement, vous n'avez que la première ligne en fait, qui vient de l'installeur standard, donc il faut rajouter les deux autres pour être mise à jour, pour être à l'abri. Et en plus de ça, moi, ce que je vous conseille, c'est aussi de trouver la liste de diffusion des alertes de sécurité de votre distribution, de vous inscrire à cette mailing list-là. Généralement, il n'y a pas beaucoup de trafic, hein, c'est juste des alertes de régulières. Si vous recevez 2-3 mails dans la semaine, c'est grand max. Mais au moins, vous savez que tel logiciel a été trouvé, qu'il y a un patch qui a été publié. Donc si vous l'utilisez, ben, pensez à faire la mise à jour de votre machine, ou en tout cas, vérifiez que vous êtes bien à l'abri. En ce moment, il y a pas mal de failles sur OpenSSH, sur LibXML, sur Qt, sur plein de choses comme ça. Et donc vous êtes au courant qu'il faut faire la mise à jour sur votre machine. Alors ensuite, la sécurité minimale. Donc là, c'est nous qui allons faire le boulot, hein, c'est plus l'installeur. La première des précautions, qui est un peu celle qui vous sauvera le plus des problèmes, c'est installer un firewall. Un firewall qui est efficace. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui installent des firewalls qui sont juste pas du tout efficaces. Un firewall efficace, donc sous Debian, IPTable, fait très bien le boulot, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec des outils plus compliqués, type Shorewall ou autre. Puisqu'en quelques lignes, on arrive quand même à faire le boulot. Un firewall efficace, c'est par défaut, on rejette tout le trafic entrant. Donc en gros, c'est le paquet, il arrive sur la carte réseau, s'il n'est pas explicitement autorisé, c'est tu dégages. Ça évite plein de failles possibles, parce qu'en fait, si vous ne filtrez pas explicitement les paquets, il y a des possibilités en fait de faire croire à la machine que le paquet n'est pas entrant mais sortant. Et donc du coup, le firewall va croire qu'il peut laisser passer le paquet parce que ça va pas matcher une des règles d'exclusion que vous avez mis. Donc il vaut mieux fonctionner par des listes d'inclusion que des listes d'exclusion. En particulier, Nmap a une option, hein, si vous allez regarder dans la doc de Nmap, il y a l'option -g, et vous pouvez préciser un port en fait, d'origine, et il va envoyer des paquets de telle sorte à faire croire à la machine que le trafic est sortant et pas entrant. Et donc, vous pouvez détecter plein de ports ouverts, alors que si vous faites un scan sans cette option-là, vous allez les voir tous fermés. C'est juste parce que le firewall en face, il fait pas bien son boulot.
Excuse-moi, mais... Oui. Tu nous donneras des exemples de règles?
Oui, c'est juste après.
D'accord.
Alors, le firewall de la box, on oublie, mais pour encore d'autres raisons, je parlerai juste après. Qui doit être juste le coup d'après. Oui, là, c'est ça. Donc, en fait... Du coup, vous listez que ce que vous avez besoin de laisser rentrer. Généralement, pour une machine, ça va être le port 80 pour HTTP, HTTPS pour 443, SSH, le port 22 par défaut, mais comme on le verra après, ils conseillent de le changer par, pour pas avoir le port par défaut. Et puis le mail, bah, les ports standards 25, 587, 993. Si vous avez IRC, vous allez avoir le 6667. Enfin, vous allez ouvrir juste les ports au fur et à mesure.
Là, le firewall, on l'installe directement sur le serveur.
Sur le serveur.
C'est pas sur un routeur.
Non, c'est pas sur un routeur à côté. Parce que justement, c'est juste après. C'est qu'aujourd'hui, les menaces, en fait, par rapport à une machine, ont beaucoup changé. Avant, on avait un serveur qui était dans un data center, on se faisait attaquer par les hackers russes, on se faisait attaquer par un DDoS qui passait par là, et on n'était pas dans le réseau, dans le data center. Aujourd'hui, avec Internet of Shit, les imprimantes, les caméras, les frigos, les gods connectés, qu'on a même vu que le passé, c'est pas une blague, malheureusement. Ces machins-là sont maintenant dans le réseau sur lequel va être votre machine, et donc c'est eux qui vont se mettre à attaquer votre machine. Et donc il y a eu des cas, par exemple, dans les data centers, où des caméras de vidéosurveillance du data center se mettaient à brute forcer les machines du data center. Et comme les pare-feux par défaut, en fait, ne bloquaient que le trafic externe, bah, quand on était à l'intérieur, généralement, il y avait tous les IP, tout le range d'IP privé qui était toléré, et du coup, bah, les DDoS étaient open bar à l'intérieur. Si vous avez votre Raspi à la maison et un frigo connecté, votre frigo va peut-être se mettre à brute forcer votre Raspi. Donc, ou le vibromasseur de votre femme. C'est quand même assez problématique, en fait. Ou vous avez aussi un ami à la maison. J'ai eu aussi pas mal le cas. Si j'ai des amis qui sont suffisamment intelligents, qui arrivent chez moi, ils se connectent sur mon réseau Wi-Fi, bah, ils peuvent avoir accès à toutes les interfaces d'administration de la box si j'ai pas mis les bons firewalls qui vont bien. Et en particulier chez moi, j'ai deux réseaux physiquement séparés, un pour les invités et un pour moi, pour justement pouvoir avoir un firewall qui fait son boulot. Quoi. Parce qu'il y a quelques années, je faisais juste tout ce qui vient de l'extérieur, tu dégages. Et quand on était à l'intérieur, on avait quasiment open bar, tous les serveurs d'administration, tous les ports SSH étaient ouverts. Donc ça, aujourd'hui, on a un modèle, on a des risques en fait par rapport au matériel qui est chez soi ou dans des data centers, qui sont relativement différents de ce qu'on a connu il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut à peu près considérer que toute machine qui soit à portée de réseau de votre machine est dangereuse, quoi. Donc, votre box ADSL, votre téléphone mobile, votre frigo connecté, vos portes de garage, vos ampoules connectées, et je sais même pas ce qu'ils ont encore inventé, la fontaine à chat connectée, enfin tout ça, ça devient des ennemis potentiels.
La dernière des attaques, je crois, chez OVH, c'était par les objets connectés.
C'était les objets connectés, c'était des caméras de vidéosurveillance. C'était un peu différent parce qu'en fait, le trafic venait de l'extérieur.
Oui.
Mais c'était plein de caméras de vidéosurveillance qui sont connectées en même temps sur des serveurs d'OVH. Donc aujourd'hui, les Internet of Shit, c'est quand même un sacré merdier et ça fout une merde abominable. Et on en parlera beaucoup à la fin parce que justement, il y a beaucoup, beaucoup d'attaques qui n'étaient pas vraies il y a quelques années qui sont aujourd'hui. Et très efficace, et très facile d'accès, et très dangereuse. Donc c'est assez flippant en fait. Donc un firewall, qu'est-ce que ça donne en pratique? Donc ça c'est un exemple de ce que je fais tourner chez moi. Donc vous avez ça c'est un fichier en fait que vous pouvez donner à manger directement. Il y a les commandes iptable save et iptable restore qui bouffent un fichier en entrée. Et donc le save vous génère un fichier, le restore vous consomme le fichier. C'est tout prévu pour fonctionner correctement dans Debian au démarrage, il va charger tout seul les fichiers si vous les mettez au bon endroit. Et donc en gros c'est input, forward et output, donc ça c'est les input, donc c'est le trafic entrant, forward c'est le trafic qui va passer d'une carte réseau à l'autre, et output c'est le trafic sortant. Par défaut, vous dégagez. Drop, 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 c'est il n'y a rien qui passe. Et généralement les gens oublient ces choses-là. Ensuite, typiquement, si vous êtes dans un data center ou si vous avez du Windows chez vous, vous allez avoir des machines Windows qui vont se mettre à spammer violemment vos cartes réseau parce qu'ils font du multicast tout pourri, parce qu'ils font du unicast tout pourri, parce qu'ils font du broadcast qu'ils savent pas faire. Et donc, en gros, vous allez avoir du trafic sur ces adresses-là, donc tout en 255, l'adresse de votre réseau en .255, et aussi tout ce qui est NetBIOS qui va vous envoyer du spam, du spam, du spam, du spam. Moi, je conseille de les bloquer en fait explicitement ici, puisque ça vous évitera d'avoir les règles qu'on va voir après, normalement. Ou pas ? Ça, ils sont pas là ? Ah non, ça doit être par défaut. Parce que du coup, les paquets qui sont bloqués sont logués dans syslog. Et donc, si jamais vous avez un réseau Windows, vous avez un syslog qui devient super monstrueux, que du coup, quand vous avez une attaque, vous êtes plus capable de faire la différence entre du trafic Windows et du trafic d'attaque. Et donc, le fait de les bloquer ici explicitement évite de les retrouver dans le log derrière. Donc, ça vous permet d'être plus efficace quand vous allez avoir à mettre les mains là-dedans. Ensuite, bon, le trafic sur la boucle locale, donc 127.0.0.1, quand même, je suis gentil, je vais quand même l'accepter. ICMP, c'est un protocole en fait qui permet, c'est ping en fait. Donc ping est nécessaire, on peut pas le bloquer en fait, sinon on a des problèmes potentiels dans le réseau. Parce que ICMP ne sert pas qu'à faire des pings, ça sert aussi à gérer la congestion. Donc quand la carte est saturée, il y a des paquets ICMP qui vont partir pour dire à la personne en face ralentis le débit parce que je suis plus. Donc si vous bloquez ICMP, ça va marcher, mais vraiment pas top. Donc vaut mieux le laisser passer. Alors après, il y a un autre module en fait qui va dire le trafic qui entre de chez moi, qui est suite à quelque chose que moi j'ai fait sortir, je le laisse passer. Puisque le problème de TCP, c'est que les ports de connexion sont aléatoires. À chaque fois que vous avez une connexion TCP, les ports sont tirés aléatoirement. Et donc du coup, le seul moyen de savoir si on bloquait tout par défaut, en fait, le trafic rentrant ne passerait plus parce que le port d'entrée est différent du port qu'on s'attendait. Et donc du coup, le trafic serait complètement bloqué. Les réponses n'en parviendraient jamais, en fait. Donc, du coup, avec ce système-là, ça dit si j'envoie un paquet vers tel port, bah, si tu le vois revenir sur tel port, tu sais que c'est bon et tu laisses passer. Et après, je laisse passer les trafics du réseau, tous les services qui vont être en entrée chez moi, donc SSH, HTTP, le mail, etc. Et donc c'est là que vous rajoutez une ligne par service que vous voulez mettre accessible, rendre accessible sur votre machine. Sur le port SSH aussi, vous pouvez par exemple aussi filtrer en rajoutant une adresse IP source pour du coup limiter à uniquement votre machine d'administration quand vous êtes à la maison, ce qui évitera d'avoir vos voisins ou un ami chez vous ou votre sextoy connecté qui viendra taper au port de votre SSH. Il n'y a que votre machine d'administration chez vous qui pourra se connecter à cette machine de gestion. Et après, on fait à peu près la même chose en fait sur le trafic sortant. Du coup, on autorise la boucle locale ICMP et puis les connexions qui sont déjà établies, on va aussi les laisser passer. Le truc drôle, c'est que ça, c'est le morceau pour IPv4. Il faut faire la même chose pour IPv6. Parce que j'en connais beaucoup aussi qui ont genre un firewall de nazi pour IPv4, mais qui n'ont juste pas de firewall pour IPv6. Donc du coup, sachant que si vous avez IPv6 activé, il y a effectivement l'adresse publique qui est intéressante, mais il y a aussi un mécanisme qu'on appelle les liens locaux, qui sont des routes et des IP qui sont internes au LAN, en théorie, mais qui vous donnent quand même de la connectivité IPv6 si jamais on vient taper dessus. Donc si y en a beaucoup qui disent « Oui, mais c'est pas grave, j'ai pas d'adresse publique IPv6. » Oui, mais t'es connecté au routeur de ton data center ou routeur de ta box ADSL à la maison, et donc il y a un lien local et t'as une IP locale, et donc du coup, un machin connecté chez vous peut venir vous forcer ça bien gentiment. Et si en plus vous n'avez pas de bol, genre vous êtes dans un réseau OVH, vous avez dit... vous êtes dans un réseau OVH qui a tendance à faire l'IPv6 très dégueulassement, vous avez beau ne pas avoir configuré l'IPv6, il va se bouffer ce qu'on appelle les routeurs announcement de la part d'OVH qui va dire « Hey, coucou, moi je suis machin, tiens, regarde, voilà ton préfixe IPv6, et ah bah tiens, je me suis auto-configuré, puis j'ai chopé une IPv6 comme ça à l'arrache. » Et donc vous pouvez vous retrouver comme ça avec 4, 5, 6 adresses IPv6 si vous êtes dans un réseau OVH, sans que vous ayez configuré quoi que ce soit. Donc, par sécurité, on bloque tout. Au niveau SSH, justement, par défaut, c'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est que les configurations par défaut ne sont pas forcément idéales, pour des problèmes de compatibilité, pour des problèmes divers et variés. Si vous avez un serveur SSH, déjà, vous désactivez obligatoirement toutes les connexions par mot de passe. Parce que les mots de passe, ça se brute force, il suffit de les tester les uns après les autres, et puis on va finir par trouver dessus. Surtout que généralement, des mots de passe qu'on va taper régulièrement au clavier, on a tendance à les choisir relativement faibles, et donc ça se retrouve assez facilement. Donc du coup, SSH, on a la joie de pouvoir utiliser que des clés SSH, des trucs bien à stock qui sont absolument brute-forçables, enfin sauf par la NSA. Et donc, si vous n'autorisez que les connexions par clé SSH sur vos machines, et vous n'avez pas de problème. Vous faites du coup des clés SSH qui soient suffisamment robustes, donc si vous restez sur RSA, il faut au moins les prendre de 3072 bits, ce qui est la norme aujourd'hui, qui est acceptée par tous les systèmes de crypto aujourd'hui. Et on va même, généralement, au-delà, on est plutôt à 4096 bits quand on a des durées de rétention de plus d'une dizaine d'années. Ce qui est généralement le cas des clés SSH, on ne les change pas tous les ans. Mais le mieux, c'est quand même de passer directement sur les courbes elliptiques. Donc, il y a le support de D25519 dans les dernières versions d'OpenSSH, qui sont des choses qui sont plutôt bien designées, bien robustes en termes de crypto, et en plus beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Ça évite d'avoir des clés publiques qui font 40 km. Donc c'est plutôt assez avantageux de passer directement sur ces courbes elliptiques. Par défaut, OpenSSH active tout plein de suites de chiffrement, d'algo d'authentification, pour des raisons de compatibilité, et en particulier ont des algos complètement pétés, avec du SHA-1, avec du RC4, avec du 3DES, avec des saloperies comme ça. Et malheureusement, dans les fichiers de conf par défaut, c'est toujours pas désactivé. Donc du coup, il faut aller explicitement les désactiver. Donc on verra le fichier un peu en dessous par la suite. On en profite du coup aussi pour changer le port par défaut. Alors on peut le laisser à 22. Ça évite d'avoir des blagues du style « mon client SSH ne permet pas de configurer le port quand j'utilise pas un client SSH standard », genre des API Java ou des choses comme ça. Parce que les gens n'ont pas envie de s'emmerder à devoir donner le fichier de config à tous les admin sys de la boîte. Mais ça a quand même l'énorme avantage, c'est que ça va nettoyer tous les logs. C'est que tous les scripts qui disent, toutes les attaques un peu à l'aveugle qui vont arriver sur le port SSH, qui vont essayer de brute forcer la machine, bah du coup, ils vont essayer le port 22 généralement. Ils vont pas scanner d'abord toute votre plage de port pour savoir où est votre serveur SSH. Ils n'attaquent que le port 22. Et donc du coup, bah si vous êtes sur le port 22, vous allez avoir des vagues de spam dans vos logs qui vont être Kevin a essayé BB. Vous allez avoir plein de mots de passe comme ça à passer. Et donc, bah, c'est difficile après pour vous de savoir qu'est-ce qui est réellement passé, de qu'est-ce qui n'est pas passé, qu'est-ce qui a été bloqué. Parce que quand vous avez un syslog qui fait 25 000 lignes, généralement vous dites je drop, alors qu'en fait, la 11 millième ligne, bah, c'était peut-être le hacker qui a réussi à passer et votre machine elle est compromise. Donc, il vaut mieux changer le port par défaut, comme ça déjà vous ne vous exposez qu'à des attaques assez ciblées, personnes relativement intelligentes, et vous allez du coup voir la ligne de log qui vous dit que quelqu'un s'est connecté avec telle adresse IP et que c'était pas normal que quelqu'un se connecte là. Donc ça... Parce que sérieusement, je sais pas si vous avez fait le test un jour, mettez un serveur SSH allumé sur un serveur public, regardez vos logs le lendemain, c'est l'apocalypse. Et ça met 24 heures à voir des spams arriver. Le fichier de conf qui correspond, donc du coup... On peut changer, donc c'est dans OTC SSH, CSHD.conf. Donc on peut mettre le port par défaut. Donc on peut mettre le port par défaut, on peut aussi en profiter, on peut mettre plusieurs ports si on a envie, donc on peut aussi activer le port 22 et mettre des restrictions par exemple sur le firewall sur le port 22 et puis autoriser de manière publique le port qui n'est pas 22. On peut faire un peu tout ce qu'on a envie. On désactive du coup toutes les anciennes clés publiques, en fait, qui ne sont plus sécurisées aujourd'hui, en particulier DSA, qui aurait dû être giclé depuis très très longtemps, qu'un algo qui est pété depuis une dizaine d'années. Mais RSA commence à montrer des signes de faiblesse. Ces DSA étaient potentiellement backdoorés par le NIST, donc la NSA. Et donc, on garde que les clés ED25519. On désactive la connexion route par mot de passe. Donc, on n'autorise que les connexions par clé SSH. Ça évite aussi que si on se prend brute force, que le route finit dans la nature. On désactive l'authentification par mot de passe. Et puis on configure les suites de chiffrement. Donc le plus simple, c'est de ne garder que les choses qu'on est sûr que ça tienne la route aujourd'hui. Donc c'est les algos chat-charlotte.8.13.05, les curl-25519 pour les échanges de clés. Et pour les messages d'authentification, c'est UMAX128ETM, qui sont les derniers bastions qui retiennent aujourd'hui par rapport à la crypto moderne. Tout le reste a été plus ou moins pété. Enfin, il y a ES qui tient encore la route, mais le reste, c'est mort. Petite anecdote en passant, le gros problème de cette configuration-là, c'est que tous les algos de crypto aujourd'hui qui tiennent la route n'ont été écrits que par une seule personne. DJ Bernstein, qui est un grand cryptologue, mais c'est lui qui a inventé ChaCha, c'est lui qui a inventé Poly 1305, c'est lui qui a inventé ED25519, c'est lui qui a inventé UMAC, c'est lui qui a inventé ETN, enfin, À la place de la NSA, on a Bernstein. Alors, je préfère quand même Bernstein à la NSA, mais il y a quand même quelques débats, en fait, aujourd'hui, pour justement, ouais, c'est quand même pas top d'avoir de la monoculture crypto dans le système. Mais bon, pour l'instant, on a quand même relativement confiance en Bernstein, et il y a des preuves mathématiques, par exemple, de la courbe ED2579 a été prouvée mathématiquement fiable par rapport à celle qui était choisie par le NIST, où on sait que mathématiquement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, est-ce que c'est de la malveillance ou est-ce que c'est pas de la malveillance? Ça, c'est le débat est ouvert. Mais en sécurité, on peut considérer que c'est de la malveillance. Ensuite, toujours sur SSH, ce qui peut être intéressant aussi, alors ça, c'est autant ce qu'il y avait avant, n'importe qui peut le mettre en place. Autant là, il faut commencer déjà un peu à se faire mal et il faut réfléchir un peu. Vous pouvez activer ce qu'on appelle l'authentification forte, donc la 2FA, donc Two-Factor Authentication. Et en gros, sur SSH, le truc qui marche bien, c'est les YubiKey. Donc les YubiKey, c'est des petits machins comme ça. Ça doit coûter aujourd'hui $40 la clé, parce qu'ils ont fait une nouvelle version. Celle-là en coûtait 5, mais les nouvelles versions, ils ont plus de fonctionnalités, donc ça coûte plus cher. Et en fait, c'est un système que, quand vous allez devoir vous connecter à SSH, il faut absolument que vous insériez cette clé dans votre port USB, vous appuyez sur le bouton, pour que ça génère un espèce de token unique, non reproductible, enfin tout plein de bonnes propriétés crypto, et vous pouvez pas vous authentifier avec ça. C'est-à-dire que même si quelqu'un avait accès à votre clé, il faudra qu'ils aient accès à votre clé SSH, qu'ils vous pètent les genoux pour avoir le mot de passe de votre clé SSH, et qu'en plus ils aient ça sous la main. Et sinon, vous piquez ça, j'ai plus accès à mes machines. Donc ça, vous le laissez pas tomber, vous le perdez pas, vous le laissez pas traîner, c'est dans une poche et ça bouge pas.
Il n'y avait pas un double chez Ubisoft ? Il n'y avait pas moyen de recréer la clé ?
Il y a potentiellement moyen de recréer la clé, mais en tout cas, il faudra qu'ils aillent aussi corrompre YubiKey, quoi.
Non, mais je veux dire, toi, si jamais tu perds ta clé.
Ah non, j'ai aucun moyen de récupérer.
D'accord.
C'est du write only, donc il y a effectivement YubiKey qui a la clé privée parce qu'ils sont obligés pour faire de la vérification, mais ils ne peuvent pas, ils ne redonneront pas de clé comme ça.
Enfin, okay. T'as pas de double, t'as pas de sécurité.
J'ai pas de double, j'ai pas de sécurité.
Si alors après, t'es fichu, quoi.
Après, j'ai pas de sécurité, c'est-à-dire que j'ai deux YubiKey, et j'en ai une qui est sur moi et une qui est planquée, et les deux fonctionnent. Donc,
D'accord, ok, oui, on peut avoir un double.
Mais voilà, mais faut avoir des doubles, mais c'est pas vraiment des doubles en fait, c'est deux clés différentes, tu configures les deux comme étant activables. Et YubiKey, en tout cas, sauf aller soudoyer YubiKey pour qu'il file une clé en doublon, mais là, faut s'appeler la NSA, quoi. Faut aller corrompre l'entreprise anglaise. Pour ça. Le truc de bien avec les YubiKey, c'est que Yubico, donc la boîte qui fait ça, est très libriste. Et donc en fait, toutes les sources, le design de la clé est libre, tous les drivers sont libres, tout est intégré déjà dans Debian de base. Donc il y a juste à faire apt-get install libpam Yubico ou les outils de YubiKey. Et donc c'est un truc qui marche super bien sur des environnements libres. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous avez même tous les outils pour reflasher vos clés. Enfin, c'est vraiment génial en termes de liberté. Et vous avez la doc du coup sur l'IPAM en fait pour l'authentification par SSH qui est documentée sur le blog de Yubico. Donc il y a la version où en fait quand vous tapez votre mot de passe SSH, vous rajoutez le token à la fin et il y a la version où vous avez carrément les deux vérifications, c'est-à-dire vous donnez d'abord votre mot de passe et après il vous demandera le YubiKey et avec plein de manières de configurer ça parce que l'IPAM c'est une lib qui est un peu générique. On peut l'activer et la configurer un peu comme on veut. Donc on peut dire, tu n'autorises root qu'avec le mot de passe plus la YubiKey, ou juste avec la YubiKey, ou juste avec le mot de passe. On peut le faire par raconte. Donc c'est assez générique, on peut faire un peu ce qu'on a envie, et l'adapter à tout notre besoin de fonctionnel. Donc c'est plutôt assez bien foutu. Donc c'est juste un peu contraignant, parce que des fois on oublie sa YubiKey, et on ne peut plus se connecter à ses machines. Il faut attendre de rentrer de vacances pour redémarrer les machines. Toujours au niveau sécurité minimale, ce qu'il est plus que conseillé de faire, c'est d'installer un paquet qui s'appelle Fail2Ban. D'ailleurs, il manque un 2. Il manque un 2, ouais. Fail2Ban, qui en gros est un outil qui va scruter régulièrement tous les logs de votre machine, que vous lui direz de scruter, et qui, quand il voit passer les chaînes de caractères dedans, il est capable de prendre des actions pour modifier le firewall à la volée. En gros, c'est très pratique parce que si vous faites brute forcer votre SSH, si vous faites brute forcer votre Apache, votre serveur de mail ou autre, il est capable de mettre une règle d'exclusion pour cette adresse IP-là Et donc, du coup, il va y avoir 3-4 attaques et après, il va être bloqué. Et après, le blocage est sur une certaine durée. Donc, vous pouvez dire, bah, au bout d'une heure, tu vires la règle ou tu la vires pas. T'as tant d'attaques par minute avant de bloquer. Enfin, c'est pareil, on peut calibrer un peu comme on a envie. Et par exemple, être beaucoup plus permissif sur un brute force de PHP MyAdmin sur Apache que sur notre serveur SSH. Hop là, je suis parti. Là. Donc le problème, c'est que effectivement, bon, des fois il y a un peu de configuration à faire. Des fois les lignes de log vont changer d'une version à l'autre. Donc des fois, il faut remettre un peu à jour fail to ban pour que ça continue à matcher les lignes comme il faut. Donc ça, c'est basé sur des expressions régulières ou ce genre de gags qui sont des fois chiants à mettre en place. Moi je le fais en gros sur SSH, SMTP, IMAP, alors plutôt IMAP que SMTP d'ailleurs, enfin c'est tout ce qui est collecte de boîte en fait, mail, est protégé avec ça, et HTTP aussi pour virer des logs, même si j'ai pas de PHP MyAdmin, au moins je purge mes logs, j'ai pas d'attaque brute force PHP MyAdmin, WordPress, PrestaShop, parce que pareil, vous avez un serveur web qui va être allumé, vous allez voir du trafic monstrueux passer, pour essayer de trouver où est votre PMA, où est votre WordPress, où est votre comment ça s'appelle outil d'administration, il y a Webmin ou les trucs comme les trucs de ce type-là, et donc, du coup ils vont essayer toutes les URL qu'ils connaissent jusqu'à trouver celle qui répond, et puis là ils vont se mettre à reforcer les mots de passe. Donc, pareil, vous blacklistez ça directement, et au moins vous avez les 5 premiers, puis après fini, dégage, on a compris, t'essayes de me pirater. Le problème de ce truc-là, c'est qu'il faut faire gaffe à pas s'auto-bannir. Ça m'arrive assez souvent. Genre, SSH, on oublie son mot de passe, on se plante de passe-phrase. On va réessayer 3 fois, puis il fait que le même va dire, dégage. Et du coup, on peut se retrouver bloqué. Donc, c'est pas mal, par exemple, de mettre dans le, des exclusions, de votre machine physique à la maison, que au moins vous pouvez faire rebond par celle-là pour vous connecter. Et du coup, avec une IP fixe, que vous êtes capable d'exclure. Et comme ça, si jamais vous êtes auto-banni, vous pouvez au moins avoir un point d'accès avec un petit rebond. Ce qu'on peut faire encore après, c'est activer les mises à jour de sécurité automatique, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a rajouté les dépôts Debian, qui sont en fait les mises à jour de sécu, mais ça ne s'applique pas tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, si vous activez ces paquets-là, ces dépôts-là, il faut régulièrement passer sur votre machine pour faire un apt update, apt disk upgrade, pour que ça soit mis en place. Il y a quand même un paquet qui s'appelle unattended upgrades qui existe sur Debian. Donc il y a une doc wiki sur le wiki de Debian qui explique un peu comment le mettre en œuvre, parce que c'est pareil, c'est pas complètement automatique. Parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre à jour tout le temps en permanence. Pour pas tout casser. Donc on peut dire quel paquet on va mettre en mise à jour automatique, est-ce qu'on redémarre ou pas les services une fois que le paquet a été mis à jour. Parce que ça c'est pareil, c'est des décisions qu'ils vont pas prendre pour vous. Genre je redémarre mon PostgreSQL à chaque mise à jour de sécurité. Ouais non, tu vas peut-être attendre que je me connecte et je redémarrerai ça proprement en arrêtant mes applications avant. Enfin, du coup on peut le tuner un peu pour savoir qu'est-ce qu'on redémarre automatique, qu'est-ce qu'on met à jour en automatique ou pas. Par contre, oui, il faut avoir ça en mémoire. C'est pas parce qu'on a un attendu d'upgrades qui est installé, qui tourne, que faut pas passer régulièrement sur ces machines, voir qu'est-ce qui a été mis à jour, qu'est-ce qui n'a pas été mis à jour, redémarrer régulièrement les services, même une fois par mois, hein, ça fait jamais de mal de faire un gros reboot de la machine. On est sûr que tous les services sont bien dans des états sécurisés, parce que vous avez beau mettre à jour le paquet, si vous n'avez pas redémarré le démon, vous êtes toujours sur les anciennes versions des libs, qui sont chargés en mémoire, et donc vous êtes toujours infaillible à toutes les erreurs qu'il y avait avant la mise à jour de sécu. En plus de ça, moi généralement je redémarre toujours mes machines une fois par mois, parce que ça permet de vérifier que le serveur est capable de rebooter tout seul. Parce que je connais que trop les admin 6 qui ont configuré la machine, et le jour où est-ce tôt, les cartes démarrent, il y a la moitié des services qui sont KO, les trucs qui ne redémarrent pas, ou il faut intervenir manuellement quand il y a une merde. Donc de redémarrer tous les mois la machine, ça fait les mises à jour de sécu et ça assure que le serveur il est capable de se démerder tout seul dans son coin. Si jamais il y a une panne électrique ou une intervention OVH, ou je sais pas quoi. Alors, on va rentrer dans le morceau un peu plus touchy. Là, on est un peu dans des choses plus compliquées. Parce qu'on va parler un peu réseau. Parce que jusque là on parlait plutôt applicatif, enfin surtout la partie SSH et sécurité, enfin administration. Au niveau réseau, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui peuvent vraiment faire très mal à votre machine. En particulier sur le. Donc il y a TCP/IP, mais il y a aussi UDP/IP. Et autant TCP/IP, il y a besoin d'avoir un espèce d'aller-retour, il y a un handshack en fait réseau qui a eu au départ et qui normalement vérifie que les deux correspondants sont bien d'accord, existent bien et qu'ils sont bien capables de communiquer. UDP, c'est du fire and forget, donc c'est j'envoie mon paquet et puis démerde-toi. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui c'est qui est en face, je sais pas si tu me répondras. Donc c'est le gros bordel, c'est YOLO comme on dit. Et les attaquants adorent UDP parce que ça leur permet de faire ce qu'on appelle le UDP spoofing. En particulier, si vous avez un serveur DNS qui tourne, il va envoyer une requête DNS en disant hey, tu peux me donner l'adresse de machin ? Et puis, s'il te plaît, réponds-moi à Tartampion. Et puis, pas à moi surtout. Et en fait, l'avantage, c'est que le paquet de requêtes, il est tout petit, il fait quelques octets. Par contre, le paquet de réponses, genre vous avez un DNSSEC d'activé sur la machine, vous avez un paquet qui fait 400 kilooctets. Et sauf que la réponse, elle va pas revenir à l'attaquant, elle va revenir à sa cible. Et donc, du coup, vous avez un trafic de quelques kilooctets secondes sur le lien entre l'attaquant et vous. Par contre, vous avez un trafic de plusieurs gigaoctets secondes entre vous et la cible de l'attaquant. Sauf que le problème, c'est que l'attaquant, du coup, son adresse IP, elle apparaît nulle part. Donc la cible a l'impression que c'est vous qui êtes en train de l'attaquer. Et ça, c'est mortel. Donc il y a DNSSEC qui fout la merde sur ce type-là. Il y a aussi d'autres mécanismes de protection qui ont tendance à avoir des paquets, des réponses DNS qui sont assez colossales. Il y a aussi des attaques comme ça avec MySQL. MySQL a des ports de test où si vous envoyez des petits paquets, ils vous en répondent la terre entière. Et en fait, le problème, c'est que du coup, dans UDP, l'adresse d'origine n'est jamais authentifiée. Et il y a une option pourtant dans le réseau, dans la pile réseau, en fait, qui est Default RP Filter. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait, mais en gros, comment ça fonctionnait surtout. Mais ils arrivent à détecter quand est-ce que l'adresse IP est spoofée, mais pas la bonne, et ne correspond pas à la vraie adresse IP de l'émetteur. Et donc, du coup, va se mettre à rejeter les paquets de ce type-là, qui essaye de faire de l'amplification UDP pour attaquer une cible. Donc il suffit de l'activer, ça filtrera pas tout, mais ça va déjà éradiquer pas mal de problèmes. Dans le même genre de blague, ça c'est plutôt sur TCP, du coup c'est ce qu'on appelle l'attaque parsing flood. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de handshake en fait qui est fait entre, en gros c'est hack, hack, hacksin, sin hack et hack à la fin. Donc en gros, est-ce que tu me réponds ? Oui, je te réponds bien, ok, c'est bon, et puis je t'envoie les données. Et en fait, il y a les attaquants qui ont dit, tiens, c'est marrant, parce que si j'envoie plein de hacks à la volée, et l'autre en face, puis que je réponds pas, surtout, je réponds surtout pas en fait au deuxième paquet, et bien du coup, la pile réseau en face, elle va avoir tout plein de trucs dans sa file d'attente, et je vais saturer sa mémoire, je vais saturer sa carte réseau, je vais lui faire saturer ses threads, son CPU, enfin tout quoi. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est juste envoyer un paquet, et puis pas répondre normalement comme je faisais avant. Et du coup, ça peut vous saturer. Enfin, en DDoS, ça marchait très bien il y a quelques temps. Hein. Maintenant, les gens ont compris qu'il fallait virer ce truc-là. Mais en DDoS, c'est mortel. Hein. Vous faites 65 000 paquets, vous envoyez 65 000 paquets SYN sans répondre. Bah, les 65 000 ports de la machine attaquée, elles sont pleines. Et donc, du coup, il ne peut plus ouvrir aucune connexion TCP, il ne peut plus répondre aux requêtes web, il ne peut plus rien faire. Donc, il s'est auto-banni tout seul en gardant la liste des connexions TCP ouvertes dans sa mémoire. Et donc il y a un mécanisme de protection, pareil, TCP SYN cookie, qui en gros dans les réponses entre SYN, SYN hack, hack et tout ça, il laisse passer en fait il se sert, c'est une grosse bidouille, hein. En gros il se sert du timestamp qui circule dans les paquets, il modifie les bits de poids faible en essayant de placer des données à l'intérieur, et comme ce timestamp là va devoir être renvoyé par l'attaquant selon le protocole TCP, il est capable de détecter est-ce que c'est le bon qui me renvoie là, est-ce que c'est bien les données que moi j'ai envoyées qui sont bien réunies et des choses comme ça. Et donc il va voir que s'il y a une attaque SYNFLOOD, il va arrêter de stocker dans sa liste et puis il va se mettre à les dégager petit à petit. Et donc du coup on va éviter de saturer la carte réseau avec des SYN ouverts en permanence. Même genre de gag au niveau réseau, c'était sur ICMP, donc... ICMP, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un protocole qui permet de faire du contrôle de réseau, en fait. C'est du contrôle de congestion qui permet aux machines de se communiquer, en fait. En plus du canal TCP qui est ouvert, il y a des paquets ICMP qui circulent pour dire, tu vas trop vite, bah non, j'ai perdu tel paquet, renvoie-le-moi, attends, ralentis un peu, j'ai d'autres paquets en attente. où tiens, c'est bizarre, tu me les envoies pas dans le bon sens, donc ralentis peut-être un peu parce qu'on a peut-être un routeur dans la boucle qui est saturé. Et le problème d'ICMP, c'est que ça permet de faire plein d'autres choses, du style des redirections ICMP. Hey, coucou, tout le trafic de machin, tu me l'envoies là-bas. Et donc, il y a beaucoup d'attaquants. Donc là, il faut être plutôt assez proche du réseau. C'est pas des attaques qu'on peut faire sur le réseau public Internet parce que c'est filtré. Mais dans le LAN, on peut s'amuser à faire ce genre de saloperie et rediriger tout le trafic de la passerelle ADSL, par exemple, vers une machine d'attaque pour sniffer tout le trafic ou faire croire qu'on est eBay ou PayPal. Donc c'est assez sympa. Et donc pareil, il y a des options de conf ne pas accepter ces paquets-là qui en fait ne servent quasiment jamais en situation normale. Et donc il vaut mieux les virer. De toute façon, ça changera rien à la face du monde plutôt que de subir des attaques. Et enfin, donc ça j'en parlais tout à l'heure dans le firewall, en fait ce qu'on appelle le source routing, c'est le fameux moyen de truander le firewall en fait. Le source routing, c'est un moyen de dire, en fait, quand tu vas me répondre, tu renvoies pas ton paquet comme ça à l'arrache et tu laisses pas les routeurs se démerder, c'est voilà par où tu vas passer. Et en fait, on est capable de lui dire, de forcer plus ou moins le chemin de retour du paquet. Et en gros, il se servait de ça, parce que justement, en essayant de truander ces paquets-là, ils arrivaient à faire croire en fait que le paquet n'était pas un paquet d'entrée, mais un paquet de retour. Et donc du coup, le firewall, il avait l'impression que comme il y avait ces fameux flags de redirection ou de routage, ben en fait c'était un paquet qui était dans une chaîne de transmission et qui n'était pas à l'initiative de la chaîne de transmission. Et donc il laissait passer le truc sans problème. C'est comme ça qu'on pouvait détecter par exemple des ports 80 ouverts sur IPTable en faisant du source routing et en fait, le firewall était fermé, enfin le input était fermé, mais le output était ouvert. Et en envoyant le paquet qui allait bien, bah, on arrivait à voir que le firewall était vraiment ouvert et pas, enfin, qu'il y avait vraiment quelque chose à répondre derrière et pas juste un firewall devant. Et donc, il y a des options dans Nmap. Hein, si vous lisez tout de l'adobe, tout le man de Nmap, il y a l'option, je crois que c'est -g ou -p. Vous pouvez préciser par où vous voulez ressortir et comment truander le firewall. Et donc avec ça, normalement, on a une pile réseau normalement bien sécurisée, des machines d'administration, donc SSH ou mise à jour de sécu qui sont correctes. Et donc on va passer à l'autre gros morceau qui va être du coup la partie applicative. Donc pour chaque applicatif qu'on va installer, comment est-ce qu'on peut essayer de les sécuriser au minimum? On va commencer avec le plus évident, puisque normalement on est censé en avoir tous un chez nous. Après, malheureusement, c'est pas forcément vrai. C'est le serveur DNS. Donc, serveur DNS, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le gros machin qui est l'admin d'Internet et que quand vous lui demandez google.fr, il vous répond c'est 192.168.machin.machin. Et en gros, il y en a deux types. Et ça, les gens ne sont pas forcément bien au fait de ça. Il y a deux types de DNS. Il y a les DNS qui font autorité. Donc ça, c'est les DNS qui vont publier la zone google.fr en disant google.fr, c'est ça comme adresse IP, et donc c'est moi qui ai l'autorité pour dire que c'est bien cette adresse IP-là. Et il y a les DNS Resolver qui, eux, vont s'occuper, quand on va leur demander, quand une machine du réseau va lui demander google.fr, d'aller faire les différentes requêtes DNS qui vont bien, donc de commencer par interroger la racine pour savoir où est la zone.fr, d'après d'interroger la zone.fr pour savoir où est google.fr, et enfin d'aller interroger l'autorité Google, pour demander donne-moi ton adresse IP. Et en fait, les gens, généralement, confondent les deux. Et c'est assez violent, en particulier si vous utilisez un serveur autorité pour faire résolveur. Parce que ça veut dire qu'un attaquant dans le réseau, qui va être capable d'envoyer des requêtes en tant que résolveur, va être capable de corrompre le cache de l'autorité. Et donc, si votre nom de domaine est hébergé, si je prends le mien par exemple imiril.fr, mon DNS autorité, s'il faisait aussi résolveur, si jamais j'ai une attaque DNS qui arrive, il peut corrompre le cache et faire en sorte que du coup mon autorité se mette à répondre des noms de domaine différents, enfin des adresses IP différentes pour mon nom de domaine à moi. Et donc peuvent servir de relais pour faire un man in the middle, une attaque diverse et variée. Donc il faut absolument séparer, physiquement si possible, le DNS autorité du DNS resolver. Et ça tombe plutôt bien parce que les logiciels, en fait, ils sont relativement séparés. Côté autorité, on a plutôt Vine 9 ou Note. Et côté Resolver, on a soit Unbound, soit Note. Donc Note peut faire un peu les deux. Mais du coup, il vaut mieux choisir dans l'un ou dans l'autre, ou l'installer à deux endroits, éviter de lui laisser faire les deux. Donc pour votre autorité, moi je conseille plutôt d'utiliser du Vine 9 ou du Note. Et pour le Resolver, Unbound fonctionne très bien et en config par défaut. Donc autant pas se priver avec ce truc-là. En plus de ça, du coup, Unbound active DNSSEC par défaut, donc vous allez avoir la sécurité de DNSSEC qui évite justement les manies de middle et les modifications de DNS à la volée, parce qu'il y aura des signatures qui prouvent bien que c'est moi, administrateur, qui ai bien dit que c'était la bonne adresse IP et pas celle UFRP par Numéricable, SFR, Orange, OVH ou autre. Et donc c'est plutôt assez bien foutu. Une grande question qui arrive, et on n'a malheureusement pas encore trop la réponse, c'est que si tout le monde se met à installer des serveurs, des résolveurs DNS chez soi, les serveurs de la racine Internet vont se prendre l'intégralité du trafic. Parce qu'aujourd'hui, on était bien content que Orange, ou SFR, ou Bouygues, ou Numéricable, ou OVH, aient un serveur chez eux qui fasse cache pour toutes ces boxes ADSL, qui elles-mêmes faisaient cache pour tous les utilisateurs derrière. Et donc les serveurs racines de l'Internet étaient relativement peu sollicités. Si maintenant tout le monde se met à installer du Unbound chez lui, ben du coup c'est les clients finaux qui vont se mettre à faire les requêtes vers la racine. Et donc du coup on ne sait pas encore trop comment ça va se comporter. On sent que ça risque de tenir la charge, mais on n'est pas à l'abri quand même de 15-6 milliards d'humains qui vont aller vers les machines comme il n'y en avait que 10 000 actuellement. C'est quand même difficile de savoir comment ça va se passer. Et donc en gros, ce qui est plutôt conseillé de faire quand on active Unbound, par exemple, c'est d'utiliser un forward de confiance. Donc en gros, c'est un serveur public qui est en gros l'équivalent de votre box ADSL. D'ailleurs, ça pourrait être votre box ADSL, hein, c'est juste que vous risquez de ne pas avoir du DNSSEC. Mais du coup, vous vous dites à Unbound, plutôt que d'envoyer le trafic directement vers les serveurs racines, tu vas vers tel serveur, et c'est ce serveur-là qui va te filer les billes, donc ça fait de la mutualisation et du cache pour la résolution DNS. Le problème, c'est qu'il faut du coup un résolveur qui soit de confiance. Donc vous utilisez, vous pouvez utiliser ceux de votre FAI si vous avez envie. Hein. Chez OVH, j'aurais pas trop de soucis. Chez Orange, Numéricable, SFR, je me poserai quand même des questions. Mais sinon, vous utilisez des résolveurs ouverts. Donc il y a ceux de la FDN, donc ils en proposent deux, et ceux de LDN, donc Lorraine Data Network et French Data Network, qui proposent deux résolveurs ouverts. Donc vous pouvez mettre vos forwards vers là-bas. Et donc ça économisera un peu de Et déjà, et l'une, ça économisera les serveurs racines. Et en plus de ça, ça accélérera aussi vos recherches, puisque ça évitera, si quelqu'un a déjà demandé google.fr, bah, FDN vous répondra directement, plutôt que de refaire le travail.
Pourquoi est-ce que chez les FAI, ça pose un problème?
Parce que les FAI ont la mauvaise tendance de mentir sur le DNS. Ouais. Par exemple, si vous êtes chez Numéricable, le DNS est menteur. Donc ça redirige des choses que ça ne devrait pas rediriger. Ça ment aussi, par exemple, quand vous avez plutôt que d'avoir une page 404, un domaine non existant, ils vous redirigent vers de la pub pour Numéricable. Ils font l'interception de mails, ils interdisent les mails, par exemple, comme ça. Donc ils font des choses assez dégueulasses. Ça. Oui. Ouais, si jamais vous voulez vérifier que vous avez DNSSEC de correctement activé, vous trouvez un domaine qui est protégé par DNSSEC, donc en gros le mien il l'est, il y en a malheureusement pas encore beaucoup à être protégé, et quand vous faites en fait un dig, vous allez avoir le bit AD ici qui est bien positionné, et donc AD ça veut bien dire que c'est protégé et vérifié par DNSSEC. Donc comme ça peut vous permettre de vous assurer que votre unbound est bien configuré pour faire le boulot correctement. Le morceau marrant, TLS. Ça c'est mon chouchou, c'est un peu ma passion du moment, c'est bosser sur TLS. Donc TLS en fait c'est enfin, on devrait dire X509, mais pour être plus exact, c'est en gros tout le protocole qu'il y a derrière qui permet de protéger. Ça permet de protéger HTTPS, IMAPS, POP3S, tout ce qui a un S à la fin, enfin sauf FTPS, c'est pas sécurisé. En gros, c'est tout ce qui permet de faire le chiffrement et de garantir que on a bien l'authentification, donc que c'est la bonne personne qui est en face, etc. Le problème de TLS aujourd'hui, c'est déjà, c'est ultra dépendant de l'outil que vous allez utiliser. Chaque outil a sa propre configuration, son propre format, ses propres paramètres. Enfin, il faut vraiment lire les docs et comprendre comment ça marche et essayer de voir comment je fais pour appliquer ça à mon outil, l'outil que je cherche à configurer. TLS, on pourrait en parler des heures. J'ai fait des comptes déjà 3-4 heures sur le sujet. C'est tellement compliqué, tellement bordel que c'est merdique. En raccourci, aujourd'hui, les seules choses qui restent viables dans le réseau, donc c'est du TLS 1.2. Tout ce qui est en dessous a des failles de sécurité, donc TLS 1.1, TLS 1.0 ont des failles de sécurité. Et il ne reste plus que ECDHE avec de l'AES. Ou s'il y en est vraiment Bernstein compliant, ECDHE avec ChatGPT. Voilà. Donc ça c'est la version Trunk Android. Si on a un peu plus de détails, donc comme j'ai dit, TLS inférieur à 1.2, en fait on a des attaques, ce qu'on appelle les padding attacks. Donc en gros on est capable de trafiquer un peu les paquets pour les rejouer un peu comme on a envie et essayer de deviner du coup caractère par caractère ce qui est en train de se passer dans les données. Et en particulier, il n'y a pas besoin de déchiffrer toutes les données, puisque juste les entêtes HTTP, généralement, nous donnent accès aux cookies de session ou à ce genre de saloperie-là. Donc on n'a pas besoin de déchiffrer les 200 kilo-octets de la requête. Généralement, les 10-20 premiers octets nous suffisent largement pour faire ce qu'on a à faire. Le problème de PFS, donc Perfect Forward Secrecy, c'était le problème qui est apparu avec Heartbleed. En fait, Heartbleed, c'était une faille dans OpenSSL qui permettait, en discutant à l'oreille du serveur, de récupérer les clés privées. Et le problème, c'est que quand on n'a pas de PFS, l'accès aux clés privées permet de déchiffrer l'intégralité de toutes les communications passées. Si on a du PFS, on ne peut pas. Et donc en fait, le Firebleed a été super violent parce qu'on n'avait pas de PFS dans le réseau. Donc en gros, aujourd'hui, il faut absolument activer le PFS, sinon on n'est pas à l'abri d'avoir une clé dans la nature et de pouvoir déchiffrer les 20 ans ou 30 ans ou 50 ans de données qu'on a collectées auparavant. Faut aussi désactiver aujourd'hui DHE, donc DHE qui était un protocole d'échange justement qui était censé faire du PFS, sauf qu'en fait il est très lent. C'est de l'algo RSA, donc c'est des grosses clés, c'est très long à calculer, c'est chiant. En plus c'est risqué puisque la génération de clés c'est basé sur des nombres premiers, donc il faut garantir que les nombres premiers sont réellement premiers. Donc faut pas prendre des nombres qu'on trouve dans la nature, faut vraiment les régénérer soi-même. Enfin, c'est compliqué de garantir qu'on a des clés qui sont safe. Et en plus de ça, il y a un truc qui est assez atomique, qui est apparu il y a un an au 32C3. C'est que, en fait, DHE permet de faire des downgrade attacks, c'est-à-dire en gros de diminuer la sécurité de l'échange TLS, même sur des suites de sécurité qui ne sont supportées ni par le serveur ni par le client. Donc en gros, on est capable d'utiliser des clés qui sont très très petites, de forcer le serveur à utiliser des clés qui sont très très petites, alors que théoriquement aucun des deux serveurs, enfin du serveur ou du client, ne le supportait. Donc du coup, DHE, faut juste le bannir à vie, parce que c'est lent, c'est risqué, c'est très faillible, et en plus, ECDHE fait largement mieux le boulot, c'est vachement rapide, c'est très sécurisé, donc ça n'a aucun sens de le garder encore, sachant que, par exemple, Chrome et Safari l'ont complètement viré. Ils ont dit stop, on arrête de supporter ce truc-là, ils ont giclé de leur suite. En algo de chiffrement, bah, RC4 c'était backdooré par la NSA, donc celui-là, bah, on dégage. 3DES, ça a été cassé il y a un peu plus d'un an par Google, avec une attaque, ce qu'on appelle l'attaque SWOOT 32, qui est basée sur le paradoxe des anniversaires, et donc qui permet de casser tout ce qui est du type 3DES facilement, entre guillemets, c'est quelques journées de calcul sur un PC normal, mais bon, ça reste accessible. Le reste des algos de chiffrement, genre les suites export qui sont des clés très petites, ça en dégage. DES a été pété il y a à peu près 20 ans. Pas de chiffrement du tout, bah, forcément, on va pas faire. Les suites anonymous, c'est-à-dire qu'ils ne vérifient pas l'authentification du serveur en face, bah, pareil, on va dégager. Si jamais on reste sur du RSA, bah, toujours pareil, 3072 bits minimum, mais 4096 bits recommandés. Et le dernier petit problème qui est apparu, c'est est-ce qu'on garde SHA-1 ou est-ce qu'on garde pas SHA-1. Pourquoi tu veux te mettre en veille, toi? Le problème de SHA-1 aujourd'hui, c'est que déjà on a un assez mauvais support de SHA-2 dans TLS, c'est-à-dire que si vous activez que des suites SHA-2, vous allez avoir beaucoup de problèmes à communiquer avec d'autres clients, en particulier les Android 4.4 ne supportent pas ça. L'autre Mais le problème, c'est que SHA-1 est utilisé à deux endroits, en fait, dans TLS, et pour l'authentification et pour la transmission des données. Et aujourd'hui, autant c'est safe encore d'utiliser SHA-1 sur la transmission des données, autant ça ne l'est pas pour l'authentification. Donc on a un peu un espèce de compromis bâtard qu'on ne peut pas le désactiver parce que sinon on pète tout, mais qu'il faudrait quand même le désactiver, mais en fait c'est pas si grave. Donc gardez quand même un œil sur SHA-1. Peut-être que dans quelques mois, il faudra virer le support de ce truc-là parce que ça sera vraiment mauvais. On aura trouvé les attaques concrètes sur la partie authentification. Et si vraiment on a besoin de compatibilité, TLS 1.2, pareil, on a des problèmes de support, en particulier avec les Android, vous pouvez quand même limite utiliser TLS 1.1, mais si on veut fermer Poodle, il faut activer une extension qui s'appelle Encrypt Zen Mac. Parce que par défaut, ça fait du Mac Zen Encrypt, ce qui est pété. Parce qu'en gros, vous mettez la signature du contenu à l'intérieur du coffre-fort. Il faut d'abord voir le coffre-fort pour voir la signature. Si le coffre-fort est piégé, vous avez perdu. Alors qu'en Crimson Mac, ils mettent la signature sur le cadenas qui ferme le coffre-fort, vous pouvez bien vérifier la signature avant même d'avoir un nouvel. Mais le problème, c'est que c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de support de clients aujourd'hui, et donc. Activez-le, mais bon, désactivez-le si vous pouvez, si vraiment vous pouvez. Quoi. Et incitez les gens à migrer de version Android, à arrêter d'installer XP, IE 8 et toutes ces merdes. Après, donc ça, donc TLS, c'est valable, ça, vous essayez de l'appliquer donc, pour votre serveur VPN, pour votre serveur web, pour votre serveur de mail, où est-ce qu'on en a encore, votre serveur Jabber, enfin, partout où il y a du TLS, essayez de trouver les options de configuration pour activer ces paramètres-là. Si on regarde un peu plus au niveau côté HTTPD, donc, que ce soit Apache ou Nginx, qui sont quand même les serveurs les plus utilisés, première sécurité, masquer le numéro de version, l'OS, les informations de ce type-là. Donc sur Apache, c'est serveur token prod et serveur signature off. Sur Nginx, c'est serveur tokens off. Parce qu'en gros, ça, c'est donner le bâton pour se faire battre à un attaquant qui va savoir exactement quelle version vous utilisez, donc toutes les failles qui sont disponibles dessus. Que vous utilisez un Debian, donc il n'y a plus qu'à aller lister sur le site de Debian toutes les failles de sécurité existantes et puis utiliser les preuves de concept pour rentrer sur votre machine. Alors que si ça voit juste Debian et Apache, il va déjà avoir du mal à trouver le numéro de version ou d'autres choses. Le gag qui arrive généralement, c'est que par défaut, sur Apache, MadStatus est installé. Donc MadStatus, c'est une page d'administration cachée, entre guillemets. Enfin, c'est caché, c'est juste underscore status à la fin de l'URL. Et vous pouvez, du coup, savoir l'état de votre serveur web. Combien de connexions il y a, qui est connecté, combien de requêtes par seconde vous traitez, quel est l'état des threads, l'adresse IP de votre machine. Et donc pareil, ça dégueule la vie, votre vie sur Internet. Donc soit vous le désactivez complètement, soit vous mettez une exclusion, un htaccess ou un truc comme ça pour dire cette adresse, cette URL-là n'est accessible que sur localhost ou que sur telle adresse IP d'administration. Ça a été assez démoniaque en fait pour les serveurs, les services cachés Tor. Qui publiaient du coup leur site internet dans des points .onion, et sauf que la page status était activée, donc en allant dans slash status, et on avait l'adresse IP de la machine, qui était l'administrateur, qui était connecté, et etc. etc. Et donc ça a été assez violent pour le réseau Tor, ce truc-là, quand ça a été découvert. Parce que c'est vrai que par défaut, personne ne s'attend à ce qu'il y ait ça d'actif. Pareil, désactiver le listing des répertoires, donc ça serait surtout sur Apache, puisque par défaut, Nginx normalement fait bien le boulot. Mais l'index des répertoires, c'est du coup quand vous allez rajouter un slash à la fin de l'adresse, si c'est un répertoire sur la page, vous allez voir la page toute blanche avec la liste des répertoires et vous pouvez vous naviguer comme ça à l'intérieur. Et donc ça vous permet de savoir d'avoir accès au fichier config par exemple, ou de savoir, ah tiens, il y a un PHP MyAdmin qui est installé là. Ou... Donc c'est pareil, désactiver l'option, et comme ça, quand vous allez arriver sur une page de ce type là, vous allez avoir un 404 ou je ne sais plus, enfin il y a une page d'erreur en tout cas qui est toute blanche. Du coup, qui donne pas d'infos, ça va être un forbidden. Ça va être un 502 forbidden, et donc du coup, on n'a pas d'infos sur ce qu'il y a là derrière.
C'est le fameux index off.
Ou index off, ouais. Et après, ça, cette option-là, vous pouvez l'activer sur un sous-dossier seulement, quoi. C'est parce que des fois, vous avez envie de mettre à disposition un logiciel, par exemple, et donc du coup, de lister tous les fichiers qui sont disponibles. Vous pouvez configurer Apache pour l'activer que sur un répertoire et pas partout. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets ça dans le global, dans le httpd.conf, j'ai cette ligne-là, Et après, bah, par répertoire, j'ai un location, l'adresse que j'ai envie d'autoriser, et puis je mets l'option, je réactive l'option avec option plus index. Toujours sur HTTPD, du coup, bah, c'est activé HTTPS. Et en particulier HSTS, donc, qui est une extension de HTTPS. Donc déjà pour HTTPS, bah, c'est d'utiliser Let's Encrypt pour générer vos certificats, etc. Let's Encrypt, j'ai un petit problème avec eux. En gros, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les seules autorités de certification qui sont accessibles à une personne lambda, sans dépenser 1000 euros dans un certificat par an, ça reste Let's Encrypt. Avant, il y avait StartSSL, mais ils ont eu d'énormes problèmes de sécurité. Ils se sont fait virer de Firefox et compagnie. Il y avait WoSign, mais en fait, WoSign a racheté StartSSL, et c'est un peu eux qui sont à l'origine de la merde. Donc aujourd'hui, en truc grand public, il n'y a que Let's Encrypt. Le problème de Let's Encrypt, c'est que, en tout cas pour moi, et c'est un avis qui est partagé par d'autres cryptos, par d'autres cryptologues, ils font un peu n'importe quoi. Par exemple, ils interdisent le renouvellement par HTTPS. C'est tellement mieux de faire du HTTP. Ils demandent d'être ultra intrusifs dans la machine par défaut. Par défaut, ils se demandent d'installer des modules dans votre Apache qui va pouvoir redémarrer le serveur de lui-même, qui va régénérer les fichiers. C'est le bordel, quoi. Ou alors ils vont vous demander de redémarrer votre production à chaque fois qu'on vous régénère un certificat. Enfin, il y a des choix un peu bizarres comme ça. Par défaut, les clés de sécurité sont pas suffisantes. C'est du 2048 bits, alors qu'on manque du 4096 aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu bordéliques. Et il y a aussi le fait qu'ils renouvellent la clé privée tous les 90 jours automatiquement. Et ça pose beaucoup de problèmes pour beaucoup de systèmes de sécurité qu'on va en voir après, parce que ça peut casser complètement, ça casse beaucoup d'autres systèmes de sécurité qui ont été introduits dans HTTPS par la suite. HSTS en est un, mais il y a d'autres systèmes, bon, je pense qu'on en parlera après, que Let's Encrypt par défaut va casser très violent. Donc ils se sont assis sur l'intégralité de la sécurité de la stack HTTPS, et en gros ils ne font que de l'émission de certificats, et ils ne s'occupent absolument pas de tout l'écosystème HTTPS qu'il y a autour. Mais malheureusement il n'y a plus que. Donc HSTS, c'est une option qui permet en gros de dire, la première fois que tu te connectes à un site en HTTPS, il va te dire, moi je suis en HSTS, donc en gros je ne fais que du HTTPS. Donc si jamais tu vois plus tard un lien qui est en HTTP vers moi, déjà, c'est qu'il y a un souci quelque part, mais en plus, même si tu cliques dessus, tu rediriges automatiquement en HTTPS. Donc tu ne fais plus aucune requête HTTP. Parce que même si vous avez fait une redirection, par exemple HTTP vers HTTPS au niveau de votre serveur web, et ben un client qui n'a pas HSTS, il va commencer par faire une première requête en HTTP, le serveur va lui répondre « Eh non, c'est en HTTPS », donc on va faire une deuxième requête en HTTPS. Et du coup, dans la première requête, il peut déjà y avoir plein de données à circuler. Votre cookie de session, il circule, votre mot de passe, il circule. Et donc du coup, ça, vous pouvez fuiter beaucoup de données comme ça. Et en particulier, s'il y a un attaquant dans le réseau, moi je m'amuse généralement à faire ça dans les conférences ou dans les festivals ou des choses comme ça. Je vais tourner un Android Chip, qui est une application sur Android, et qui va justement forcer à rediriger vers du HTTP, et donc à collecter les cookies, les mots de passe et autres, alors que vous voyez toujours du HTTPS dans votre page. Et donc HSTS permet de bloquer ça, parce que le navigateur va refuser de faire de la communication HTTP. Donc par défaut, ça fonctionne sur ce qu'on appelle du TOFU, du Trust Enforced Use, parce que du coup, la première fois que vous allez vous connecter en HTTP ou en HTTPS, le navigateur va apprendre que ce site-là ne fonctionne qu'en HTTPS, et donc ne fera... La première requête, du coup, peut être en HTTP, mais après, toutes les autres ne feront que du HTTPS. Pour éviter cette première requête qui est en clair, vous pouvez faire ce qu'on appelle du preload. Si vous allez sur hstspreload.org, vous rentrez votre domaine, et en fait, dans le code source du navigateur, va être introduit une ligne qui va dire ce domaine-là ne supporte que HTTPS, et donc dès la première requête, tu ne fais que du HTTPS. Donc en particulier, mon blog et tous mes sites internet sont maintenant dans le code source de Firefox, et donc si vous allez sur imiring.fr, vous aurez que du HTTPS dès le départ. Je ne sais pas ce que les banques attendent pour mettre en place ce genre de système, mais elles ne le font pas. Donc pendant ce temps-là, moi je peux toujours récupérer plein de données en faisant de la manette de mineur. Et en plus de ça, il n'y a aucun risque. Enfin, en gros, c'est pas comme ce qu'on verra après, où effectivement vous pouvez vraiment vous shooter dans le pied assez violemment si vous merdez. Là, il n'y a pas de risque de merder. Le seul risque, si vous décidez de désactiver HTTPS, c'est qu'il ne faut pas le faire trop violemment, parce qu'il faut attendre au moins cette durée-là, qui est en secondes, donc en gros, généralement, c'est 6 mois. Donc, il faudra d'abord virer ce truc-là, attendre 6 mois, et là, vous pouvez virer HTTPS. Mais normalement, vous n'allez pas vous chier dessus comme HPKP ou TLS5, on verra après. Donc ça, franchement, je conseille de l'activer partout, ça coûte rien, et autant y aller. Dans le contexte du web, il y a quelque chose qui est apparu récemment, qui commence à être très bien supporté par Firefox en ce moment, c'est les Content Security Policy. Parce qu'en gros, les attaquants sur le web aimaient bien injecter plein de merde. Des images vérolées, du CSS vérolé, du JavaScript vérolé, parce que bah, généralement dans un formulaire, on peut mettre tout ce qu'on a envie, donc on met bah, un morceau de code JS, un morceau de CSS, etc. Et donc on pouvait infecter d'autres visiteurs avec ces merdes-là. Et donc ce qu'ont décidé de faire la communauté du web, c'est de dire que le site en fait va dire d'où peuvent venir les données qu'on va afficher et qu'on va collecter. Et en gros, par défaut, moi ce que je conseille, c'est de dire bah par défaut c'est interdit. None, c'est tu charges rien. Pas d'image, pas de son, pas de vidéo, pas de CSS, pas de JS, rien. Juste ta page HTML point barre. Et derrière, je lui dis quand même, bon bah je vais quand même être gentil et les CSS, les scripts et les images, si ça vient de mon domaine à moi, tu les autorises. Par contre, si ça vient de google.fr ou de monattaquant.fr, là tu refuses. Et en particulier, ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle les inline. Donc en fait, il y a unsafe inline qu'on pourrait rajouter ici et là. Et comme son nom l'indique, déjà c'est pas sécurisé. Et en plus, inline, c'est-à-dire c'est du code que vous allez avoir directement dans la page HTML, donc généralement à l'ancienne, quoi. Comme on faisait avant, avec la belle balise JS en plein milieu du HTML, le bon style égal toute la chaîne directement dans le HTML, parce que ça, les attaquants, ils peuvent le modifier, en fait. Il suffit d'injecter dans un formulaire une balise style ou une balise JavaScript, et on est capable d'ouvrir des pop-ups sur tous les visiteurs d'après, ou d'afficher des images de l'extérieur, enfin, on avait la main sur tout ce qu'on voulait. Et donc, en gros, les inline interdisent tout code qui est dans le HTML directement. Il faut tout passer, soit par des vrais fichiers, enfin, par des vrais fichiers JS ou des vrais fichiers CSS. Et donc, du coup, ça, ces fichiers-là sont beaucoup plus difficiles à infecter, puisqu'on peut pas passer par un formulaire, on peut pas injecter, généralement, c'est pas du contenu qui vient de la base de données, quoi. C'est un fichier qui est sur le disque, et celui-là, pour le corrompre, faudra se lever de bonne heure. Et donc, globalement, ce qui est conseillé de faire, c'est au moins de mettre ça, et après, vous essayez votre site internet, vous allez voir si ça bug ou si ça bug pas. Et si ça bug, bah, vous essayez, vous rajoutez, ah oui, attends, j'ai un Piwik, par exemple, qui tourne, donc il va falloir que je mette, script avec l'adresse de mon Piwik en plus autorisée, parce que bah il y a du JavaScript qui sera appelé par le Piwik, donc il faut que j'autorise. Puis je rajoute comme ça petit à petit les règles, plutôt que de faire comme on faisait avant, c'est j'autorise tout et puis advienne que pourra. Donc des fois c'est chiant à débugger, des fois il faut modifier son code, parce que par exemple sur Mastodon aujourd'hui on a le problème, c'est qu'il y a encore de l'inline CSS et de l'inline JavaScript dans les pages, et donc on peut pas virer les inlines sans exploser les pages, quoi. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, les émoticônes ne fonctionnent plus, afficher les images ou masquer les images ne fonctionne plus, il y a du code à modifier pour que ça fonctionne de manière propre. Et là, il y a du boulot à côté des développeurs. Il faut aussi qu'ils apprennent à faire du code propre, à prendre en compte la sécurité et à arrêter de faire des sites WordPress qui coulolent avec la moitié du monde qui remonte à chaque page. Dans les autres en-têtes de sécurité qu'on peut mettre, donc il y a xContentTypeOption NoSniff. Donc ça, c'est une faille qui a été trouvée récemment, il y a un peu plus d'un an. En gros, on affichait une image, mais en fait, c'était pas une image, c'est du JavaScript. Donc elle finissait bien par .png, elle s'affichait bien comme une image, mais par contre, elle était processée comme du JavaScript par le navigateur. Parce que, en fait, l'attaquant, en gros, disait « Ouais, c'est un .png, mais non, c'est bien du JavaScript. » Donc il envoyait, il disait dans les en-têtes de réponse « Analyse-le comme du JavaScript. » Et donc, en gros, le xContentType NoSniff, c'est t'arrêtes de sniffer ce qui vient du réseau et tu essayes de regarder toi, t'essayes de prendre tes propres décisions de ce que tu vas faire et t'essayes pas de te baser sur ce que l'attaquant est en train de t'envoyer. Et en gros, ça pose aujourd'hui pas de problème. Le seul problème, c'est Internet Explorer, comme d'habitude, puisque lui, en fait, ils se sont dit non, c'est très bien ce que l'attaquant est en train de nous dire et donc on va autoriser que ça. Donc on n'a pas, il prend aucune décision en interne. Et donc du coup, vous pouvez lui envoyer un PNG en lisant cette vidéo, pas de problème. Xframe Option Deny, donc ça c'est pour dire Il y a des sites, des fois, qui aiment bien vous foutre dans une iframe, et puis comme ça, ils peuvent savoir où est-ce que vous cliquez, comme ça, un petit coup de JavaScript autour, puis on peut savoir, on a l'impression qu'on est sur le site internet réel, alors qu'en fait, on est sur le site de l'attaquant, qui a injecté du JavaScript, et donc va pouvoir détecter les clics, ou lire votre mot de passe, ou faire ce qu'il a envie. Avec Xframe Option Deny, c'est le navigateur va interdire de charger votre site s'il est dans une frame. Donc ça, pareil, vous pouvez lui préciser, deny pour tout le monde, deny juste pour tel site, j'autorise comme Google ou autre, à vous de moduler, ça ferme aussi pas mal d'attaques. Et enfin, XSS Protection, donc 1, ça c'est pour fermer bah, justement les grosses failles JavaScript qu'il y avait, du gros formulaire planqué dans une page, où on injectait des balises script et autres, ça essaye de les bloquer.
Là en fait, on paramètre le serveur, oui. Pour que le serveur indique au client de ne pas prendre en compte certaines choses.
C'est ça. En fait, ça, c'est des en-têtes que vous mettez donc soit dans la page, soit dans Nginx, en disant « Mon site, voilà ce qu'il a. » On fait « add header » ou « set header » en fonction du truc. Et donc, le client, du coup, va voir ses en-têtes passer et va, du coup, dire « bah j'ai un jeu bloc. » Donc, par exemple, si ici, il y a « Xframe option denied », en fait, il va, si la frame est dans... si votre site, par exemple, est embarqué dans une frame d'un attaquant, si un visiteur va sur la page de l'attaquant, la frame va apparaître vide en fait. Parce que le navigateur va faire l'appel à la page, il va dire bah non, il y a Xframe Option Deny, en fait je suis en train de m'afficher dans une frame, donc j'arrête, je suspends et j'affiche un message d'erreur à l'intérieur. Donc du coup, j'ai pas affiché mon formulaire, j'ai pas envoyé mes cookies, enfin si mes cookies sont quand même partis. Mais en HTTPS, normalement il n'y a pas de problème. Mais du coup, je peux pas, l'attaquant n'aura pas accès au formulaire de login de passe ou. Donc ça c'était juste sur la partie HTTP. Tu veux peut-être qu'on fasse une pause maintenant ?
Je peux continuer après.
Ouais. Ah. On est pile à la moitié. Alors on va continuer du coup avec le mail. Donc le mail qui est un peu le pire truc que vous puissiez avoir à maintenir un jour dans un système d'information, c'est juste un bordel monstrueux parce qu'il y a le spam. En gros, c'est le gros problème. Comment vous allez gérer le spam ? Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que j'ai mis 3 ans avant de réussir à trouver une configuration qui fonctionne, parce que c'est le bordel. Il y a trop de choses, il y a trop de protocoles, il y a trop de spammers. Donc du coup, c'est vraiment compliqué. Quand on veut s'auto-héberger, le mail est vraiment très problématique. Par contre, en préconisation un peu globale, déjà, c'est de ne pas utiliser le port SMTP, donc le port 25, pour envoyer votre mail. Il y a un port qui existe dans les RFC qui s'appelle Submission, qui est 587. Et ça a l'énorme intérêt que, du coup, on réserve le port 25 pour faire la communication. Ouais, c'est bon. On réserve le port 25, en fait, pour faire la communication, ce qu'on appelle MTA. Donc, c'est Mail Transport Agent. Donc, en fait, c'est deux serveurs à serveur. Donc, pour envoyer vers un serveur ou recevoir depuis un serveur, mais on ne passe par le 587 que ce qui est le MUA, donc le Mail User Agent, et donc qui est vous entre un humain et une machine. Du coup, le fait qu'on ségrègue ça, c'est qu'on peut avoir des règles différentes en fait pour le port 25 et pour le 587. Donc en particulier le port 587, on va pouvoir forcer l'usage de TLS, interdire toute communication qui ne soit pas en clair. On peut avoir une configuration TLS qui est très durcie, comme on l'a vu avant. Parce qu'on sait que les clients vont supporter le système. On peut le protéger par un login mot de passe. Enfin, on peut faire plein de choses avec ce truc-là. Alors que le port 25 doit être conforme au RFC et donc autoriser le passage en clair. Autoriser au mieux ce qu'on peut faire, c'est du start TLS, c'est-à-dire pas du TLS natif, mais on commence en clair et on upgrade en TLS derrière. Il est forcément non authentifié, il est forcément sur le port 25. On va du coup faire de l'anti-spam et du greylisting dessus parce que c'est là qu'on va pouvoir mettre l'anti-spam et on ne mettra pas sur le port 587. Mais du coup, il y a beaucoup de bonnes propriétés à séparer les deux trafics et pas avoir tout sur le même. Vous pouvez aussi du coup faire du fail-to-ban sur le 587 mais pas sur le 25. Enfin, voilà. En bonne pratique anti-spam, du coup, la chose la plus efficace et pourtant la plus conne, c'est le greylisting. Il y a un paquet qui s'appelle PostgreSQL pour ça. En gros, le greylisting, c'est basé sur le principe que les spammers sont des débiles. Les spammers ont pas de temps à perdre, les spammers s'en foutent des RFC, les spammers enfin voilà, ils envoient leur spam le plus vite possible, ils ferment les yeux et ils espèrent que ça passe. Et en gros, le greasing va faire que quand quelqu'un essaye d'envoyer un mail sur votre serveur, le serveur, la première fois qu'il va essayer de le contacter, le serveur va dire dégage. Et en envoyant un message qui est dans les RFC standard en disant dégage mais réessaye plus tard. Et donc, un serveur de spammer ne reviendra pas. Alors qu'un spammer, un serveur qui n'est pas un spammer reviendra, représentera le mail 5, 10, 20 minutes après. Et donc là, le serveur va dire « Ok, je t'ai déjà vu passer, j'ai bien noté que t'es passé une première fois, et la deuxième fois, du coup, je te laisse passer. » Donc c'est assez efficace, parce que ça éradique quand même déjà pas mal de spam, ça consomme pas beaucoup de ressources. Le problème, c'est que du coup, vous recevez vos mails 5, 10, 20, 2 heures, 2 jours après, en fonction de quand est-ce que l'autre en face, il va renvoyer le courrier. Si vous êtes sur des serveurs standards, ça va arriver au bout de 10 minutes. Si vous êtes sur des serveurs orange, vous allez attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais ça, en gros, j'aurais tendance à dire que c'est pas grave, parce que, en fait, les gens, ils ont toujours pas compris que le mail n'était pas un protocole synchrone, mais un protocole asynchrone, et que de toute façon, il n'y a aucune garantie qu'un mail arrive au bout de 5 minutes dans la boîte du destinataire. La norme a dit 48 heures minimum, c'est la norme, le truc conseillé, vous attendez pas à vous recevoir, enfin, il n'y a pas de garantie que le mail arrive en moins de 48 heures. Donc,
Là, si j'ai bien compris, c'est que tous les gens qui
Non, parce que c'est justement le serveur en face qui va faire le relais. C'est dommage que il n'y a pas de tableau blanc. Mais en gros, il y a le client qui va justement communiquer en MUA avec le serveur. Il y a les deux serveurs là qui vont communiquer en MTA. Et c'est vraiment les deux qui vont faire le test. Mais c'est géré par les normes, puisque de toute façon, il faut gérer le cas où le serveur n'est pas dispo en face. Donc il y a des mécanismes de retry ou autre. Donc ça, c'est assez démoniaque pour les spammers, ça blacklist déjà énormément de merde. Derrière, vous pouvez quand même installer du coin anti-spam, donc il y a Amavi, Spam Assassin, Razor, il y en a toute une pile. C'est là où vraiment il faut vous armer de courage, parce que les docs sont un enfer, le système est un enfer à configurer, à paramétrer, il y a des faux positifs, des faux négatifs. Enfin, des fois, c'est presque mieux d'avoir juste greylisting et de pas avoir ces merdes-là derrière. Tu me mets vite en veille, toi. Je trouve pas l'option. Des fois, ouais, vaut mieux avoir juste du greylisting que d'avoir l'anti-spam derrière. C'est plus simple et ça marche bien. Le seul intérêt de l'anti-spam, c'est potentiellement surtout en ce moment, les analyses de virus. Pour éviter de recevoir des merdes, des trucs vérolés ou autres. Sous Linux, on craint pas grand chose, mais bon, c'est toujours mieux d'éviter de forwarder un mail qui est pourri à quelqu'un qui est sous Windows. Par contre, effectivement, si vous êtes. Parce que ça, je parle dans un contexte où c'est votre boîte mail à vous, mais si effectivement vous êtes hébergeur de mail pour plein de personnes, il y a de fortes chances que les personnes, elles, soient sous Windows. Et donc, mettez un antivirus parce que vraiment, vous éviterez de. Vous inviterez de chiffrer leur disque dur. Au niveau d'authentification, il y a aussi une autre saloperie en fait qui est un peu chiante, c'est SPF et DKIM. Donc SPF, c'est basé. Les deux sont basés sur le DNS d'ailleurs. SPF, c'est une entrée que vous mettez dans votre zone DNS et qui dit quelle machine a le droit d'envoyer du mail pour votre domaine. Et donc il y a une entrée, vous pouvez le filtrer par adresse IP, par nom de machine, il y a plein de règles possibles différentes. Aujourd'hui c'est quasiment obligatoire, si vous n'avez pas de champ SPF, vous allez vous faire dégager de toutes les listes de diffusion, de tous les systèmes de réception de mail, ils vont vous dire t'as pas de SPF, t'es un spammer, donc tu dégages. DKIM c'est un peu le même principe, c'est dans le DNS, il y a une clé publique qui est affichée, quand vos mails sortent, ils sont automatiquement signés par le serveur de mail, et donc le récepteur est capable de vérifier que l'émetteur de mail était bien propriétaire de la clé privée, via la clé publique, et donc peut certifier que c'est bien émis de la bonne machine et pas d'un spammeur qui n'aurait pas accès à cette clé privée. Donc il y a une corrélation en fait entre la signature qu'on reçoit et la clé publique qui est déclarée dans le DNS.
Et tout ça,
Et ça, il faut l'installer, donc c'est OpenDKIM, et qui est un agent du coup, si vous êtes sur PostFix, c'est un agent PostFix qui va du coup se mettre à la sortie du postfix pour faire la signature automatique du mail. Donc c'est juste des entêtes, c'est pas une signature au sens GPG, c'est juste des entêtes présents dans le mail pour indiquer que c'est bien émis d'une machine qui est réellement détentrice de la clé privée et donc est bien apte à émettre du mail depuis cette machine.
Ça peut expliquer,
moi
j'ai
des essais
à
RG, photo RG,
et je
reçois
bien, mais personne ne
reçoit ce que je veux. Oui, bah ça peut être ça. Alors après, je pense que j'en parlerai un peu à la fin, mais en gros le mail c'est aussi l'autre gros problématique, c'est que quand on est auto-hébergé, on a beaucoup de mal à communiquer avec les gros fournisseurs de mail. Essayez d'envoyer un mail à Microsoft, Microsoft au sens large, c'est Microsoft, Outlook, Live, MSN, enfin toutes ces adresses-là, vous allez vous faire blacklister directement, et c'est de la censure, parce qu'il n'y a même pas de notification pour quoi ça a été blacklisté. Donc Microsoft dit, ton mail, je l'ai bien pris, je l'ai bien transféré à l'utilisateur, mais l'utilisateur, il ne le voit ni dans sa boîte de spam, ni dans sa corbeille, ni nulle part. Donc c'est de la censure pure et dure. Parce qu'ils ont justement marre des spammers, et qu'ils considèrent que tous les petits sont des spammers, et donc juste va mourir. Donc Google fait ça, Yahoo fait ça, Microsoft fait ça, mais de manière ultra extrême. Et aujourd'hui, c'est très difficile de communiquer proprement. Par exemple, Gmail interdit la communication par IPv6. Si t'es un petit et que t'as l'IPv6, c'est juste pas possible, tu passeras pas. Donc t'es obligé de configurer explicitement ton postfixe pour lui dire « Arrête d'envoyer ton mail à Gmail par IPv6, se force passer par IPv4. » Sinon, tu pourras pas passer. Parce qu'ils demandent d'avoir des reverse DNS IPv6 et qu'il n'y a que les gros aujourd'hui qui peuvent s'offrir ce luxe d'avoir du reverse IPv6. Parce que quasiment personne ne fournit de reverse IPv6, encore moins quand tu es fournisseur d'accès standard.
Donc c'est pas celui.
Aujourd'hui, le mail n'est pas celui. Aujourd'hui, c'est très difficile de s'assurer que le correspondant recevra son mail. En tout cas, s'il est chez un gros. S'il est auto-hébergé, je pense qu'il ne risque pas d'avoir de problème, mais. D'envoyer vers du Gmail, généralement Gmail ça passe, mais Microsoft, Yahoo, des fois ça passe pas. Microsoft, clairement ça passe pas. En mécanisme de protection, il y en avait un autre qui s'appelle DMARC. Le truc c'est à ne surtout pas activer. Yahoo l'a activé, mais typiquement c'est des genres de décisions unilatérales qui sont prises. DMARC l'a activé, ça pète toute liste de diffusion qui essaye d'écrire ou d'envoyer vers du Yahoo ou en réception de chez Yahoo. Parce qu'en gros, DMARC dit, si SPF et DKIM sont pas bons, tu dégages. Tu forces à dégager. Et le problème, c'est qu'en fait, les listes de diffusion, c'est le serveur de mail, par exemple Route 66, qui va émettre votre mail en son nom, enfin en votre nom. Et pourquoi tu mets si vite en veille, toi ? Parce que si vous écrivez, moi par exemple, si j'envoie à eris@signali.fr un mail sur la liste de diffusion Route 66, le serveur Route 66 va envoyer un mail de ma part à toute la liste de diffusion. Et du coup, si les récepteurs sont chez Yahoo, Yahoo va vérifier est-ce que DMARC est bon. Non, SPF et DKIM sont pas valides parce que le serveur Route 66, il n'a pas à publier de mail pour eris.fr, dégage. Et donc ils ont explosé, toutes les personnes qui sont chez Yahoo aujourd'hui ne peuvent quasiment plus recevoir de mails de liste de diffusion parce que Yahoo a décidé que le spam c'était pas. Du coup si on est auto-hébergé, il faut absolument vérifier qu'on n'est pas un relais SMTP ouvert. C'est-à-dire une machine qui est capable de relayer du spam facilement. Donc il y a bien une authentification et qu'on peut pas écrire que Tartampion peut pas écrire un mail à part en utilisant votre serveur, comme relais vers autre chose. Donc il y a des outils pour ça, il y a MX Toolbox ou MailRadar, où vous rentrez l'adresse IP, il va faire quelques tests, et il va vous dire « Ok, vous êtes open relais » ou « Non, vous n'êtes pas open relais ». Et en gros, la configuration qui marche bien, même si elle est chiante à mettre en œuvre, c'est du postfixe pour la partie mail, donc MTA, envoi et réception de mail, et d'offcode pour tout ce qui est IMAP, IMAP-S, SIV, ou tous ces trucs-là, donc les filtres côté serveur ou autre. C'est pénible à mettre en place, mais ça marche bien. Au bout de 3 ans. Ensuite, donc là on a vu à peu près. Là vous avez déjà un serveur donc avec du HTTP, une boîte mail, du SSH. Je pense que c'est le serveur que tout le monde va essayer de monter en premier de toute façon. C'est la base. Maintenant on va voir en fait les nouveaux dangers qu'il y a aujourd'hui dans le réseau qu'on n'avait pas il y a 3 ans et qui posent beaucoup de problèmes. Voilà. Non, tu veux pas ? Voilà. Le premier truc rigolo, c'est Zenmap, Scan.io et Shodan. En gros, c'est des outils qui ont été développés pour faire de la recherche. À la base, c'était de la recherche scientifique. C'est capable de scanner tout IPv4 chaque jour, sans perdre un seul IP, tous les ports, toutes les adresses IP, tout est scanné en 24 heures. Enfin, ça met même beaucoup moins que ça, ça met 8 heures. Toutes les données sont publiées, sont accessibles en ligne sur Internet. Donc, les bases de données sont publiques, c'est de l'open data, il y a des API accessibles pour analyser tout ça.
Sur Shodan qu'on trouve les caméras.
Ouais, ça arrive derrière.
Ouais, trouver sur Shodan.
Voilà, et donc du coup, en fait, donc ça c'est Zenmap. Zenmap qui sert. Zenmap qui est l'outil qui permet de scanner à cette vitesse-là. Donc il faut quand même des liens. Faut du gigabit, hein. Vous faites pas ça sur votre ligne ADSL à la maison. Mais en gros, si vous avez. Moi j'ai une ligne 300 mégas. En 8 heures, j'avais tout IPv4. Sur du 1 giga, voilà, vous calculez. En 2 heures, c'est fait, et si en plus vous avez un petit botnet qui traîne dans le coin, en 10 minutes, vous avez tout le IPv4 qui tombe. Le truc, c'est que ces données-là, en fait, sont publiées après. Voilà, donc un système qui est en ligne, en fait, vous avez une durée avant publication de 48 heures, en gros. C'est-à-dire que tout système qui est en ligne, en 48 heures, toute la planète sait qu'il y a quelque chose qui tourne là, potentiellement. Le problème, c'est que si jamais il y a une faille ou une 0D, et ben, en 48 heures, j'ai toutes les machines qui sont à disposition que je peux faire tomber immédiatement. Si une faille est publiée, en 48 heures, j'ai la liste de tout ce qui tourne, et je suis capable de toutes les faire tomber en claquant des doigts. Les exemples de ce que ça donne, c'est par exemple, c'est un outil donc, qui est construit par-dessus, Shodan, qui est une interface en fait, web par-dessus toute la base de données. Et donc vous pouvez rechercher, ben, donne-moi tous les trucs qui tournent sur le port 554 avec une copie d'écran dessus. Et donc du coup, bah, vous allez avoir la liste de toutes les machines. Donc là, le port 554, c'est des caméras de surveillance, en fait, généralement. Et donc du coup, on a la liste de toutes les machines sur Internet qui font tourner des caméras de vidéosurveillance et qui ont une adresse IP publique et qui n'ont pas d'authentification et où je récupère la copie d'écran.
T'en as même qui sont dirigeables et tout, les caméras.
Voilà, c'est redirigeable, on peut les contrôler et il n'y a aucun problème. Donc si vous avez un serveur web qui est allumé, 48 heures, on a ça. Alors on a ça, on a par exemple des systèmes de contrôle. Donc ça c'est des VNC par exemple, des serveurs VNC, donc il y en a quand même 2700 à tourner sur le net, hein. Et donc on a un centre de contrôle, là, je sais pas ce que c'est du biogaz, un truc comme ça, donc pareil, je peux piloter, arrêter la centrale, etc. En Croatie j'ai par exemple, ah bah tiens,
c'est moi un imbécile qui s'est amusé,
voilà. Donne-moi l'intégralité de tous les Unihost, de toutes les interfaces Unihost qui existent sur le planète, ouais. Donc j'en mets 1113 à disposition. La brique internet par exemple. La brique internet, si vous connectez votre brique internet sur le net, hop, 48 heures après, vous êtes dans Shodan et je sais que vous avez un Unihost chez vous. Et donc, si jamais vous avez une faille de sécurité, ben, j'ai plus qu'à aller, ou vous avez laissé le mot de passe admin par défaut par exemple. Si vous avez laissé le mot de passe admin par défaut, sous 48 heures, j'ai une nouvelle machine qui apparaît, j'ai plus qu'à me connecter dessus, j'installe ce que j'ai envie et hop, j'ai un joli botnet. Alors, j'ai dit Unihost, mais il y en a plein qui me disaient, ouais, mais c'est pas juste. Ouais, mais Cozy Club, c'est pareil, hein. Je bosse pour eux, hein. Cozy Club, ben voilà. J'ai 527 Cozy Club qui sont dans la nature. Et pareil, si le login par défaut est pas bon, ou j'ai une faille de sécu, bah, allez, c'est pas rigolo, quoi. Et Nextcloud, même chose, hein. Tous les 773 Nextcloud, bah, je les trouve comme ça. Et...
Il y en a que 700.
Alors après, c'est que les publics, c'est, il y a des critères un peu spéciaux pour qu'on puisse les voir. C'est-à-dire qu'il faut que le Unihost, et je dois les avoir mis derrière d'ailleurs. Voilà. La seule parade, en fait, pour éviter ces trucs-là, c'est avoir un contenu vierge sur le VOS que vous servez par défaut. Parce que là, le problème, c'est qu'en fait, quand vous tapez l'adresse IP, bah, vous tombez sur la page de Unihost. Si vous avez un VOS qui dit juste It Works, bah, il peut plus savoir qu'il y a un Unihost. Et donc du coup, c'est d'avoir un VHost Apache par défaut qui sert toutes vos pages, qui renvoie vers une page vide, et d'avoir votre contenu, chacun de vos sites internet dans un autre VHost, et du coup, quand on attaquera par l'adresse IP, on tombe sur la page vide et pas sur le contenu. Alors ça suffit pas, parce qu'on va le voir derrière, il y a une parade. Hein. Et en particulier, ce qu'il faut aussi savoir, c'est par exemple, c'est ce qu'on appelle pas de SAN sur TLS. Donc SAN, c'est les... Dans TLS, il y a deux manières de dire qu'un certificat est valide pour tel nom de domaine. C'est soit ce qu'on appelle dans le subject, donc le sujet du certificat, on peut dire c'est valide pour CN égale, donc common name égale le nom de domaine. Mais on peut aussi dire, on peut aussi rajouter, parce que des fois on a des certificats, en particulier sur Let's Encrypt, qui sont valides pour plusieurs sous-domaines, ben du coup on va les rajouter derrière, c'est ce qu'on appelle les SAN. Donc dans le SAN, on va dire c'est aussi valable pour telle adresse IP, tel nom de domaine, etc. Et donc du coup, Shodan, bah, ils sont capables de collecter ça. Parce que quand ils vont accéder au serveur par le port 443, ils vont récupérer le certificat TLS, ils vont voir qu'il est valide pour tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine, et ben il n'y a plus qu'à les essayer, les domaines derrière. Et donc du coup, je vais lister tous les VOS de la machine. Et donc même si vous avez une page vide avec un certificat, vous avez une page vide, vous avez fait une page, enfin vous avez une page vide avec du TLS, si vous avez un certificat qui contient l'URL de votre UNHOST, il est sur Shodan. Donc du coup, la parade, c'est pas de pas utiliser de SAN sur TLS, c'est-à-dire un certificat TLS par sous-domaine. On n'utilise jamais un certificat avec plusieurs domaines dans le certificat. Et avec Let's Encrypt, il suffit d'en générer un par sous-domaine et de faire pointer chaque sous-domaine sur un et un seul certificat. Comme ça, quand je tombe sur le certificat par défaut, bah, j'ai un nom bidon dedans, parce que de toute façon, il n'est pas valable, donc je m'en fous. Je mets Toto, Tartampion, Localhost, peu importe. Et c'est que quand je connais explicitement le nom de domaine de mon UNHOST ou de ma page admin ou autre, bah, du coup, là, je tomberai sur le certificat avec uniquement ce nom de domaine dedans. Donc, je ne peux plus faire le listing des services comme ça. Alors ça, c'était vrai jusqu'à il y a quelques temps. Parce que depuis, ils ont inventé Certificate Transparency. C'est une obligation de la part des autorités de certification de dresser un annuaire de tous les certificats qu'ils génèrent. Et donc en particulier, si vous allez sur certé.sh que vous rentrez imiril.fr, vous avez la liste de tous les certificats avec tous les noms de domaines que j'ai générés. Et donc vous savez que bah, même mes sites d'administration, je ne sais plus si j'en ai mis un là-dedans. Il y a des trucs qui ne sont pas publics en fait dedans. C'est quoi que là, si, je pense. Ah non, mon poche ne devait pas être public, par exemple. Mon poche ne devait pas être public, et ben voilà, comme ça, vous savez que voilà, j'ai un poche, j'ai un links, c'est un raccourcisseur de lien, j'ai mon cloud, ben, mon ex-cloud, il est là. J'ai mon radical, ça c'est mon serveur de calendrier, il apparaît là. Et pourtant, c'est pas des services publics. Et donc, du coup, la parade pour ça, alors il y en a qui se sont dit, oui, bah, il suffit de pas utiliser d'autorités de certification qui font du certificat de transparency. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, et ça deviendra de toute façon obligatoire. Donc, la seule parade aujourd'hui, c'est pour les choses qu'on ne veut pas publier sur Internet, il faut utiliser un certificat personnel. Donc, monter son autorité de certification personnelle, qui émet des certificats, et comme ça, il n'y a pas de liste publique sur le net, et vous n'avez pas de problème. Et comme vous avez une autorité de certification, bah, du coup, vous n'avez pas à valider toutes les alertes de sécurité à chaque fois, vous installez votre autorité de certification dans le navigateur, et vous n'avez plus de problème là-dedans.
Notre autorité de certification, il faut qu'elle soit certifiée elle-même.
Non, parce que suffit de l'autorité de certification, il suffit de l'insérer dans le navigateur, et c'est bon, elle devient autorité de certification.
C'est
c'est les autres utilisateurs, mais du coup, généralement, là, on parle quand même de choses qui vont plutôt être du domaine privé, donc du coup, c'est les administrateurs du site, ça va être c'est des choses où on arrive quand même à contrôler où est-ce qu'on met la CA, et puis il suffit juste de la transmettre, voilà, t'es administrateur système de l'instance, je te file le certificat, tu l'installes, et puis on n'en parle plus. Et ça, c'est, enfin, Shodan, aujourd'hui, ça fait un carnage.
C'est une mine d'or.
Vous voulez attaquer des machines, c'est en 10 minutes, vous avez des botnets, c'est con que j'ai pas les caméras, j'ai pas le chiffre.
C'est payant, je crois, au bout d'un certain moment.
Ouais, enfin, il y a un compte gratuit qui permet de faire quelques recherches, et après, c'est effectivement, payant. C'est payant. Mais Zenmap et Scan.io étant publics, Zenmap, c'est du logiciel libre. Hein. Tu l'installes sur ta machine et tu refais la même chose que ce que Shodan y fait. Et c'est même plus simple. Moi, c'est comme ça que j'ai scanné, j'ai fait un article de blog là-dessus, j'ai scanné l'intégralité de tout de VNC, et je l'ai fait avec Shodan, j'avais pas accès, puis j'avais envie de m'éclater. J'ai fait du Zenmap, j'ai analysé les données, j'ai refait mes crawlers derrière, et j'ai récupéré, je sais plus combien, plus de 10 000 ou 20 000 serveurs VNC publics sans mot de passe.
C'est discret, ça ?
Alors, c'est très discret, parce qu'ils peuvent pas voir. Déjà, Zenmap ne fait pas de vraie connexion TCP. Enfin, il va juste tester, justement, le SYN SYNAC, il envoie juste un SYN s'il voit une réponse auquel pour arriver. Et donc, du coup, ça apparaît pas dans les logs. Et en plus, derrière, comme tu sais que le port est ouvert, par exemple, sur VNC, c'était faire une capture d'écran de VNC, donc c'est un appel VNC, j'ai pas besoin de brute forcer. J'ai pas de test de tous les mots de passe, etc. Donc, du coup, c'est une requête. Et donc, ça fait, c'est un serveur sur Internet qui m'a pingé, et puis... Alors là où c'était moins discret, c'est quand je me connectais sur les VNC de Windows Server qui étaient allumés, parce que du coup quand ça popait, ou TeamViewer, parce que du coup quand ça popait, t'avais le pop-up qui apparaissait, hey, il y a quelqu'un qui est connecté sur ma machine. avec ça, c'est, enfin, aujourd'hui, les attaquants, ils se goinfrent avec du shonan, en fait. Parce que la moindre faille publiée sur Internet, ou, enfin, publiée sur Internet ou en zéro death, c'est-à-dire que ça passe sous le manteau par le Darknet, vendu avec des bitcoins, livré à l'Assemblée nationale, et ben, les failles, ils vont sur shonan, ils cherchent toutes les machines qui répondent à tel critère, et après, ils font, soit shonan leur donne quasiment la liste toute faite et compagnie, soit derrière, ils vous font des outils d'analyse pour trouver les bonnes versions qui répondent bien à la faille, etc. Mais généralement, avec Shodan, t'as la liste complète. De moi, tous les WordPress avec la version 2.4.6, ouais. ça le sort. Et du coup, t'as ton petit exploit à côté, tu branches Shodan avec ton exploit, t'as un botnet de 10 000 machines en 10 minutes. Quoi. Et aujourd'hui, ça, c'est une véritable catastrophe. Quoi. On trouve tous les VPN de boîtes, de compagnies, de grosses entreprises ou tout ça, tu les trouves comme ça. Et avec des sécurités, j'avais bossé chez un très grand groupe qui fait du bâtiment et d'électrique. Leur VPN avait été découvert comme ça, et tu regardes la sécurité, il n'y en avait quasiment pas. Quoi. Tous les suites de sécurité étaient pétées, il n'y avait pas d'authentification forte, le mot de passe était public, c'était le VPN qui avait accès à toute l'administration système, à toute la comptabilité, tous les ERP, tous les CRM, c'était open barouche. Et donc ça c'est marrant. Ça c'est très marrant. Et en particulier aujourd'hui, par exemple, sur Younost et Labrick et Cozy Cloud et tout ça, je me suis fait un peu bâcher et un peu troller sur le sujet, parce que je leur dis, faites gaffe à ce que vous faites. Si aujourd'hui ça marche, c'est parce que vous n'êtes pas nombreux. Et vous prenez vous mettez des Younost, des briques internet en vente à Leroy Merlin, je me retrouve avec 20 000 ou 30 000 Younost dans Shodan, j'ai les pirates qui vont commencer à venir regarder. Parce que pour... Il y en a combien? Ouais, quoi que 1113, ça commence à devenir un petit botnet, quoi. Mais si j'en ai 10 000 ou 100 000, c'est bon, je les revends après au marché noir sur le Darknet, c'est fini. Ouais, non, mais c'est en fait le message que je passais, et d'ailleurs j'ai une conférence sur le sujet à Vannes la semaine prochaine, et ça sera remis en ligne si ça vous intéresse, et c'est justement les dangers de l'auto-hébergement face à ce genre de menaces. Et qu'aujourd'hui, vendre de l'auto-hébergement, on est presque en train de vendre, c'est criminel presque. Parce que les personnes qui sont en face, quand on est un admin 6 ici, je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce que les gens sont formés, viennent à ce genre de conférence, savent ce qu'ils font, seront capables de réagir. Mais monsieur Dupuis-Morizet qui repart avec sa brique internet, qui la branche chez lui à la maison, je suis à peu près certain que dans 48 heures, il vient faire du brute force de mon CSSH à la maison.
Vaut mieux installer sur les hébergements pièce par pièce.
Ouais, alors les possibilités, c'est soit effectivement de faire des systèmes vraiment isolés qui ne se communiquent pas avec l'internet. Mais généralement, c'est compliqué parce que les gens, ils sont quand même contents de. Je regarde avec ma caméra connectée, je peux regarder mon chat qui boit sur sa fontaine connectée et je sais exactement la quantité de décilitres qu'il a bu. Ouais, et j'ai pu recommander du lait avec le frigo connecté qui était à côté. Les gens aujourd'hui se goinfrent avec ce genre de merde. Et on a vu récemment, enfin le truc, j'y ai pas cru, j'ai cru que c'était un 1er avril. Quoi. Le vibromasseur à caméra connecté. Une caméra, c'était sur le bout, donc filmer l'intérieur, voilà, c'était, et en public, le wifi était public, le mot de passe était public, et c'est sur Shodan, quoi.
J'allais te demander justement si t'avais trouvé des caméras sur IP intéressantes. Je n'osais pas te poser la question.
Ah non, mais en caméra IP intéressante, j'en ai trouvé. Hein. Alors, pas du sex-face connecté, mais par exemple, des caméras de surveillance de bâtiment. On voit du coup le gardien, où est-ce qu'il est. Et du coup, c'est vachement facile d'aller cambrioler parce que tu sais, tu suis les déplacements du gardien. Quoi. Ah ouais.
J'ai des particuliers, caméra qui filme la porte et tout, donc de sécurité d'un particulier. Sauf qu'en plus de ça, tu pouvais la diriger.
Tu pouvais voir qu'il y avait personne dedans.
Le problème aussi, c'est que beaucoup, comme c'est facile à installer, caméra IP, il y a beaucoup d'amateurs qui se font passer pour des sociétés d'installation. Moi, je connais un. Et qui installe les caméras IP en tant que service de sécurité, alors que voilà, au niveau sécurité, c'est trop bien.
Et l'auto-hébergement, du coup, si ça marche bien, c'est presque, en fait, on est presque, les cryptos, la sécurité, on est presque à demander à ce que l'auto-hébergement ne fonctionne pas pour éviter ce genre de merde. Parce que ce qui s'est passé avec Mirai et les caméras connectées qui ont attaqué OVH, si c'est des briques internet, c'est le même résultat.
Ou les ampoules là.
Les ampoules connectées. Ouais. Et le problème, c'est que pour bloquer ça, parce que là on parle d'administration système, donc c'est relativement simple à bloquer, et vous êtes une personne lambda qui a acheté une caméra connectée, quand on regarde la sécurité qu'il faudrait pour arriver à avoir un truc de sécurisé, personne ne l'achèterait. Il faudrait que c'est capable. Alors attends, tu vas te connecter en DHCP sur ta bécane. Alors attends, voilà l'adresse IP. Va sur ta box pour récupérer l'adresse, déverrouille le truc, rendre le mot de passe qui est long comme ça parce qu'on n'a pas pu mettre admin sur ton mot de passe par défaut. Qui du coup en plus va être unique. Donc ça veut dire qu'il faut que nous on se galère à imprimer un livret par boîtier et à les associer correctement parce que bah, le mot de passe imprimé sur le livret c'est valable que pour un seul des boîtiers. Enfin, déjà ta lampe connectée doit te coûter 2000 euros. Et en plus, toi, tu vas passer 2 jours à l'installer, quoi. Donc, c'est... Aujourd'hui, si ça marche, c'est justement parce que c'est simple et que c'est du plug and forget. Et c'est une véritable catastrophe. Mais on commence à faire ça, justement, c'est un peu la suite derrière, c'est qu'on fait la même chose, un peu pour notre administration système, avec les saloperies du style Docker, Snap ou Go. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un truc bah, qui est un peu le... J'aurais tendance à dire, oui, c'est un peu la suite de l'Internet of Shit, c'est... Les admins de sont devenus aussi feignants les utilisateurs. Et ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Tiens, j'ai envie de monter typiquement un Mastodon, un forum discourse, un serveur de mail. Donc c'est vachement bien d'aller taper sur l'image Docker toute faite, toute chaude, qui est dans un coin là-bas, qui te fait de l'œil, que tu installes avec Docker Run, serveur mail. Ah bah ça marche plus bien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances comme ça. Donc il y a Docker qui fait de la virtualisation, enfin de la containerisation pour être plus exact. Snap, qui est un espèce de format de paquet fait par Ubuntu, qui est un peu dans le même genre. Tiens, t'as un paquet tout fait là, tu l'installes, ça marche. C'est isolé, c'est soi-disant safe et compagnie. Et puis, de manière un peu plus nuancée, il y a Go, aussi le langage de Google, qui dit que, bah tiens, t'as un binaire, tu les poids là, tu l'exécutes, ça marche. Et dans le binaire, on t'a foutu du OpenSSL, du Apache, du machin, tout est binaire, tout est packagé dans ton binaire. Alors, déjà, ça repose généralement sur des trucs exotiques. Alors l'anecdote que j'aime bien, c'est Docker, ils ont besoin justement d'un truc qui démarre vite, qui soit léger, parce que j'ai pas envie de télécharger 2 gigas, une image binaire de 2 gigas pour récupérer juste un petit forum qui fait kikou. Donc ils sont partis sur des distributions, la distribution Alpine, qui est effectivement un truc super léger, ça fait 5 mégas, ça démarre en 10 secondes, il n'y a rien dedans, c'était génial pour faire des images. Alpine a été conçu à la base pour développer des kernels. Effectivement, on n'avait pas envie d'avoir un système qui boot en 20 secondes, en 2 minutes, parce qu'on reboot 40 000 fois. Ils avaient viré aussi plein de choses, parce qu'ils n'utilisent pas, par exemple, la librairie standard, la libc standard. Le développeur d'Alpine s'est dit, ouais, en fait, j'aime pas cette libc, je vais redévelopper la mienne tout seul avec mes petits doigts. Donc il a fait ce qui s'appelle Muscle, qui est une libc qui n'est pas standard, qui n'est pas testée, qui n'est pas éprouvée, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas compatible. Donc avec Alpine, il faut compiler explicitement tous les logiciels pour pouvoir compiler, pour pouvoir la faire tourner avec Alpine. Si vous prenez le binaire Apache et que vous le lancez sur Alpine, il va gueuler parce que vous n'avez pas la bonne libc. Comme c'est pas compatible, bah, des fois vous pouvez pas compiler. Typiquement sur Alpine, vous pouvez pas compiler le JDK parce que ça marche pas. Ils utilisent des trucs de GCC qui n'existent pas sur Alpine. En gros, c'est un truc qui est... c'est yolo, quoi. C'est le bordel. C'est un truc, ça, vous savez pas ce qui tourne dans votre machine. Je sais plus, j'ai pas mis d'image, non. Est-ce que j'en ai mis ici, j'en ai mis une après. Déjà, c'est des trucs super exotiques qu'on maîtrise pas. Comme on disait tout à l'heure, d'installer un OS où on installe vraiment les dépendances qu'on a envie, c'est quand même bien, quoi. Là, on a un paquet binaire, on sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas ce qui tourne, c'est pas les trucs compatibles par rapport à avant. Snap fait exactement le même problème, hein. Go, encore pire. Et surtout, en fait, ça transforme le développeur en mainteneur. Enfin, le développeur du binaire, en fait. Enfin, soit du conteneur Docker, soit du paquet Snap, soit du binaire Go. Parce que, comme tout est empaqueté dans le binaire, bah, quand il y a une faille de sécurité, on ne peut pas patcher le libssl qui est foutu dans le binaire ou dans l'image Docker. Donc, du coup, le développeur de l'image, à chaque fois qu'il y a une seule de ses dépendances, qu'il y a une faille de sécurité, il faut qu'il relivre une version de son image complète. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un OpenSSL à péter, un Apache à péter, un truc à péter, un machin à péter, un truc à péter, Ça veut dire que vous, vous devez retélécharger la grosse image ISO de Docker et la faire tourner parce que bah, c'est pas le apt install, le apt upgrade qui va juste changer le libssl, je redémarre mon Apache et je suis sécurisé. Il faut que je rechoppe une version complète de l'image avec la migration des données qui va avec. Enfin, c'est un vrai bordel. Et généralement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la communauté Docker, Snap ou Go, c'est que généralement, bah, les développeurs, ils n'ont pas envie de faire le boulot de mainteneur. Et donc, ils le font pas. Et donc, on se retrouve avec des images qui datent de Mathusalem, qui embarquent des versions de OpenSSL qui ont 2 ans, tant dire qu'elles sont en clair, vu la durée de vie d'un livrable SSL. Et donc, bah, c'est blindé de failles de sécurité, c'est des trucs pas à jour, c'est pas maintenu, c'est ni fait ni à faire. Et moi, c'est ce que j'ai appelé le YOLO BY, c'est You Live Only Once, You Infect Everybody. C'est un peu ça, ils ont décidé de le faire en mode à l'arrache, je réfléchis pas sur toutes les problématiques qu'il y a eu sur comment je faisais un gestionnaire de paquets, comment je déployais, comment je gérais mes versions, mais tout l'historique qu'on peut avoir du Debian, du Ubuntu et tout ça. Ils ont tout redéveloppé eux-mêmes, et la sécurité, la mise à jour, pas mon problème. Et typiquement, le genre de truc qu'on va trouver. Alors, je sais pas si ça se voit bien là. Ouais, je sais pas si. Ah ouais, c'est bizarre, il peut.
Zoomer, non,
non, non, je suis à fond là. Par contre, c'est la netteté que je sais.
Non, c'est bon là,
ça répond. Ça, c'est une image en fait de Discourse, donc un forum. C'est un forum en ligne qui est un peu connu aujourd'hui, qui fonctionne bien, qui change un peu les vieux PHPBB et tout ça. Et donc, le seul livrable officiel qu'ils fournissent, c'est une image Docker. Et quand on regarde la compilation du Docker, c'est je viens compiler une lib, en fait, Brotli, qui est une espèce de lib qui fait de la compression à la volée pour le HTML. Donc il y avait zlib et zlib-gzip qui sont inclus dans les navigateurs, et puis il y a une nouveauté à la mode qui est même pas encore dans les RFC, qui est totalement pas standard, qui s'appelle Brotli, qui est effectivement super efficace, et compagnie, et ils se sont dit, bah YOLO, on va l'embarquer dedans. Donc je fais des git clones de Brotli, je récupère le paquet d'Nginx dans un coin du serveur, je fais aucune vérification d'intégrité, hein. Signature GPG je connais pas, MD5 ou SHA-1 je connais pas, je fais des installs de APT, je fais des APT install, je marque le truc, je le bloque parce que derrière je vais le virer, et puis je fais la compilation à gros coups de trucs dégueulasses, et puis je viens faire la compilation et je déploie mon Nginx par-dessus celui que je viens d'installer dans Debian. Et vous avez ça, qui tourne dans des machines de prod. Donc il n'y a pas de version. Quelle version de Nginx je fais tourner, je ne connais pas. Brotli, je chope directement le master. Hein, je prends même pas un tag ou une branche. Ou non, master, quoi. Donc 10 minutes après, si quelqu'un fait un commit, je ne sais même plus déjà ce que j'ai sur une machine. Et donc voilà, version intégrité. Alors ici, j'ai un slash TMP. Ouais, CD TMP. Pourquoi je vais dans TMP, quoi? Et en plus, j'ai dû foutre un... Oui, parce que TMP, du coup, il est par défaut, il est en lecture-écriture pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je récupère des binaires. Si ma machine est infectée, bah, de toute façon, le machin, il viendra écrire en TMP, il écrasera les fichiers, il compilera de la merde. Et apt install, voilà, j'installe un paquet, puis je le fous en all pour le réécrire par-dessus. Enfin, c'est... Aujourd'hui, il y a des gens, le discourse, je sais plus combien il y en a qui ont installé ce genre de trucs sur leur serveur. Et donc, il y a une faille de sécurité, typiquement, sur... Demain, on imagine que tous ceux qui ont installé un discourse, par exemple, il y a une faille dans OpenSSL, dit voilà, sur OpenSSL temps, il y a une faille.
Pourquoi ils ont fait ça? C'est un truc aussi mal foutu, ils ont quelque chose à vendre.
Non, mais là, les tas de Docker, de Snap et de Go, c'est ça. Hein. Ce qu'il y a en prod aujourd'hui, c'est des trucs comme ça. Hein. c'est juste qu'ils ont dit, on n'en a rien à foutre de la sécurité. Ils ont fait des nouveaux systèmes qui s'en contrefichent complètement de la sécurité.
C'est vendu comme
étant plus léger, c'est vendu comme étant super léger, tu vas pouvoir refaire des rollbacks, tiens, je me suis planté de version, je peux revenir en arrière. Alors ils ont oublié plein de morceaux, hein. Genre comment je fais pour revenir en arrière sur une version de base de données que j'ai déjà migrée. Genre j'ai désingué une colonne, et comment je fais pour revenir en arrière.
Il y a un intérêt derrière.
Non ?
Pourquoi
tu as du
boulot à faire ?
Aujourd'hui, l'intérêt, il est justement ce qui est l'intérêt de l'Internet of Shit, c'est je déploie des trucs super rapidement, en masse, et j'installe un discourse ou un mastodon. Aujourd'hui, pour une image Docker de mastodon, Docker get mastodon, Docker run mastodon, ah ça y est, j'ai un mastodon. Alors que si j'avais l'install à faire à la main, et moi je me suis tapé l'install de mastodon à la main, ouais, c'est... Il faut être admin 6, quoi. Parce que je vais devoir installer du RAID, je vais devoir installer du Node.js, je vais devoir compiler les dépenses, cloisonner bien ça comme il faut, le faire. Ouais.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que ça se répand comme tout ce qui est Docker, ça se répand super rapidement.
Bah, Docker snap Go. Enfin.
Ouais.
Go, c'est pareil, Go, c'est même pire aujourd'hui parce que c'est en fait ça compile en binaire en fait statique, donc tout est embarqué dans le binaire. Et sauf qu'en fait, ils n'ont pas de gestion de dépendance, c'est-à-dire que tout tape sur des dépendances master dans GitHub. Donc le moindre commit qui est fait par n'importe quelle équipe de développement de n'importe quelle dépendance du binaire, ben ça peut casser quelque chose. Ça peut, on sait même plus ce qui tourne en fait. Puisqu'à l'instant, il faudrait regarder à l'instant où on a compilé quelle était la version des commits dans GitHub pour être capable de reproduire le système.
Enfin, ça a quand même un intérêt pour les gens qui font ça, c'est qu'ils vont pouvoir rentrer dans les machines à paix
avec le drone. Ah ouais.
C'est ça en fait.
Bah, je pense pas que ça soit méchant.
Non, parce que c'est pour, ils ont pas une volonté méchante.
C'est pour faire un service facile.
C'est faire un service facile, c'est Linux.
Tout simplement.
C'est pour ça que c'est le pendant l'Internet des objets, en fait. L'Internet des objets s'adressait à l'utilisateur, et en fait, ces technos-là s'intéressent à des développeurs, à des administrateurs systèmes. Et on se retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats là-dessus à la sortie de Mastodon. Il y a eu beaucoup qui ont écrit des blogs là-dessus en disant, mais c'est ininstallable, votre Mastodon, c'est super compliqué. Attends, tu m'étonnes, tu viens d'un environnement PHP MySQL, on te demande d'installer une stack Ruby, Node.js, ouais. WebSocket et Nginx, quoi. Perdu, les gars, quoi. Et donc, ouais, mais non, c'est vachement simple. Moi, je préfère faire un FTP, déployer mon site web en FTP sur PHP, ça marchait bien. Ouais, mais c'est pas du PHP, Mastodon, quoi. On fait pas la même chose avec. Et aujourd'hui, on en est là, et aujourd'hui, toutes les technologies, et je pense que c'est un peu le... C'est un peu le gros truc du moment, c'est les administrateurs, il faut vraiment se poser la question quand on voit une nouvelle techno apparaître. Quoi. En termes de sécurité, comment ils ont pensé le truc?
Un truc comme Mastodon, ça peut pas être packagé un de ces jours?
Bah, en fait, ça sera compliqué à packager. Des systèmes comme Arch vont arriver à le packager proprement et rapidement, mais Debian, si un jour on a un paquet Debian Mastodon officiel, je pense qu'on n'aura plus le même projet Debian qu'aujourd'hui. Parce que le projet Debian refuse d'intégrer tout code qui ne soit pas packagé proprement. Donc toutes les dépendances de Mastodon, Rails, Ruby, toutes les dépendances Rails et toutes les dépendances Ruby, il faudra d'abord commencer par les packager en Debian avant de commencer à packager Mastodon. Et vu la tonne, il y a quand même 1 giga de dépendances Ruby et 1 giga de dépendances Node.js, le temps que tout ça soit packagé Debian, ça n'arrivera pas. Donc les seuls packages qu'on aura Mastodon, ça sera des trucs non officiels, un peu à l'arrache. Pas forcément dégueulasse, hein, en termes de sécurité, c'est peut-être fait proprement. En tout cas, ça ne sera jamais intégré dans les distributions standards. Quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gros systèmes, en particulier Python, Node.js, Ruby, sont très peu disponibles dans Debian, parce qu'il y a ce problème de dépendance, en fait, que... un espèce de truc transitif, qu'on n'a pas le droit d'intégrer une librairie directement dans un paquet. Donc il faut sortir la librairie du paquet et donc packager la librairie. Et donc on se tape comme ça des trucs ultra longs jusqu'à arriver à des trucs qui bloquent aujourd'hui comme Ruby ou Node.js où c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des paquets officiels ou des liens. Et après en suivant des docs, Mastodon par exemple c'est pas compliqué en soi, enfin il n'y a rien qui... ça casse pas des briques quoi. Il faut juste prendre son temps.
Alors l'install c'est un truc du genre mec installe, enfin comme le truc...
Ouais, enfin c'est pas mec, mais c'est autre chose, c'est Node.js, enfin ça va être npm get, rbenv get, et puis il va récupérer tout ce qu'il faut, quoi. Mais il faut juste suivre, effectivement, ça demande de comprendre un peu, surtout, le problème en général, surtout quand on fait de l'admin6, c'est pas d'arriver à installer le logiciel, c'est de comprendre les erreurs quand on n'arrive pas à l'installer. C'est là le plus gros problème. Parce que, effectivement, suivre un tuto, si tout se passe bien, je fais copier-coller, et puis ça marche bien. Mais le truc, il marche pas. J'ai une erreur, j'ai mal configuré mon truc. C'est là où on passe du temps. Et j'ai encore eu le cas hier, quelqu'un qui voulait installer Mastodon, quoi. Il a voulu installer, il a suivi un tuto. Ouais, là, j'y arrive pas, je comprends pas, il y a des erreurs, je comprends pas. Il a sorti un paquet de logs. J'ai vite vu qu'il avait pas GCC d'installer sur la machine. Et lui, il avait un fichier de log qui faisait 40 000 lignes sur de la stack Ruby qu'il connaissait pas. Bah là, ouais, tu pleures, quoi. Et l'admin 6, ouais, c'est la gestion des erreurs, c'est installer une machine sur un environnement que tu maîtrises. Normalement, ça devrait passer. Mais dès que t'as le moindre truc qui marche pas, et tu vas toucher à plein de choses, ça va être le DNS qui est pété, ça va être ta base de données qui démarre pas, ça va être tes droits, tes permissions qui vont pas être bons, parce que généralement t'installes en route et puis bah ouais, ton application ne tombe pas en route. Ça va être les chemins qui sont pas bons, souvent tu vas galérer justement avec à faire communiquer les trois morceaux en même temps. Parce que du coup, t'as des process Ruby, donc avec l'utilisateur Ruby qui doivent communiquer avec du Node.js, avec l'utilisateur Node.js, qui lui-même tout ça servi par Nginx qui fait tourner WWData quoi. Bah, si t'as jamais entendu parler d'ACL de ta vie, là t'es mort. Et donc et voilà, c'est le genre de truc qu'on a aujourd'hui un peu partout. Et vous pouvez prendre plein d'images Docker comme ça, hein, et c'est des images officielles, hein, c'est pas des trucs de développement, il y a de la prod là-dessus. C'est à peu près dans cet état-là. Donc du coup, quand même, il y a des solutions. Hein. Parce que Docker, le but, c'était quand même d'isoler, c'était de pouvoir avoir... par exemple, Mastodon, c'est assez intrusif sur le système, justement, parce que ça utilise des choses qui ne sont pas packagées pour Debian. Donc vous allez devoir installer manuellement des dépendances Python, des dépendances Node.js, des dépendances Ruby. Si vous faites ça sur votre serveur standard, vous risquez de le casser. Parce que vous allez avoir des librairies que APT s'attendait pas à trouver, ou alors des conflits de version entre celle du système et ce que vous avez installé. Et en fait, le but premier de Docker, c'était un peu ça. C'était de pouvoir monter des espèces de machines dans la machine. Comme ça, j'avais ma machine propre, mes services propres, Debian. Et puis dès que j'avais un truc qui passait pas dans Debian, ben, je me montais un petit truc à côté. Là, je faisais mes trucs un peu à la crado, entre guillemets. Et puis, j'avais pas de problème, je conflictais pas avec le système. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Docker. Il y a un truc qui fonctionne très bien sous Linux, qui est intégré de base, qui s'appelle Elixir, qui est de la gestion de conteneurs à la Docker, et vous allez démarrer un vrai Debian, un second Debian dans votre système, et vous allez vous retrouver, comme à la maison, à pouvoir installer un SSH, à pouvoir installer vos applications, et surtout à pouvoir pourrir le système comme vous voulez, sans risquer de péter votre serveur officiel. Et en particulier, vous installez Mastodon là-dedans, vous allez pouvoir tout péter au niveau Python, Ruby, Node.js, vous en foutez. Vos applications Ruby, Python, standard continueront à tourner. Et donc vous avez l'isolation, donc c'est dans des disques, vous pouvez mettre des disques carrément dans votre file system d'origine, vous pouvez utiliser du LVM, vous pouvez monter, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Vous êtes sur un vrai Debian standard, complètement habituel, par rapport à Docker, qui demande de revoir toutes les commandes, de rechanger la stack réseau. Là, vous allez gérer votre réseau avec du ifconfig, avec du etc network interface, avec du root, avec du IP. Vous allez communiquer avec votre machine réelle, avec de la stack internet standard, par les IP privés, 10 prend quelque chose, ou 192 prend quelque chose. Vous n'allez pas être dépaysé. Alors, vous allez Docker, bon courage pour faire communiquer deux VM entre elles. Ils ont une stack réseau à eux, parfait à eux. Et du coup, il n'y a rien de standard.
Et en consommation de ressources?
C'est très léger. De Elixir, ça consomme quasiment rien. Après, ça va être la consommation de vos applications à l'intérieur. Mais en surcouche, en fait, ça consomme que dalle. Il y a le mini-système Debian de base, donc c'est quelques... Ça demande une centaine de mégas, je crois que ça va faire 55 mégas, 60 mégas, parce qu'il y a besoin d'avoir l'OS standard dedans. Mais derrière, ça consomme pas de mémoire supplémentaire, ça consomme pas de CPU supplémentaire. Donc ça... J'arrive même pas à comprendre d'ailleurs pourquoi ils sont... passer sur Docker quand on a Elixir.
Docker est basé sur Elixir.
À la base. Au départ, Docker était basé sur Elixir, mais après, ils ont tout redéveloppé. Et donc, ils ont changé. Ils ont développé leur système, leur file system Docker, qui s'appelle OverlayFS. Ils ont développé leur couche réseau, qui s'appelle Docker Compose. Ils ont développé la gestion des processus, parce que du coup, ils ont un seul processus. On ne peut pas lancer plusieurs processus dans un Docker. C'est un seul exécutable. Alors que là, dans Elixir, vous avez un système D ou un système... un système 5 init standard. Donc vous pouvez démarrer un log rotate, un promon, un log watch, un rk enter. Alors que sur Docker, vous voulez avoir SSH et votre application, vous allez pleurer. Parce que c'est pas prévu. On ne peut pas lancer deux exécutables. Donc ouais, Elixir, donc ça c'est le truc qui marche bien, je comprends pas pourquoi ils sont passés sur autre chose. Par contre, faut faire gaffe, c'est que Elixir, ça reste du conteneur et pas de la virtualisation. Donc du coup, il n'y a pas d'isolation aussi forte que si on avait des machines virtuelles, type VirtualBox, VMware, vSphere ou autre. Donc en particulier, une application, en tout cas par défaut, une application root du conteneur est aussi root sur la machine physique. Donc si jamais votre processus Apache tourne, parce qu'il y a quand même un process root pour démarrer Apache, si votre Apache est troué sur le conteneur Elixir, potentiellement l'attaquant peut sortir et arriver route sur la machine. Donc il y a des mécanismes après pour essayer de protéger ça, en fait, que l'utilisateur route virtuel soit pas le vrai route physique, mais ça, c'est un peu compliqué à mettre en place, faut pas se planter, et puis il y a toujours des attaques possibles. Plutôt que de faire du guest vers host, on peut faire du guest vers guest. Parce que du coup, si c'est le même utilisateur Apache sur deux machines virtuelles, on pourrait quand même passer d'une à l'autre comme ça. Donc en gros, si on est ce qu'on appelle du multi-tenant, enfin si on est monotenant du coup, donc par exemple si Route 66 fait la virtualisation LXC, normalement il n'y a pas trop de problème. Puisque même s'il y a une escalade d'une machine virtuelle vers la physique, ça reste des process Route 66 de l'association et il n'y a pas de souci. Le problème apparaît surtout quand on est multi-tenant, c'est-à-dire qu'on a plusieurs, on va dire, clients qui partagent la même machine physique, parce que du coup, un process route d'une machine route 66 pourrait devenir route sur une machine de l'association d'à côté. Et donc, quand on est multi-tenant, il faut absolument faire de la virtualisation lourde et pas du LXC, donc soit du Xen, du QEMU, du VirtualBox, du VMware, du vSphere, du n'importe quoi que n'importe quel SS2I sera capable de vous vendre.
Non, on a dit virtualisation lourde avec le VirtualBox. Parce que ça, c'est pas orienté, particulier.
En gros, VirtualBox, c'est quand même un truc qui est plus pour un usage personnel que du VMware ou du Xen. Mmh. Mais VirtualBox, vous pouvez très bien installer sur un serveur ou sur une machine à vous. Typiquement, un Raspberry Pi, ça va être un peu petit, mais voilà, sur un serveur, une tour à la maison, vous le contrôlez à distance. Ou avec le clavier, ça marche très bien. Hein. Mais sinon, surtout que c'est simple par rapport à du QEMU, du Xen, où là, ouais, c'est des technologies à configurer qui sont un peu compliquées. VirtualBox, ça marche bien, la gestion réseau est assez simple. On peut brancher des périphériques USB simplement dessus. Enfin, moi, je me sers beaucoup de VirtualBox parce que c'est relativement simple et c'est pas l'usine à gaz qu'est Xen ou VMware. Et surtout par rapport à Xen et VMware, c'est qu'on n'est pas obligé d'installer VirtualBox directement sur la machine. Parce que, je veux dire par là que Xen ou VMware, il faut la machine vierge et on installe un Xen ou un VMware et après on installera nos OS. Alors, en VirtualBox, on installe notre OS, on s'en sert normalement. On peut faire tourner VirtualBox à côté avec une machine. On n'a pas besoin de faire du bare metal de faire en virtualisation. Parce que Xen, typiquement, si veut savoir, c'est pas un DOM 0, c'est mort. On va revenir du coup sur le dernier morceau, qui est encore un peu de TLS, parce qu'on n'a jamais fini ce morceau-là, et on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le fameux problème des autorités de certification. Le problème aujourd'hui, c'est que on est déjà, côté utilisateur, on est sur des contextes de moins en moins sécurisés. On est tous sur notre téléphone portable, on a tous de la 3G, de la 4G, on est branché sur le Wi-Fi, on est dans des endroits beaucoup moins contrôlés qu'avant. Avant, on avait une machine de bureau, point barre, on avait à la limite un PC portable qui était branché sur deux réseaux différents. Mais ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, votre téléphone mobile, je pense que dans une journée, s'il chope 50 réseaux différents, c'est que vous n'êtes pas beaucoup déplacé. Aussi, côté fournisseur d'accès, on a de plus en plus, donc en particulier les opérateurs un peu historiques, donc Bouygues, SFR, Numericable, Orange aussi dans une moindre mesure, s'amusent à faire plein de merde dans le réseau. Donc, l'interception de trafic, du man in the middle, du DNS spoofing, du DNS menteur. Même des fois, c'est pas forcément malveillant, mais ils ont des choix techniques qui sont complètement débiles. Par exemple, chez Numericable de mémoire, les box sont reliées dans un espèce de réseau local. Et donc, en fait, vous pouvez avoir accès au réseau local de votre voisin en passant par la box Numericable. Parce qu'il n'y a pas d'isolation aussi forte qu'avec Orange. Où il n'y a pas de communication entre deux box Orange du même bâtiment. Alors Numericable, ça va circuler partout. Vous pouvez voir les paquets d'upgrade de la box de votre voisin qui se met à jour. Vous pouvez aussi lui envoyer des upgrades malveillantes parce qu'ils font pas de vérification des mises à jour de leur truc. Ben voilà, vous pouvez reconfigurer le réseau de votre voisin pour récupérer sa connexion ADSL à la place de la vôtre. Ou faire du multi-homing du coup en passant par le voisin. Ben voilà, on est sur des trucs un peu dégueulasses. Et on a aussi un gros problème aujourd'hui qui est de plus en plus problématique et qui commence à vraiment faire très mal à TLS, c'est la compromission des autorités de certification. J'en ai parlé tout à l'heure, on a StartSSL et WoSign qui ont en fait émis 2000 certificats malveillants parce qu'ils avaient justement la flemme en termes de sécurité. Il y avait des nouvelles politiques TLS qui s'appliquaient et ils se sont dit ouais, on a la flemme de mettre à jour, donc on va générer 2000 certificats en avance puisqu'on est sur les anciennes normes et comme ça on n'a pas besoin de générer ces 2000 certificats-là sur les nouvelles normes qui nous emmerdent. Et donc Firefox a dit stop. T'arrêtes tes merdes, t'as fait des certificats qui sont valables 10 ans, juste pour éviter d'avoir à mettre à jour par rapport à la sécurité moderne dans TLS. Et donc ils ont décidé, Firefox, Mozilla, enfin Google, tous ces trucs-là, ont décidé de blacklister SSL et WoSign dans les navigateurs. Parce qu'on dit, vous avez déconné, vous dégagez. Sauf que Symantec s'est pointé derrière, et Symantec, on a émis 300 000. Parce qu'ils s'étaient plantés dans leur vérification et donc ils ont émis des certificats pour GitHub, par exemple github.com. Il y avait des gens qu'on connaît qui ont réussi à avoir des certificats en github.com qui étaient complètement valides pour les certificats pour les navigateurs, et donc on pouvait remonter un site internet, récupérer les mots de passe des utilisateurs. Enfin, c'était assez fun ce qu'on pouvait faire. Et sauf que Symantec est too big to fail. Et donc Firefox et Google en sont juste lui dit ouais, t'as pas été gentil quand même, on va te garder à l'œil. Mais ils ne l'ont pas blacklisté. Parce que, bah ouais, StartSSL, c'est des petites autorités de certification, donc ils pouvaient les blacklister facilement. Symantec, c'est quand même le truc qui doit gérer pas loin de 40% de part de marché de TLS, qui doit gérer les administrations françaises, tous les gros FAI, tous les gros trucs comme ça. Donc le blacklister, ça aurait été un vrai bordel dans le réseau. Mais ça aurait été marrant, parce qu'on le hurle depuis très longtemps qu'on a des problèmes avec les autorités de certification. Mais du coup, ils n'ont pas bougé. Et juste après, il y a eu le scandale qui n'a pas fait hurler beaucoup de monde, alors pourtant c'est assez fun. Symantec a racheté Bluecoat. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc Symantec, c'est une autorité de certification qui délivre des certificats qui sont reconnus par les navigateurs et qui affichent un joli logo vert dans les navigateurs. Et Bluecoat est vendeur et fabricant de matériel d'interception d'espionnage massif dans le monde. Et donc en fait, si on cumule les deux, et ben un certificat, parce qu'aujourd'hui Bluecoat est obligé de ruser, il y avait des alertes de sécurité, voilà, c'était un peu compliqué. Mais maintenant il suffira que Symantec file un certificat à Bluecoat, et du coup si on se prend une interception TLS dans la tronche, et ben on ne verrait rien, puisqu'on aurait un certificat émis par Symantec qui est reconnu par un navigateur, et on est en train de se faire intercepter par Bluecoat qui fournit un certificat validé par un navigateur. Et donc ça a fait juste hurler personne. Donc Symantec a bien content, on fait un joli communiqué de presse, ouais, on vient de racheter Bluecoat, tous les cryptos ont fait une gueule jusqu'au rat, jusqu'à plus bas de terre, et ça a posé aucun problème. Après ça, il y a Let's Encrypt qui est arrivé, et Let's Encrypt, en fait, c'est n'importe qui peut faire une demande de certificat. Parce qu'en fait, ils se sont dit, justement, on arrête les problèmes qu'on avait avec les autres certificats, les autres autorités de certification, fallait... donner sa carte d'identité, prouver qu'on était détenteur du domaine, il y avait des processus assez longs, et du coup on va essayer d'accélérer tout ça, parce que comme ça les gens vont pouvoir avoir du certificat gratuitement, rapidement. Et donc ils ont fait toute une API avec validée par des RFC, l'IETF et tous ces trucs-là, et donc on a des moyens de valider qu'on est bien propriétaire du domaine. Mais n'importe qui peut en demander. Et donc il y a des petits malins qui ont commencé à acheter plein de domaines en PayPal, point quelque chose, PayPal-bidule, des noms de domaines un peu bizarres avec des... du PayPal, en fait, écrit PayPal, mais qui c'est pas du P-A-Y-P-A-L, mais des caractères cyrilliques qui ressemblent à du PayPal. Et donc, vous savez pas faire la distinction dans votre navigateur entre du PayPal en UTF et du PayPal en cyrillique. Et du coup, il y a eu, je crois, plus de 180 000 certificats émis comme ça, et qui servent aujourd'hui à faire du spam et du phishing. Parce que du coup, on arrive sur un site, on a gavé tout le monde avec, à partir du moment où il y a un cadenas et une barre verte, vous êtes en sécurité. Et ben les gens ils regardent le cadenas et la barre verte, mais ils ont oublié de vérifier que c'était bien le bon site. Et du coup il y en a plein qui commencent à dégueuler leur compte PayPal sur des trucs qui sont pas PayPal, et il y a du phishing monstrueux, et si vous allez sur le certificat de transparency que je vous ai montré tout à l'heure, vous tapez PayPal dans la barre de recherche, vous allez voir la tonne de phishing qui a lieu aujourd'hui grâce à Let's Encrypt. Et donc on peut imaginer, si votre Route 66 un jour devient... un repère de dangereux crypto-terroristes surveillés par les boîtes noires, eh ben, on peut imaginer que grâce à Let's Encrypt, on peut générer des URL qui ressemblent très fortement à Route 66, ou qui contiennent Route 66, ou qui font passer pour Route 66, avec des alertes de sécurité assez importantes.
Pour vérifier que l'URL soit pas descendue, alors
taper l'URL soi-même. Si je vais sur le site de ma banque, je clique pas sur rien, je tape l'URL de ma banque. Alors, ma banque est un mauvais exemple parce que typiquement, si vous allez sur caisse-épargne.fr, vous tapez caisse-épargne.fr, vous appuyez sur entrée. Et là, vous avez une jolie alerte de sécurité parce que la putain de banque a pas été capable de configurer le domaine caisse-épargne.fr. Il est valide que pour www.caisse-épargne.fr. Ah, il est dans mon site à moi celui-là. Parce que j'ai une liste aussi de tous les trucs tout pourris que je trouve. Et en fait, du coup, c'est ce genre de truc, en fait, c'est que ça remet en cause assez fortement le mécanisme de TLS, en fait, et du coup, le mécanisme des CA. Et il y a pas mal de normes qui sont apparues pour dire on va remettre l'administrateur, en fait, au centre du système. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a les autorités de certification qui sont au centre du bordel. Elles peuvent faire tout ce qu'elles ont envie, elles font de la merde, personne ne leur dit rien. Elles s'associent avec des revendeurs de matériel de surveillance, personne ne leur dit rien. Elles vendent des certificats à la Syrie et à la Libye pour espionner du Google.com et du Microsoft.com. L'ANSSI, donc une autorité française, a émis des certificats pour Google.com. Google a été les voir, ils ont juste dit « Ah, mais non, on faisait des tests ». Donc c'est, enfin voilà, c'est un bordel monstrueux. Et donc il y a pas mal de normes qui sont apparues pour dire « On va dégager les autorités de certification et on va essayer de les faire en sorte que ce soit les administrateurs du site qui reprennent le contrôle sur ces bordels de certificats. » Il y a le seul truc aujourd'hui qui est à peu près utilisable, qui s'appelle HPKP. Donc HTTP Public Key Pining. Le but, en fait, c'est de dire, dans les entêtes des navigateurs, on va dire, voilà, quand tu visites mon site, tu dois t'attendre à avoir cette clé-là, et pas une autre. Enfin, cette clé-là, ce certificat-là, parce que du coup, on peut dire carrément sur la racine, par exemple, moi, je pourrais dire, bah, je dis que ça doit être forcément du certificat Let's Encrypt, ou sur un intermédiaire, ou sur carrément mon certificat à moi, ou la clé. Et donc, quand on va se connecter sur un site, si mon site est sous attaque, bah, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir cette empreinte qui a changé. Donc c'est comme HSTS tout à l'heure, c'est du tofu, hein, c'est la première connexion, on va enregistrer, et puis la deuxième connexion, bah, si on a vu quelque chose qui change, on alerte. Et donc là, si vous revenez sur mon site après et que bah, ça a changé, c'est que vous êtes en train de vous faire attaquer, qu'il y a du boulot code dans la ligne, même si ça a été signé par Symantec, et donc c'est j'arrête tout et je bloque. Donc on peut piner du coup sur les racines. Alors le problème de piner sur la racine, c'est qu'on n'est pas protégé contre l'émission d'un certificat qui viendrait de la même autorité. Donc, par exemple sur Let's Encrypt, si vous utilisez Let's Encrypt, vous ne serez pas protégé d'un faux certificat émis par Let's Encrypt lui-même. Si vous signez sur un certificat intermédiaire, donc en gros c'est des certificats un peu internes à Let's Encrypt qui sert à éviter d'avoir la clé, le certificat autorité qui sert un peu trop, donc ils ont des certificats intermédiaires. Le problème, c'est qu'ils peuvent changer un peu n'importe quand. Et c'est déjà arrivé avec Let's Encrypt, il y en avait qui avaient piné sur le certificat intermédiaire. Let's Encrypt a dit, ouais, mais celui-là, il est plus bon, je passe sur celui-là. Tous les sites ont disjoncté. Donc, du coup, c'est pas forcément recommandé. Le meilleur, c'est quand même de mettre soit notre certificat directement, soit la clé du certificat. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on contrôle, qu'on est vraiment capable de dire que c'est bien ce que j'ai sur la machine, et pas un truc qui dépend d'un quelconque tiers de confiance. Le problème aujourd'hui, c'est surtout si vous utilisez des CDN, ou en tout cas plusieurs machines pour servir votre contenu, parce que du coup, il faut que toutes les machines qui servent le contenu servent le même certificat ou la même clé. Puisque si jamais vous avez un certificat différent par machine, et ben vous allez avoir au moins une des machines qui ne respecte pas ce truc-là, et donc c'est mort, quoi. Vous allez avoir des alertes de sécu. En fonction de si votre utilisateur arrive sur telle ou telle machine finale, ben vous allez avoir des alertes. Donc c'est un peu le truc compliqué quand on commence à faire de la répartition de charges ou ce genre de choses. Ben, c'est que, ouais, faut gérer le déploiement du certificat correctement. Et là, Let's Encrypt n'aide pas parce que le certificat n'est valable que 90 jours. Donc ça veut dire que, par mesure de sécurité, tous les 60 jours, il faut renouveler tous les certificats de tout le parc, de toutes les machines. C'était vachement plus simple quand on avait qu'un an quand même pour le faire. Parce que là, du coup, il faut absolument tout automatiser. Ça veut dire des clés routes qui se baladent quelque part, ça veut dire des mots de passe. Enfin, c'est un peu compliqué à faire propre. Mais on y arrive. Il y a des grosses architectures à mettre en place, mais ça se fait. Au niveau de HPKP, ce qu'il faut bien penser, c'est obligatoirement avoir une épingle de secours. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au minimum 2 entrées dedans. C'est la norme qui indique ça. En particulier, ça permet que si jamais vous avez un problème sur votre serveur, genre votre serveur il crache, vous perdez les clés publiques, les clés privées, les certificats, enfin peu importe, vous avez besoin de remonter une machine dessus, ben vous allez plus pouvoir présenter un certificat qui valide exactement ça, vous allez présenter un certificat qui valide autre chose, qui valide quelque chose qui a déjà été chargé par les utilisateurs, et donc qui ne leur pètera pas les alertes de sécurité en permanence. Et donc du coup, pour ça, ben, le mieux, c'est de générer une clé privée de backup, qu'on met dans un coin sécurisé, une clé USB, enfin, il faut juste que ce soit déconnecté du réseau, et le jour où on a un pépin, ben, on utilise cette clé pour générer un nouveau certificat, pour le déployer, et comme ça, on ne casse pas la chaîne. HPKP, le risque, c'est si jamais vous vous merdez, ben, vos visiteurs ne peuvent plus venir. Parce que si jamais vous, justement votre certificat il change trop vite ou autre, ben il va plus pouvoir se connecter. Et quand on a HPKP ou HSTS activé, on n'a plus le bouton. Voulez-vous continuer sur Firefox? C'est non, t'as pas le droit de passer. Et donc ça peut être violent. Donc il faut vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir. À partir du moment où on a HPKP déployé, on ne doit plus changer ni de certificat, ni de clé, ni les empreintes ici, sans réfléchir longuement. Et vraiment beaucoup réfléchir. Il n'y a pas de retour arrière possible. Et en particulier, en fait, il y a ici un max age qui est indiqué, qui est recommandé à... Alors, je ne sais plus combien ça fait, ça. Ça doit être 60 jours, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est la durée à laquelle un visiteur conservera en mémoire ce qu'il a vu. Donc, du coup, ça veut dire que toute erreur que vous ferez, toute modification que vous ferez, il faut absolument attendre au minimum ce max age-là avant de modifier quelque chose. Donc toujours y aller par saut. Donc en gros, par exemple, si jamais vous voulez virer ce certificat-là, il faut commencer par rajouter une clé de backup, attendre 60 jours, virer le certificat, virer cette ligne-là, attendre 60 jours, et après, pour recharger. Et toujours comme ça, garantir que il faut que tout ce qui a pu se passer 60 jours avant ne casse rien de ce qui est arrivé maintenant dans la configuration. Donc des fois, ça demande de réfléchir un peu. À la longue, on apprend assez vite comment ça marche et ça se fait relativement facilement. Mais au début, on s'est tous foirés au moins une fois sur HPKP. Je vous rassure. Du coup, conseiller avec un MaxAge petit. Genre une journée, c'est bien. Et après, tendez petit à petit jusqu'à 60 jours maximum. Et c'est super, super efficace. J'ai eu beaucoup de détections d'attaques. Parce qu'on a beau dire que c'est... Tout le monde dit, ouais, mais les attaques, ça arrive pas souvent. Les interceptions TLS, ça arrive pas souvent. Depuis 3 mois, j'en suis déjà à 5 ou 6. Et c'est pas des attaques contre moi personnellement. C'est Orange qui merde, c'est Numericap qui a fait de la merde, c'est Cloudflare qui s'est planté, j'ai une redirection d'un trafic, il y a eu une attaque BGP, tout mon blog a été redirigé vers Cloudflare sans que je le demande. Et là, les gens étaient bien contents d'avoir les alertes là. Et au final, ça disjoncte. C'est là qu'on se rend compte aussi, quand on active ce genre de merde, que, que ça bug dans le réseau grave. Quoi. Il faut vraiment faire quelque chose.
Ça apparaît comment dans le
navigateur? En fait, ça apparaît pas dans le navigateur. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de truc particulier. C'est juste qu'en cas, d'erreur, en cas d'attaque, en cas de truc qui ne va pas bien, il y a la fameuse alerte, en fait, un peu comme on a quand on a un certificat erroné. Donc attention, ceci n'est pas sécurisé, machin. Et jusque-là, on n'a pas de bouton continuer. Et ça dit bien, je ne vais pas vérifier, mais tu as peut-être une phrase un peu explicite pour dire bah, c'est un problème de HPKP ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de choses particulières.
Et dans l'UE, on sait que...
Non, c'est complètement transparent pour les utilisateurs. Ouais. Ce qui est un bien et un mal, parce que du coup, on ne voit pas forcément que l'administrateur a fait des efforts pour le protéger. Ce qui est aussi un problème aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de techniques qu'on va voir là que l'utilisateur ne peut pas s'en rendre compte. Et du coup, entre un site totalement pourri comme Orange et un site totalement sécurisé comme Blog, ben, il ne sait pas, pour lui, c'est deux sites. Alors qu'il y en a un qui va dégueuler sa vie privée en permanence et qui va se prendre des attaques dans la tronche, alors que l'autre, ben, il est sécurisé. Dans le même genre d'idée, DNTLSA, qui est un peu le même principe que HPKP, mais HPKP, il y a le problème du tofu, Trust and First Use. C'est que la première requête, si je tombe déjà sur un serveur malveillant quand je fais ma première requête, ben, j'ai un problème. DNTLSA dit, bon, ben, on va essayer de faire... d'améliorer ça, et du coup on va essayer de monter une double chaîne de certification. Parce que le problème de HPKP, c'est qu'en gros, le serveur web, c'est aussi lui qui dit que le certificat, c'est celui-là. C'est un peu bizarre, parce que si jamais le serveur web y tombe, généralement, l'attaquant, il est pas très loin de pouvoir modifier les entêtes et mettre quelque chose de correct. Ce qui va sauver, ça va être effectivement le MagSafe, parce que s'il y va à l'arrache, ça va se voir. Mais bon, c'est pas forcément top. Donc, du coup, Deng Teresa a dit on va passer par DNS. Donc on va avoir une chaîne d'un côté qui va être les autorités de certification standard, et de l'autre côté, on va avoir le serveur DNS, les requêtes DNS, qui vont nous servir de deuxième preuve de possession, ou de, en tout cas de confiance, pour dire que ce certificat-là est bien valable. Le problème, c'est que DNS n'était pas sécurisé. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu se baser sur le protocole standard DNS pour le faire, parce que autrement, ça n'avait pas d'intérêt. Enfin, quelqu'un qui est capable d'intercepter vos pages HTML, il ne va pas mettre longtemps pour intercepter aussi votre DNS. Et donc, du coup, ça nécessite obligatoirement DNSSEC, qui est encore peu, voire pas supporté par quasiment tous les explorateurs, tous les navigateurs existants aujourd'hui. Il y a des extensions qui existent sur Firefox, DNSSEC Validator, qui permettent de compenser ce manque. Aujourd'hui, c'est pas encore super bien supporté. En plus, derrière ça, il faut un résolveur qui résolve bien en DNS, donc en DNSSEC. Donc, si vous utilisez votre box Orange, ben, ça va pas marcher. Donc, il faut un unbound sur la machine, tout ça. Donc, ça demande un peu plus de, c'est un peu plus intrusif côté utilisateur. Ça réclame le DNSSEC, donc un résolveur actif, des navigateurs qui le supportent, et c'est encore un peu, c'est pas encore très bien supporté. Le gros intérêt par rapport à HPKP, c'est que c'est valable pour tous les systèmes qui utilisent TLS. HTTP, XMPP, le mail, Jabber, n'importe quoi qui fait du TLS, on est capable de foutre une couche d'un TLSA par-dessus. Et donc de dire, attention, là t'as un truc qui est en train de se passer. Du coup, pourquoi ? Pour avoir une chaîne de validation qui soit vraiment efficace, il faut, si possible, deux machines différentes. Parce que si jamais votre serveur DNSSEC est sur la machine qui fait tourner le HTTP, bah, ça va plus un peu, quoi. Parce que si on arrive à prendre le contrôle de la page, il n'y a pas loin, pareil, à pouvoir modifier le DNS, à redémarrer, puis faire amortir tout ça. Donc du coup, il faut, si possible, avoir deux chaînes pareil séparées. Donc deux machines, alors ça peut être de la virtualisation, ça peut être des choses comme ça. Et généralement, ce qu'on conseille, c'est ce qu'on appelle un Stealth Master DNS. C'est-à-dire, c'est une machine, parce que du coup, vous allez aussi avoir du matériel privé de crypto. Vous allez avoir des cryptes privés, des choses comme ça, qu'il ne faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Donc, c'est mettre une machine qui est limite éteinte en permanence, ou presque, qui est toute seule dans son coin. Quand vous allez avoir des modifications de DNSSEC à faire, ou TLSA à faire, vous démarrez cette machine-là, vous faites vos modifications, vous signez la zone. Cette zone, ce serveur DNS, en fait, va envoyer les modifications à votre serveur DNS public, et va s'éteindre. Et du coup, le serveur public, lui, va pouvoir envoyer les informations de DNS, donc TLSA, DAIN et tous les autres, on va voir après. Et vos clés privées sont bien à l'abri, le serveur est déconnecté du réseau, et il n'y a pas de risque de fuite ou de choses comme ça. DNSSEC impose quand même d'avoir des rotations de clés régulièrement, donc le serveur va devoir régulièrement démarrer tout seul et lancer les renouvellements de clés et des trucs comme ça, mais ça s'automatise relativement bien. Et en particulier, il y a un super outil qui s'appelle OpenDNSSEC. Il y a une documentation qui a été écrite par Octopus ou par Benjamin Sontag qui explique comment monter un serveur OpenDNSSEC, comment on fait la configuration. C'est pas si compliqué que ça paraît. C'est vrai qu'il pourrait améliorer un peu l'ergonomie du truc, éviter quelques commandes et des choses comme ça. Mais ça marche relativement bien et c'est assez facilement fonctionnel. Et tiens, j'ai tout, j'ai que ça. Là, j'ai pas mis les empreintes. Je peux peut-être les montrer là, du coup. Ah non, j'ai pas de réseau. Mais du coup, en fait, après, donc, une fois que vous avez DNSSEC installé, pour activer TLSA, vous allez juste insérer des entrées DNS, en fait, en mettant l'empreinte, exactement comme on avait l'empreinte de... comme on avait ces empreintes-là pour HPKP, on va avoir à peu près les mêmes dans d'autres formats, dans le DNS, qui vont dire... ce serveur-là, ce service-là, utilise obligatoirement ce certificat-là. Et pareil, on peut piner sur l'autorité, l'intermédiaire, les clés publiques, le certificat, enfin, comme on veut. Et c'est comme ça, via le DNS, on peut le vérifier. Le gros intérêt de TLSA par rapport à HPKP, c'est que, à terme, enfin, quand on aura du support côté client, on est capable de se passer des autorités de certification. Puisque TLSA, en principe, permet d'utiliser des certificats autosignés, des OTC, des autorités de certification alternatives, qui ne soient pas reconnues dans le navigateur, parce que c'est le DNS qui va dire « si, si, c'est la bonne ». Et donc, on est capable de déployer n'importe quel certificat sans alerte de sécurité côté, côté utilisateur, sur des CA privés, sur des certificats autosignés, sur tout et n'importe quoi. Et il y a des options pour lui dire, pour, dans TLSA, pour dire « vérifie et TLSA et les autorités de certification officielles, ne fais confiance qu'à TLSA ou ne fais confiance qu'aux autorités officielles ». Donc on a moyen de dire dans quel mode on va tourner. Et donc en théorie, ça aurait pu permettre l'émergence des autorités de certification type CASERT, qui aurait évité d'avoir des modifications à faire côté client pour intégrer l'autorité de certification alternative ou autre. Malheureusement, les versions-là de TLSA, alors déjà TLSA en lui-même est très peu supporté, sauf avec des extensions sous Firefox, mais la version sans les CA n'est pas encore supportée par quoi que ce soit. Donc c'est dans les RSC, c'est implémenté depuis plus de 4 ans maintenant, mais il n'y a personne qui fait comme là dans les différentes applications. Il y a Curl et WGET qui commencent à supporter, ils ont commencé à introduire ce genre de choses dedans. Mais Firefox, il n'y a encore pas de support. Google, enfin Chrome, il n'y a pas de support. Safari, il n'y a pas de support. Edge, on n'en parle même pas. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des choses qui vont vraiment sauver la vie de plein de monde. Et c'est pas déployé. Et avec ça, je pense qu'on a fait le tour. Donc je ne sais pas si vous avez des questions.
Est-ce que tu penses que ce que tu nous as présenté peut être mis en place sur un serveur type NAS Synology?
Ou alors c'est perdu. Non, de mémoire, je pense que les Synos, en plus les Synos doivent faire du LXC, je crois, même sur les dernières versions, il y a la possibilité de faire du LXC, d'installer un Debian de standard dessus, donc ça doit, tout doit pouvoir être installé sur un Syno.
Et donc, installer un Debian, c'est-à-dire réinstaller complètement le système?
Non, je sais qu'on peut réinstaller complètement le système en réutilisant le Syno, et je sais qu'en tout cas sur les Synos récents, il y a une possibilité justement via de la virtualisation de démarrer carrément un Debian complet, en plus de la version, de l'OS Synology. Et de faire du LXC, ils ont aussi une interface LXC standard, on peut démarrer les VM dedans, et les derniers Synos, en tout cas je sais que c'est dans les dernières gammes, et ça le fait sans problème. Et sinon, oui, c'est reflasher le Syno et réinstaller des mains dessus, mais c'est plus risqué. Faut pas avoir peur de perdre le Syno, quoi. Et sinon, oui, après tout ça, à partir du moment où on a une Debian standard, c'est on installe Apache, on installe Unbound pour le resolver, Bind 9 pour le DNS. On a vu, il y a SSH, IPTable, il va être dessus. Donc c'est que des outils standards. Hein. Donc c'est pas. Au final, c'est un peu. Des fois, c'est un peu abrupt. En tout cas, la première fois qu'on le fait, c'est des fois un peu compliqué de savoir comment on va le faire, donc où est-ce qu'on met les doigts. Ça peut paraître un peu compliqué, un peu obscur. Mais après, on se rend compte que c'est assez simple, finalement. Et ça améliore quand même vachement. Et aussi, ça nous rassure. C'est d'avoir une machine qui, on sait pas trop ce qui vient, comment elle tourne. C'est pas forcément idéal, quoi. Parce qu'on passe son temps à réfléchir, à penser, est-ce que je suis pas à l'abri, est-ce que je suis à l'abri.
Tout à l'heure, tu as dit que tu avais un réseau pour tes machines, oui. Tes propres machines, et puis un réseau oui. Avec ta box. Entre les deux, c'est quoi? C'est un routeur
J'ai un routeur Wi-Fi, en fait.
C'est un routeur
j'ai Wi-Fi. Un routeur Wi-Fi qui est connecté, du coup, à une patte sur le réseau pour avoir l'accès à Internet, et une patte avec un switch, du coup, derrière pour le réseau privé, et Wi-Fi.
Et c'est ce que tu conseilles d'avoir un routeur Wi-Fi, histoire de.
Bah après, ça c'est à chacun de voir où est-ce qu'il doit aller. Moi, typiquement, je fais ça parce que sur mes machines perso, j'ai du contenu très sensible et que je ne peux pas me permettre de laisser n'importe qui se connecter sur ce genre de machine. Surtout que les amis qui viennent à la maison, généralement, ce sont des amis qui sont au courant de comment ça marche un réseau. Enfin, si c'est ma mère, je ne me poserai pas trop de questions. Je sais que Nmap, elle ne connaît pas. Et encore quoi que maintenant, elle doit te connaître. Mais après, voilà, c'est à chacun de savoir où est-ce qu'il met la limite. Après, maintenant, ça va peut-être être des choses qui vont commencer à apparaître, puisque même dans les bâtiments neufs, maintenant, il y a obligation d'avoir des réseaux VDI, qu'on appelle Voice Data Image, et où les prises réseau sont de toute façon séparées et branchées sur une bête brassage. Donc, du coup, en fait, c'est très facile de faire des réseaux isolés, parce que du coup, on peut directement dans la bête brassage dire cette prise-là, elles sont sur tel réseau, telle prise est sur tel autre. Et comme ça, on isole les prises de toute la maison et c'est intégré quasiment en natif dans le bâtiment. Alors que moi, comme chez moi, j'ai pas ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut tirer du cap, faut faire des trous, c'est le bordel. Mais ça va arriver.
Alors, moi je trouve, bon, quand on est auto-hébergé, c'est toujours compliqué de savoir si on a bien configuré ou pas, en fait, on sait jamais. Mais le paradoxe, c'est par exemple quand on a une Chromebox, une Freebox, là on a plein d'icônes, mais en fait là on sait strictement rien du tout. Et il y a des fois, je me demande, est-ce que j'ai pas des failles supplémentaires en fait qui vont venir de ma Freebox, puisque là, en réalité, plein de choses. À part bon, les redirections d'IP ou autres, parce que des fois bon, j'ai des connexions, donc j'ai SQNL et autres, donc j'ai des fois un peu pas spécifiques, mais à part les redirections.
Bah, c'est pour ça qu'en fait, la box, faut la considérer comme un ennemi, en fait. On s'en fout un peu que la box, elle soit infectée. Enfin, on s'en fout, oui et non, parce qu'on n'aime pas non plus servir de brute force et de DDoS pour les petits amis d'à côté. Mais aujourd'hui, on peut pas faire grand-chose contre une box ADSL. Si elle est infectée, elle est infectée. On n'a pas le contrôle du matériel. On peut pas la reflasher. On peut pas lui faire fermer les failles. Si votre fournisseur ne fait rien, vous pouvez rien lui faire. Donc le truc, c'est de pas compter sur la box pour faire ni firewall, ni pont de sécurité. C'est, on considère que c'est un ennemi, et donc on s'en sert à la limite pour faire le NAT quand on est sur IPv4, mais tout le reste, c'est chaque machine individuelle qui doit prendre ses décisions, mettre ses règles de firewall, et considérer que même la box, elle est l'ennemi. Parce qu'effectivement, ce genre de machine, c'est un peu comme l'Internet des objets et tout ça, on ne sait pas ce qui tourne dedans. On n'a pas le contrôle de... Aussi bien les box ADSL sont toutes infectées et juste personne ne fait rien. Par contre, tout à l'heure, on en discutait du coup sur. Il y a des outils, je pensais avoir mis des slides là-dessus, mais je ne sais pas si j'ai oublié ou est-ce qu'ils sont passés. Il y a deux outils en fait qui peuvent être intéressants pour éviter d'avoir à passer régulièrement sur les machines pour savoir dans quel état elles sont. Il y a le premier outil, c'est LogWatch. Vous l'installez en fait, c'est un outil qui va lire les logs de votre système, donc vous lui dites à peu près où sont les fichiers, où est le syslog, où est le host.log, enfin tous les messages, voilà, le http des .log, tous ces trucs là. Tous les jours il va se déclencher, regarder les logs, sortir les choses qu'il considère comme dangereuses, et vous envoyer un rapport par mail en vous disant tiens, j'ai trouvé que sur le port SSH il y a eu le temps d'attaque. Sur HTTP, regardez, il y a des gens qui sont connectés sur l'interface admin, etc. Et donc ça permet de voir un peu ce qui se passe. C'est des fois un peu chiant à lire parce que c'est vrai que le rapport est relativement concis au sens où il n'y a que des choses relativement intéressantes dedans. Par contre, il faut quand même le dépiauter à la main pour savoir est-ce que c'était un brute force, est-ce que c'est passé, est-ce que c'est pas passé. Donc c'est un peu, par exemple, sur les logs SSH, vous allez avoir, tiens, il y a tout ça qui s'est connecté, ou qui a tenté de se connecter, ou voilà les logs que je connais pas. Donc il faut aller analyser. On peut pointer à la main qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas.
Je me posais une question bête, qui va peut-être être bête, mais est-ce que c'est très sécurisé d'envoyer ces rapports par mail en fait sans chiffrer ? Il y a moyen de chiffrer ?
Après, c'est vrai que.
Parce qu'un attaquant, il pourrait récupérer tes logs. Et
un attaquant pourrait. Oui, de toute façon, un attaquant qui fait bien le boulot va nettoyer les logs. Un attaquant va virer les logs de toutes ces authentifications SSH et tout ça. Et ça permet de te protéger des attaques globales. Qui vont pas s'attendre à ce genre de truc. Et ça te protégera pas effectivement d'une attaque ciblée. Mais un brute force sur ton WordPress, par exemple, tu vas le voir. Un brute force sur ton port SSH, tu vas le voir. Donc tu vas pouvoir dire, ok, je le bloque parce que celui-là, il me fait trop de. Il revient trop souvent. Ou justement, voir aussi, ah tiens, j'ai pas pensé que l'interface slash admin de WordPress, je vais peut-être mettre un HT access devant pour empêcher les accès sur telle ou telle adresse IP. Parce que je le vois en train de te forcer, et oui, attends, je vais le restreindre qu'à mes adresses à moi, et puis comme ça, j'ai plus de risque. Il y a un autre outil qui peut être intéressant, ça s'appelle RK Hunter, ou Rootkit Hunter. Celui-là est un peu plus bordélique. En gros, c'est un outil qui, pareil comme LogWatch, se déclenche une fois par jour, et va analyser votre système pour essayer de voir si vous êtes infecté. Parce que le gros problème de la sécurité, c'est savoir si on est infecté. On n'a généralement pas de certitude. Est-ce qu'on est clean ou pas ? On peut avoir une machine infectée et ne pas s'en rendre compte. Parce que si l'attaquant fait les choses bien, il va essayer de garder la machine le plus longtemps possible allumée. Donc essayer de ne pas consommer tout le CPU, toute la mémoire, bien planquer ses processus, etc. Et RK Hunter se déclenche et va analyser justement la liste de vos processus. va regarder sur votre disque dur s'il ne trouve pas des fichiers qui correspondent à des rootkits connus. On va regarder si vous avez pas, si vous avez les bonnes permissions sur les fichiers, si les empreintes des fichiers système n'ont pas bougé, ce genre de choses. Et donc va vous ressortir un rapport à la fin vous disant bah tiens j'ai trouvé tous ces warnings là. Et donc bah après à vous d'aller regarder est-ce que c'est normal ou pas normal. Le problème de cet outil, c'est que déjà, par défaut, alors que le logwatch est plutôt bien configuré et permet d'avoir des logs assez rapidement, qui soient assez concis et relativement bien précis, l'archivateur, par défaut, il a tendance à être beaucoup de faux positifs. Et, par exemple, si vous avez des process Java qui tournent, vous allez avoir des points Java un peu partout dans l'arborescence, il va vous hurler dessus. Hey, il y a un fichier caché, il ne devrait pas être là. Vous allez avoir un process... par exemple, bah moi je fais tourner des notors. Ah bah attends, t'as un notor qui tourne, mais c'est pas normal quand t'as un notor. Parce que c'est généralement mal utilisé d'avoir des process store. C'est plutôt signe que t'es infecté que tu fais tourner un nœud. Et donc t'as plein d'erreurs comme ça qui vont sortir au départ. Et il faut après foutre des exclusions là-dessus. Sachant que le risque des exclusions, c'est d'en foutre trop et donc, du coup d'avoir des faux négatifs derrière. Et surtout, la doc de RKHunter est particulièrement indigeste et change du tout au tout d'une version à l'autre. Et donc, trouver les règles d'exclusion qui vont bien pour régler tel problème, des fois, c'est un peu compliqué. Et donc, des fois, on y va un peu dans beaucoup d'étoiles parce qu'on a un ras-le-bol. Et donc, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même assez efficace. J'ai détecté quelques infections comme ça de mes machines, parce que le truc a dit, ah, tiens, t'as un process qui tourne et qui n'est pas censé être là. Ou un port en écoute, par exemple. Un port qui est en écoute et qui ne devrait pas. Et ben, hop, il va le remonter et te dire, ah, c'est bizarre, t'as un... Alors là en plus c'était un port en écoute avec un processus caché, tu dis ouais, non là je suis verrouillé quoi.
Ouais, sur la différence, tu dis un port en écoute, quand tu lis log, c'est pas écrit d'un port en écoute, t'as souvent des...
Oui, il y a beaucoup d'infos, il faut apprendre
l'interprétation.
Il faut arriver à l'interpréter un peu, mais ils ont quand même fait des efforts, aujourd'hui c'est quand même plutôt bien compartimenté, c'est bien, test des processus cachés, test des processus connus... test des ports en écoute, il y a, je sais plus ce qu'il y a encore, bah si, les permissions sur les fichiers, les empreintes, enfin, c'est bien catalogué. Et en plus, généralement, ils ont aujourd'hui une base d'heuristiques qui permet de dire à la fin, vu ce qu'on a vu avant, on pense que t'es infecté par tel rootkit ou tel autre, et voilà les liens pour savoir qu'est-ce que ça fait, comment t'en débarrasser, et compagnie.
Ça, tu balances le traitement de la nuit
Ça lance en synchro, en fait, et ça passe toutes les nuits, c'est en tâche de fond, et ça passe toutes les nuits, et ça a le rapport dans ta boîte mail. Tous les matins, j'ai mes mails. Attends, je peux peut-être en montrer là. Alors, je sais pas si j'ai du RKHunter, parce que l'avantage de RKHunter, c'est quand il est bien configuré, du coup, il vous envoie pas de mail, parce qu'il détecte pas il détecte pas de problème, et donc, du coup, il vous envoie pas de mail. Alors que Logwatch vous en enverra un dans tous les cas. Alors, je vais juste faire gaffe.
Voilà, tu l'envoies un tous les matins.
Et du coup, tu lis. Et du coup, tu lis les.
Non, oui, à 6h35, je vous demande de très bloquer. Mon logo, tu lis à
6h. Non, voilà, j'ai pas de log. Par contre, voilà, ça c'est.
J'aime pas.
Voilà, j'ai pas de log rotate là. J'ai pas de load roll time, mais par contre, ça peut vous donner une idée. Ah ouais, c'est pas super visible.
T'as vu le petit article sur KDE qui s'est fait
planer? Ouais. Bah, du coup, il doit même être là d'ailleurs. Ah non, c'est trop vieux, c'est le 24 avril. Et du coup, ça, c'est les mails de sécurité qui arrivent de Debian en fait. Donc là, c'est voilà, libav MySQL, donc il y en a un par exemple là, 24. Voilà, du 20 au 25, donc en 5 jours, il y a eu 4 mises à jour de sécurité. Donc il y a eu Firefox qui est pété, IceDove qui a été pété, libav, donc qui fait de l'encodage vidéo, et MySQL 5.5.
C'est-à-dire qu'il envoie un mail par...
Ah si, il y a un mail qui part. Ça, c'est par RKHunter, hein. Ça, c'est la liste de diffusion Debian.
Ah, oui.
Et du coup, on a le lien à chaque fois, on a le lien vers la file, ça explique sur quelle version c'était pété. Et donc ça recommande de mettre les mises à jour et du coup bah, par exemple là moi j'étais juste faillible à MySQL 5 qui bah tout de suite cela j'ai pu les ignorer alors cela bah je me suis connecté sur les machines, j'avais déjà un attendu d'upgrade qui avait fait le boulot, qui avait fait mis à jour le paquet, et du coup moi il me restait plus que la procédure pour arrêter mes applications, redémarrer le service MySQL et redémarrer mes applications derrière. Et là J'ai pas de mail logwatch.
Et puis il y a Effectoman aussi, on voit un mail.
Effectuman peut aussi envoyer les mails.
Quand
il a bloqué quelque chose. On peut le configurer pour envoyer un mail. Peut-être dans la corbeille.
Effectuman, si tu veux. Effectuman, il faut lui dire.
Ouais, par défaut, il envoie pas de mail. Par défaut, il fait son taf tout seul.
Ouais, mais si, t'as des mails, t'as juste à la remplir.
Oui, mais. Ouais, mais je sais pas comment. Si à chaque fois qu'il bloque, il t'envoie,
tu vas
être spammé par Effectuman.
Après, ça dépend si t'as fait le boulot, parce que le but, c'est justement de pas.
Non, je reçois pas tant que ça, des mails, Effectuman.
Le bon réflexe, par exemple, quand on commence à être spammé et qu'on a des brute force, c'est tout de suite réfléchir à comment je peux faire pour éviter. D'avoir Effectuman qui rentre en action. C'est jamais très bon de laisser Effectuman dire ouais, sinon j'ai Effectuman, je suis à l'abri. C'est de dire tiens, c'est bizarre, je reçois beaucoup de brute force, donc comment je peux faire pour l'éviter? Par exemple, je vois, tiens, je fais souvent brute forcer mon PHP MyAdmin, bah du coup je vais changer l'URL du PHP MyAdmin, je vais le mettre sur un truc qui n'est pas dans les listes de ceux qui vont faire les essais. Je vais dire tiens, je vais mettre un HT access, comme ça je vais limiter par adresse IP, ou voire même avec un mot de passe. Et du coup, je vais dire, bah tiens, bah, les logs en 500 forbidden, bah du coup, ceux-là, je les vire. Je sais que, ok, t'as beau brute forcer ça, je sais que c'est bloqué, donc je les vire des logs, les 502, parce que je sais que j'ai fait mon boulot. Il faut jamais, quand on voit des attaques comme ça régulières, c'est toujours se dire, est-ce que je peux pas essayer d'améliorer le truc pour réduire la verbosité de mes logs et avoir des choses plus pertinentes. Parce que sinon, le jour où tu vas vraiment avoir un vrai DDoS ou une vraie brute force et que quelqu'un va réussir à rentrer dedans, ça va être plombé dans plein de lignes de logs bidons. Et tu vas pas le voir passer. Et je me suis fait avoir une fois comme ça, hein, un PHP MyAdmin qui avait été fuité, et l'accès au PMA était planté dans 17 000 ou 20 000 lignes de log de brute force.
Et tu les as pas lues.
On l'a vu après. Et ça, typiquement, là, à l'époque, ouais, bah, 17 000 lignes, tu commences à regarder, putain, c'est un brute force, tu vois tous les mots de passe, A, B, B, C, C, tu dis, ouais, c'est bon, quoi. Tu gicles tout le log. Et dedans, il y en avait un, bah ouais, et c'était une diversion, en fait. Et ils sont malins, hein, quand ils... Mais ça, on est sur des attaques ciblées. Typiquement, c'est pas une attaque lambda. Les trucs Shodan et autres, ils vont pas s'emmerder avec ça. Hein. Généralement, ils vont réussir à vous avoir parce que votre mot de passe est trop faible ou autre.
Admin.
Ou admin, ouais. Mais ils peuvent être gênants, justement, parce qu'ils peuvent servir de cachette pour la vraie attaque. En particulier les attaques DDoS aujourd'hui, faut pas se leurrer, hein, c'est pas, ils attaquent pas, ils font pas du DDoS par plaisir de faire tomber du CDX6 ou des trucs comme ça. Hein. C'est faire du DDoS, pendant ce temps-là, ça occupe les administrateurs système, ça affaiblit les défenses, parce qu'ils coupent tous les pare-feux, ils coupent tout ça, parce que les pare-feux accélèrent le DDoS. Parce qu'en DDoS, t'as envie de limiter la consommation de ressources, donc virer les pare-feux, virer tout ça. Et du coup, bah, t'en profites pour rentrer par la petite porte de derrière.
Et ben ça va pas motiver Michu à installer un.
Ah, après
moi je suis Monsieur Michu. C'est-à-dire qu'après avoir bossé sur Linux sur ma machine pendant 10 ans, je me suis dit, allez, merde, ça coûte que 15 euros par mois, je peux bien le faire. Donc j'ai loué un serveur Linux, puis deux. Un chez PHPNet à Grenoble, un autre en Suisse, chez Atosting. C'était pour que 4-9 puisse pas y toucher. Donc ça fait tourner du WordPress, quelques pages web, un peu de MySQL, et puis trois fois par semaine je me connecte en SSH parce que je suis coincé dans le métro et que je m'ennuie. C'est tout. A priori il se passe pas grand chose. J'ai eu une grosse attaque sur WordPress qui faisait tomber mon MySQL. J'ai appris l'existence de Fail2Bad, j'ai un peu tapé dessus. Ça s'est arrangé. C'est-à-dire que au début ça a tombé au bout de 2 heures. Avec une première intervention de Fail2Bad, j'ai réduit ça à entre 8h et 3 jours, et puis après avoir un peu mieux réglé, maintenant ça, a priori, je suis plus en vue. Bon. Jusqu'ici, je me plains pas. Qu'est-ce qui peut arriver de pire ?
Le pire qui puisse arriver, c'est de te retrouver avec une machine qui fait des attaques, qui sert de relais d'attaque. Et que du coup, les vraies cibles de l'attaque vont se retourner vers toi parce que c'est toi légalement le responsable.
C'est mon prestataire de service peut-être.
Non, c'est toi le responsable. Enfin, après, ça dépend de ton contrat. Si t'as un serveur dédié, en tout cas, je parle là pour un serveur dédié.
Ouais.
Si t'as un serveur dédié, ça m'est arrivé une fois, enfin, par exemple les relators, c'est le problème qu'on a. C'est quand les relators servent à faire du spam, c'est pas le spammeur qui se fait emmerder. C'est toi qui te fais emmerder, c'est toi qui te fais couper tes serveurs, c'est toi qui te prend les plaintes au cul, c'est toi qui te rend les procès derrière. Et quand c'est du spam, encore ça va, mais si c'est du pédoporn, parce que généralement, c'est pas, quand les machines sont compromises, c'est pas pour faire que du spam. C'est pour héberger plein de trucs illégaux, parce que comme ça on prend pas la responsabilité du spammer, on n'héberge pas lui-même, et ça héberge sur le site d'autres. Ça sert à faire du phishing, ça sert à faire des escroqueries, des arnaques, du vol d'identité, du usurpation d'identité. Et du coup, tu peux être vraiment grave dans la merde. Parce que c'est le responsable légal, en tout cas aux yeux de la justice, ça va être toi. Et ça peut.
Ça va être indifférent, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui a jamais été condamné de façon.
Alors, non, moi, généralement, on n'est pas condamné parce qu'on arrive quand même justement à s'en sortir, parce qu'on arrive à montrer qu'on a une attaque, on n'était pas la source principale et tout ça. Mais c'est des procédures administratives, c'est dans certains cas, on en a eu, hein, des saisies du matériel, interdiction de toucher un ordinateur pendant un an. C'est interdiction de quitter le territoire, interdiction de faire certains emplois, d'occuper certains emplois. Ça peut aller très très loin. Après, les cas sont relativement rares et il y a quelques années c'était moins le cas, mais aujourd'hui les personnes qui s'occupent de ce genre de problèmes sont, enfin au niveau juridique j'entends, sont conscientes de ce qui se passe et donc généralement ne vont pas chercher très loin. Font plus comme avant, où t'avais les amis du petit-déj à arriver, la saisie du matériel et les interdictions de toucher un PC. Ils se rendent bien compte que t'es juste victime d'un spam et la procédure va juste continuer parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils vont éviter de t'emmerder. Mais un procureur zélé ou qui comprend rien ou qui prononce login et bleu, ben il peut te demander la garde à vue, il peut demander la saisie du matériel, il peut engager des poursuites et... Et on a des cas extrêmes, bah, par exemple, Octave Klaba a été convoqué en justice le lundi dernier pour une affaire d'escroquerie. Et là, c'était pas son. Là, dans le cas-là, c'était même pas son client qui a été mis en garde à vue, c'était Octave Klaba, le PDG d'OVH. Et effectivement, il arrive avec le dossier en disant attendez, moi je suis juste hébergeur, machin, et il n'a pas beaucoup de risques. Mais il s'est quand même pris un aller-retour à Grenoble, l'île Grenoble dans la journée, plus le temps perdu, plus. Plus, bah, il a été en garde à vue, donc potentiellement, bah, ça reste dans le dossier, c'est compliqué.
Oui, c'est pas beau.
Et les symptômes, si ça m'est arrivé, à part faire tourner le truc qui fait plein de faux positifs.
Ouais, après, alors les symptômes, c'est généralement c'est les connexions réseau qui vont saturer. Ils vont se servir pour envoyer du spam, du DDoS, donc du coup on voit des pics de trafic ou la connexion qui ralentit ou des trucs comme ça. Consommation CPU, consommation mémoire, plein de spam, enfin du trafic mail en sortant, des log mails qui vont exploser, des choses comme ça. Après ça va être sur des attaques type WordPress, enfin compromission de WordPress ou PrestaShop ou trucs comme ça, ils vont servir de la base de données pour hoster justement du pédoporn, des choses comme ça, ou du WarEz. Donc c'est des tailles de base de données qui vont exploser, parce qu'ils vont stocker des vidéos, des images, des trucs comme ça. Donc ça va être les symptômes. Mais après, c'est malheureusement très difficile. Des fois, il y a beaucoup d'infections aujourd'hui qui ne se voient pas, parce qu'ils ont compris que le but n'était plus de revendre du spam, comme c'était le cas avant, ou d'héberger du WarEz, mais de servir de relais d'attaque pour faire du DDoS. Et donc en fait, les machines sont louées en Darknet. Quand ta machine est infectée, elle est revendue en fait sur Internet. Et donc quelqu'un peut dire j'achète 10 000 machines pour faire un DDoS pendant 2 heures. Et ta machine du coup va servir à envoyer du DDoS. Et donc entre deux attaques, t'as pas de symptômes. Parce qu'au contraire, ils vont prendre bien soin, ils vont refermer le firewall derrière eux pour pas qu'un concurrent puisse venir piquer la bestiole. Ils vont bien faire les mises à jour de sécurité à ta place pour...
C'est mieux qu'un antivirus.
Ah mais il y a des virus, enfin il y a même, alors je vais même parler de deux virus par particulier, donc il y a un virus qui effectivement son but c'est d'infecter toutes les machines qu'il peut pour les fixer, donc faire les mises à jour de sécu, appliquer les patchs. Et il y a un virus, parce que ça vise surtout l'Internet of Shit, qui est apparu récemment, le but est d'infecter la machine et de la détruire. Reset des disques, faire cramer le CPU, bourrer la RAM, la faire péter, la détruire physiquement. Ta machine sera inutilisable à la suite. Et ils ont ça pour objectif, parce que justement, ils ont ras-le-bol les internets de merde, des objets de merde connectés sur le réseau. Ils vont dire, pour pas me faire attaquer, je préfère monter un botnet géant qui va détruire tout le botnet, que de continuer à recevoir 1 teraoctet, enfin 1 terabit par seconde de trafic en venant, en provenance de caméras IP pas protégées. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on comprend pas, il y a des gens qui ont un putain de bouton rouge sous la main, et on comprend pas pourquoi ils s'en servent pas. Parce qu'avec ce qui s'est passé sur Cogent, Cedexis, OVH et DIN aux US, on sait qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui la capacité réseau de faire péter n'importe quelle infrastructure réseau qu'ils ont envie. Un terabit de trafic, personne ne peut résister à ça. C'est juste impossible. Tu vas limiter la casse comme tu peux, mais tu vas avoir des effets de bord colossaux, des investissements généraux.
Ça attend une occasion spectaculaire.
Ouais.
Ça sera politique.
Et aujourd'hui, quand on voit la dernière attaque qu'il y a eu avec des DOS qu'il y a eu sur ProtonMail, tu vois que les travaux physiques qu'ils ont dû entreprendre pour arriver à sortir du DDoS là, parce que c'est quand même creusé en 48 heures 700 km de canalisation pour faire passer une fibre optique pour rerouter le trafic là où on avait envie, ça, tu t'arrives carrément du génie civil et du BTP quoi.
D'accord.
Parce que quand t'as un DDoS, en fait, c'est ce qu'on dit toujours. Quand tu vois arriver un DDoS, c'est trop tard. Le but des anti-DDoS aujourd'hui, c'est d'arriver à filtrer le réseau le plus haut possible dans le réseau. Donc idéalement, au niveau BGP, c'est ce qui coûte le moins cher et ce qui est le plus efficace. Parce que là, tu dis juste trafic pourri si tu vas là-bas et tu sors tout de suite du réseau. Et sinon, dès que ça atterrit dans ton réseau, c'est 1 terabit de trafic, tu satures tous tes équipements réseau, tu satures toutes tes fibres optiques, tu satures tous tes opérateurs de transit. Et c'est un blackout complet. OVH, c'était le risque.
Comment les fournisseurs d'accès se protègent par rapport à ce type de DDoS?
Bah justement, c'est aujourd'hui des équipements spéciaux dans le réseau. Donc aujourd'hui,
ils ont plusieurs data centers, ils ont des...
Alors les DDoS, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Un DDoS aujourd'hui, quand ça arrive sur une carte réseau, tu ne peux juste rien faire. Tu serres les fesses avant que ça passe. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes de protection. C'est soit on arrive à détecter déjà au niveau BGP en fait. Donc c'est le gros réseau qui fait le routage de l'internet. Donc en fait, quand ils arrivent à faire, c'est presque du préventif en fait. Il y a un opérateur qui dit hey, c'est bizarre, je vais commencer à arriver beaucoup de trafic. Donc ils ont le temps de se coordonner pour faire ce qu'on appelle des routes BGP pour dire le trafic à destination de ce site là, tu me l'envoies sur un truc pourri. En fait, c'est un équivalent d'un dévenu en fait. Et donc du coup, ton DDoS, parce que le problème du DDoS, c'est justement c'est distribué. Et le fait d'avoir du BGP, c'est que dès que ton trafic sort en fait des machines qui génèrent le DDoS, il est tout de suite rerouté vers des venues et donc t'as personne qui sature. Si ton trafic est déjà arrivé au niveau de la backbone internet, donc les points de peering, généralement t'as Telehouse ou des trucs comme ça, c'est trop tard en fait, ton trafic est déjà complètement concentré dans les câbles, et donc tes câbles sont complètement saturés, et donc t'as des effets de bord, t'as plein de sites qui sont pas accessibles, tous les routeurs disjonctent, et donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle des VAC. C'est des machines spéciales, spécifiques, qui sont branchées en fait à l'entrée des backbones et qui font c'est un peu de l'intelligence artificielle, mais même si c'est un grand mot, et qui essayent de comprendre ce qui se passe et de virer le trafic pourri. Et donc sur du matériel ultra rapide, donc c'est des ASIC, c'est codé dans du silicium, c'est fondu dans du silicium, pour aller le plus vite possible et pouvoir traiter 1 tera de trafic à la seconde, et donc pouvoir virer le trafic pourri et garder le trafic passant. Et si encore le VAC suffit pas, et ben là c'est carrément tes sites internet, ton data center qui commence à être pourri, et là t'arrives sur les moyens plus ou moins standards, débrancher le serveur, enlever le câble réseau, parce que là t'as plus rien à faire en fait. Si ton trafic est sur ta carte réseau, c'est trop tard. Tu peux même pas mettre un IP table. Un IP table qui est en DDoS, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils éteignent les pare-feux, parce qu'un IP table qui est en DDoS, il va même plus arriver à filtrer le trafic, il s'en prend trop devant, ton CPU est à fond, ta mémoire est à fond, ta machine elle crame. Tu laisses une heure comme ça et brûle, mais physiquement. On a fondu des processeurs comme ça. Et c'est pour ça que quand t'as un DDoS aujourd'hui, tu peux pas le bloquer en fait au niveau logiciel. C'est j'arrache le câble, je me démerde, mais...
Encore, faut-il s'en rendre compte à temps.
Ouais, mais.
Parce que quand t'es auto-hébergé, t'es au boulot.
Après, sur les auto-hébergements, t'auras généralement pas beaucoup de DDoS. Enfin, en tout cas, c'est pas toi qui vas être DDoSé. Ouais. Parce que tu te prends typiquement 1 Tera de trafic de DDoS, ouais. Ça arrivera pas jusqu'à ton ADSL. Le backbone de ton opérateur, il aura cramé avant, le câble cuivre avant, et le
ton ADSL. Bah donc, on est quand même protégé de ce côté-là.
Toi, t'es protégé en fait en direct. Mais par contre, ça
dépend. Sauf si t'es ciblé.
Ouais, mais là,
il y a plein de sites internet, en fait, c'est des petits gamins, là, des DOS, la PS3, la PS4,
ils ont... Mais des DOS, tu seras tu crameras le matériel avant d'arriver à ta machine. Ton DSLAM, tu n'aideras même pas la capa. Donc c'est tout ton quartier, mais c'est le problème des DOS, c'est que ça a des impacts assez violents. Quand OVH s'est pris le DOS de 1 Tera, c'est pas OVH qui a gueulé, parce qu'OVH avait les VAC, avait le PGP pour bloquer tout ça. C'est tous les fournisseurs d'accès d'OVH qui ont gueulé, qui se routaient des teras et des gigas pour eux, qui se routaient des centaines de gigabits de trafic vers OVH, et du coup qui ralentissaient tout leur système à eux, et donc tous les clients des opérateurs étaient impactés. Donc c'était Cogen, c'était tous ces trucs-là, et leurs propres clients étaient impactés par ça. Parce que généralement, en tout cas quand c'est du ciblé, les opérateurs de machines critiques savent qu'ils vont se prendre du DDoS et sont protégés. C'est plutôt les effets de bord à la con. Et sur ProtonMail, ça a été plus loin. C'était tellement le bordel dans le réseau, c'est que c'est les autres clients de l'opérateur réseau de ProtonMail qui allaient voir ProtonMail limite avec des battes de baseball en leur disant « Tu payes cette putain de rançon parce que nous, on en a ras-le-bol d'être en panne à cause de toi. » Et c'était des agences, c'était des boîtes, des agences de com, c'était des... qui étaient sur le même opérateur. C'est un peu comme si Orange, aujourd'hui, était blackout. Parce qu'il y a un client de chez Orange qui est sous DDoS. Et donc ils ont. Et c'est là que ProtonMail a dû tenir bon, ils n'ont pas payé la rançon, enfin, ils ont payé la première mais pas la deuxième. Parce que c'est les opérateurs, c'est les clients des opérateurs qui sont venus leur fracasser la tronche. Et OVH c'est pareil, hein, quand il y a eu DDoS, 1 Tera, c'était pas la panique hein, chez OVH. Hein. C'est tout l'amont en fait qui était sous la flotte. C'est tous les points de peering, c'est tous tes opérateurs de transit, c'est tous tes routeurs de bordure, c'est tous tes... En fait, t'es royal, hein. C'est les autres qui saturent. C'est pour ça que les DDoS, aujourd'hui, c'est démoniaque, quoi. Quand on a un, c'est... Surtout qu'avant, quand on parlait de DDoS, c'était 10 000 machines qui t'envoient 10 gigas de trafic, quoi. Aujourd'hui, le dernier CCTV de VH, c'est 300 000 machines pour générer 1 Tera, quoi.
Avant c'était des vieilles machines qui étaient plus puissantes, et t'en avais moins aussi
parce qu'aujourd'hui les CCTV, le trafic il est tout petit, et quand t'as 300 000 machines, ben, t'imagines, t'as pas besoin d'envoyer grand chose, c'est 3 octets secondes hein, pour faire un giga de trafic, et là en plus c'est super distribué, donc tu peux même plus filtrer par pays ou quoi que ce soit. Les CCTV ça te limitait dans le monde entier, c'est un peu plus en Chine parce qu'ils sont plus nombreux. Mais avant, tu pouvais filtrer par pays ou machin. Là, aujourd'hui, c'est... Ton sextoy connecté, il est aussi bien en Chine, en Europe, en France, en Italie, en Islande, en Papouasie.
Si tu t'en sers dans le couloir où t'as mis ta caméra IP...
T'as l'intérieur, extérieur, ouais. Aujourd'hui, je pense que le plus grand danger, les plus grands dangers sont là, en fait. Par rapport à avant, bah, effectivement, c'était l'intégrité de la machine, les données, les choses comme ça qui étaient un peu critiques et que les pirates essayaient de chercher. Aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est surtout les ressources. Donc, d'être infecté, en fait, c'est pour ça que les gens ne font rien. Parce qu'en fait, être infecté n'a pas de conséquences pour soi-même. C'est là quasiment que des conséquences pour l'autre, pour les autres. Ta machine, elle va juste servir à envoyer du spam, à faire des escroqueries nigériennes, à faire du DDoS, des trucs comme ça. Et au final, toi, tu vois pas, t'auras pas de disparition de données, ton compte en banque va toujours porter aussi bien. Et c'est pour ça que les gens ne réagissent pas. Ils disent, ouais, mais t'as ta caméra connectée, il y a un game au serveur, je m'en fous. C'est ma caméra, et quand il va fonctionner, je m'en fous.
Et comment qu'on peut tester quand on est auto-hébergé? Parce que forcément, on met des règles et tout, IPTable et autres. Mais comment qu'on peut soi-même tester réellement savoir si on a bien fait les choses finalement.
Ah bah, je crois que si t'as la réponse, tu serais très riche. Bah, Ouais, t'as du pentest, quand t'es dans les boîtes, tu vas faire du pentest, tu vas demander à des boîtes de venir regarder la sécurité, de faire un audit, en fait, un œil externe.
Ouais,
mais
j'étais pas...
Mais c'est, ça coûte cher. mais c'est clair que ça coûte cher. C'est clair que ça coûte cher, hein. Et... Il faut des assurances, et surtout les assurances qui coûtent cher, c'est pas...
Tu reprends un crédit.
Mais... Ouais, si tu mets Corben et sécurité côte à côte, non, c'est...
Attends, il fait du bon coup.
C'est toujours mieux que Zatas et sécurité, hein, mais...
Non, mais justement, pour l'auto-hébergement...
Puis l'auto-hébergement, ouais, t'as quelques... Bah, après, t'as justement des scripts du type RKHunter, j'ai plus les noms en tête, mais t'as des trucs comme ça qui font des vérifications un peu bateau, justement. Désactive ta clé SSH, enfin, ta connexion par password SSH, pardon. Change ton port par défaut, vérifier IP table, des choses comme ça. Et j'ai plus le nom en tête. Quoi. Et après, ouais, c'est.
Puis tu peux les faire de l'extérieur, parce que de l'intérieur,
c'est... Ouais, tu peux aussi les faire de l'extérieur, ou après tu peux aussi regarder, tu mets ta règle firewall, bah tu remplaces. Enfin, tu mets une adresse IP de ton LAN plutôt que de mettre une adresse IP externe, et il n'y a pas de raison que si ça marche pour le LAN, ça n'a pas de raison de pas marcher pour l'extérieur. Et puis après, ouais, bah, c'est de se tenir au courant, de regarder, d'être un peu curieux aussi, quoi. Et du coup, tu vas voir, bah, justement, regarder de temps en temps des routines, comment ça marche, comment ils font le boulot, et...
Avoir des décalages à jour.
Ouais.
Bon, en gros, si la NSA avait pondu un virus indétectable qui avait infecté tous les serveurs de la planète, on serait pas forcément au courant.
Tu veux dire de ce qui se passe depuis hier?
Comment?
Tu veux dire depuis ce qui se passe depuis hier?
Non, je parle en général.
Ouais.
On va peut-être apprendre dans quelques années qu'en fait, si on avait tous un truc sympa.
Ouais, bah WannaCry.
Ah, vas-y, raconte.
WannaCry, ce qui est en train d'arriver depuis hier. C'est un outil développé par la NSA qui avait été publié par les Shadow Brokers et qui a été utilisé pour infecter des centaines de milliers de machines, et là en particulier les administrations, des trucs comme ça. Et j'ai vu les premiers rapports hier tomber. Ouais, c'est violent.
D'accord.
Des administrations complètes qui se retrouvent avec des machines chiffrées, avec une grande demande de rançon, des hôpitaux, des...
Parce que la NSA ait fait quelque chose pour diffuser partout, ok. Mais c'est pas la NSA qui va demander des rançons.
Non, parce que après, c'est la NSA s'en servait. La NSA s'en servait. La NSA s'en servait pour les opérations sous couverture de cette faille-là. Et en fait, les Shadow Brokers, quand ils ont piraté l'infrastructure, ils ont publié le rootkit. Et ce rootkit-là a été réutilisé. Et c'est là où on voit encore la merde actuelle du réseau. C'est que normalement, le rootkit a été publié, parce que Shadow Brokers, ça date d'il y a quand même plus d'un an. Il y a eu des pages de sécu et tout ça, et aujourd'hui on découvre qu'il y a 300 000 machines qui ne sont pas sécurisées. Des vieux Windows XP qui n'étaient pas à jour, que Microsoft a dû patcher en urgence. Attends, déjà qu'un patch de sécu Microsoft, c'est pas un patch de sécu, alors en plus on patche en urgence. Même pas les machines, ils ont ouvert combien de CVE là plus, en plus à côté de ça. Et c'est du XP, mais t'as encore du Windows XP partout, quoi. Aujourd'hui, pourquoi les banques, tu vois, les configurations de TLS et compagnie, à chaque fois qu'on leur dit, mais pourquoi vous mettez pas à l'abri? Ouais, mais on a encore des vieux postes sous Windows XP. Tous les terminaux bancaires, c'est du Windows XP. Les distributeurs du billet, c'est du Windows XP.
C'est vrai.
Et même les clients, les monsieur Dupuis-Morizet qui vient consulter son site de banque, qui veut utiliser généralement du XP, il est sous du XP SP2 en plus, parce qu'encore il aurait du SP3, on pourrait faire des choses. Mais il est sur du SP2, même pas de SP du tout.
Non, je crois que pour les banques,
pour les professionnels, il met toujours un.
Et bah ça fait envie.
Voilà,
merci beaucoup.
Merci. Hein, ouais.